Bon, il y avait un chien qui était seulement végétarien.
C'est un accueil chien.
Bon alors, ouais, donc je demandais ce que mangeaient les uns et les autres pour voir un peu s'il fallait que je fasse un récapitulatif au niveau diététique de qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé.
Moi je suis vegan.
Toi t'es vegan toi, mais toi en plus, toi tu veux pas manger pour être en bonne santé toi. On a eu des débats sur les protéines déjà. Bon, en gros, je vais quand même récapituler ce que pense la majorité, hélas, qui n'a pas toujours raison, mais que c'est quand même pas mal de le savoir.
On commence.
Un instant même là.
T'es vegan ou
t'es vegan ou végétarienne omnivore toi? T'es vegan, végétarienne, omnivore? Toi? D'accord. Alors, j'attends, il y en a qui discutent, qui papotent, là, qui m'écoutent pas, là,
oui, c'est n'importe quoi.
Attention, bonnet d'âne au fond de la classe, sinon.
Hein. Personne veut du chocolat.
Bon. Bon, alors, petit résumé de certains principes diététiques. Bon, alors, dans l'alimentation, il y a différentes choses. Il y a les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines, les oligo-éléments. C'est en gros tous les nutriments qu'on absorbe. Pour leur fonction, les glucides ont une fonction essentiellement énergétique. Les glucides, ce sont les sucres, les farines, toutes ces choses-là. Ils sont généralement associés avec les fibres qui sont aussi utiles pour l'équilibre alimentaire, pour le transit, des choses comme ça, mais qui n'entrent pas directement dans la constitution de l'organisme. À côté de ça, il y a les protides, donc les protéines ainsi que les acides aminés qui les composent. Les protéines étant des chaînes d'acides aminés, on pourrait dire. Donc ça, les protéines, c'est plein de choses. C'est la majorité des choses qui composent notre organisme. Un globule rouge, c'est de l'hémoglobine, c'est donc une protéine qui intègre, je sais plus, qui doit intégrer une molécule de fer quelque part, un truc dans le genre. Du cheveu, c'est de la protéine. Enfin, la plupart de tout ça, ce sont des protéines. Qui sont composés d'acides aminés. Les acides aminés sont dans un nombre que je sais plus de combien, il y en a 20 et quelques. C'est 20 exactement. Dont certains alors selon les espèces, on est capable ou pas de synthétiser les acides aminés. Pour l'espèce humaine, il y en a quelques-uns qu'on ne sait pas faire, 7 ou 8, je ne sais plus exactement.
8.
C'est 8. Non, mais c'est lui, il est plus rigoureux que moi. Donc il y en a 8 qu'on ne peut pas synthétiser. Donc il faut absolument avoir dans l'alimentation, parce que bon, les autres, on arrive à les bidouiller, l'organisme en prenant un, le transforme un peu et fait l'autre. Mais ces 7 ou 8 là, on ne peut pas les bidouiller. Donc il faut les trouver dans l'alimentation. Il se trouve que c'est pratique. Les autres animaux étant composés à peu près des mêmes protéines et acides aminés que nous, forcément, quand on mange un animal, on a tous les acides aminés qu'il nous faut. Ce qu'il y a, c'est quand on mange un végétal, des fois, il y a des végétaux qui en ont rien à foutre dans des acides aminés qui, pour nous, sont essentiels. Donc, des fois, c'est au niveau de cet apport-là, c'est pas complet. C'est pour ça que, quand on est végétalien, il faut faire attention à manger des végétaux variés. Les protéines étant contenues essentiellement dans les céréales et les légumineuses. Les légumineuses, pour ceux qui ne savent pas, c'est les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, tout ça. Donc si on veut être sûr d'avoir tout ce qu'il faut comme acides aminés pour être en bonne santé, il faut manger des céréales et des légumineuses variées, et tant qu'à faire, même les associer, c'est vachement plus chouette. Ça existe d'ailleurs beaucoup dans beaucoup de cuisines traditionnelles, les pois chiches qui vont avec la semoule du couscous, les lentilles qui vont avec le riz, les haricots rouges qui vont avec le riz dans les cuisines d'Amérique centrale ou des tas de trucs comme ça. Ou le maïs aussi, il y a beaucoup d'associations dans des plats assez traditionnels qui montrent qu'il y a quand même que cet équilibre-là, même de protéines au niveau végétal, est pas mal intégré dans les cultures culinaires à travers le monde. Moins en Occident, parce qu'on est beaucoup mangeurs de viande, on a une abondance de viande, ce qui fait qu'on n'a pas ces préoccupations-là, mais dans beaucoup de pays où la viande ne se bouffe pas tous les jours, où ça reste quand même un plat de luxe, il y a la plupart des plats populaires, des plats traditionnels intègrent ce mélange là. Donc c'est pas difficile du tout de manger et d'avoir un apport complet en acides aminés quand on est vegan. Il suffit de manger la cuisine maghrébine, cuisine orientale, asiatique, tout ça, il n'y a pas de problème. A savoir tout de même que parmi les légumineuses, parmi les végétaux, il y a un végétal qui contient tous les acides aminés nécessaires à l'alimentation humaine, c'est le soja. Qui passe du coup peut-être pour un aliment un peu miraculeux, c'est génial, vive le soja, mangeons que du soja, c'est pas suffisamment bon pour mériter qu'on ne mange que ça, mais c'est vrai que ça dépanne bien et quand on a peur d'avoir des problèmes au niveau de cet apport en acides aminés, manger un peu de soja de temps en temps, ça rassure. Voici donc à peu près vite fait pour les protéines et les acides aminés. Si vous avez des questions, vous le dites.
Le quinoa aussi.
Et oui, le quinoa, c'est une céréale ou une légumineuse?
Non.
C'est un épinard.
D'accord. Bon, enfin, en tout cas, la graine est nourrissante et rentrerait à peu près dans cette catégorie-là. C'est assez ouvert en fait, céréales, légumineuses. C'est-à-dire que c'est pas de la feuille, quoi. C'est une graine, en fait. Considérons les graines. Au sens là, les céréales, légumineuses, c'est tout ce qui est graine.
C'est bête, mais j'aimerais savoir ce que c'est vraiment le soja, en fait. C'est une céréale?
C'est un haricot.
C'est un haricot.
C'est un petit haricot. Il y aurait du soja vert, du haricot mungo si tu veux. Okay. C'est un tout petit haricot. Ça se cuit comme les lentilles quand ça s'utilise tel quel. Tu peux le mixer avec de l'eau et le passer à la passoire pour faire du lait de soja. Ouais. Tu peux transformer ce lait de soja en le faisant fermenter en tofu.
C'est
mes yaourts
au chocolat au soja en
fait. C'est du haricot qui doit être un peu cuit, mixé, filtré et après on le fait fermenter.
C'est pareil, c'est du lait de soja qui
fait tailler du lait de soja comme du fromage mais avec du lait de soja.
Non, je savais pas du tout que ça.
Avec du fromage.
Il n'y a pas forcément du
non,
c'est du gluconate de je sais plus quoi qu'ils foutent dedans souvent.
Non, ah oui, mais ça peut. Ah oui.
C'est pour le réifier. Dans le tofu.
C'est pas végétal. Bon.
Oui, non, mais qu'est-ce qu'on utilise en plus pour le faire c'est le réifier. Il y a du gluconate de je sais plus quoi.
Non, c'est du chlorure de magnésium.
Ah oui, voilà,
on l'appelle le nigari. Ouais.
Bon, c'est possible. Enfin, il y a un truc qui vient. D'autres questions sur le soja? Ça t'éclaire un peu près, Pierre?
Non, mais le soja, enfin, il y a un truc qu'on appelle soja qui est utilisé à Rico Bongo, c'est pas du tout le même truc.
C'est le soja jaune.
Ouais, c'est pas le même, il y a différents soja.
Ouais, mais c'est des plantes qui sont. Enfin, les deux sont des légumineuses, mais le soja qu'on dit soja vert, c'est pas du soja, c'est pas du tout la même. Bah, c'est la même famille, mais c'est pas le même genre. C'est proche du haricot, alors que le soja lui-même, enfin, c'est proche du haricot dans le sens que c'est une légumineuse, mais comme les petits pois, comme les fèves, mais c'est pas un haricot quoi. Enfin, juste quand on a des pousses de soja, c'est pas du soja.
C'est du haricot mungo. C'est un haricot quoi.
On a tendance un peu à appeler soja toutes les légumineuses consommées par les Asiatiques en fait. C'est soit des lentilles, soit du soja. Entre les deux, on ne fait pas trop la différence.
Ouais, en fait,
comme le dal que consomment les Indiens, c'est pas de la lentille, alors qu'on dit que c'est de la lentille, ce serait plus proche du soja. Quasiment. Voilà donc en gros, pour les protéines, il y a ça. Alors les lipides, les graisses, qu'on néglige souvent. Il y a beaucoup de gens qui font des régimes sans graisse, ce qui est une connerie énorme. Puisque les lipides entrent dans la constitution des cellules, entre autres de la paroi des cellules, et c'est un élément constructif de l'organisme qui est essentiel. Après, il peut y avoir des soucis au niveau du cholestérol, puisque ces lipides, ça voyage se balade dans le sang avec des différents véhicules. Il y en a qui sont plus ou moins rapides, d'autres, il y en a qui sont rapides, il y en a qui sont lents, il y en a qui font les embouteillages, il y en a qui circulent bien. Et les graisses animales ou les graisses saturées, c'est-à-dire les huiles qui ont été cuites à trop de température, cela voyage assez mal et ça fait des problèmes de cholestérol, ça bouche les artères, c'est mal. Pour savoir vite fait à ce niveau-là, petit résumé sur le cholestérol. Donc, globalement, les graisses animales sont des graisses saturées, sont pas bonnes, sauf peut-être les graisses d'oie et de canard qui auraient plutôt des effets positifs sur le cholestérol. Les graisses végétales majoritairement ne font pas de mal au taux de cholestérol, enfin causent pas trop de problèmes. Il y en a quelques-unes qui sont saturées, la graisse de coco par exemple n'est pas parfaite à ce niveau-là. L'huile de palme aussi n'est pas très bonne pour ça. Enfin celles qui permettent de faire un truc qui ressemble à du beurre sont pas les meilleures. Mais l'huile d'olive est bonne, l'huile de tournesol est bonne. Toujours à essayer de choisir les huiles, les prendre première pression à froid. parce que sinon les huiles, on fait chauffer les graines pour tirer plus d'huile, pour que l'huile soit plus liquide et qu'on puisse mieux l'extraire. Mais ça fait pas du bien à l'huile d'être chauffée, donc vaut mieux que ce soit première pression à froid.
Lorsqu'on fait chauffer une huile d'olive,
ouais. Faut
avoir un et puis c'est bon, et puis ça boue et puis quand on l'ingère.
C'est pas bon, ça ne tuera pas, mais c'est pas bon pour le cholestérol. Selon les huiles, il y a des huiles qu'il faut pas du tout faire chauffer. Et il y en a qui ont une température de saturation, on appelle.
Le colza.
Le colza se cuit pas, le soja se cuit pas, je crois. Pépin de raisin, pas de souci, pépin de raisin, elle monte à 240 degrés. Le pépin de raisin est celle qui monte le plus haut. L'huile d'olive, c'est 180, arachide, c'est 180, pépin de raisin monte à 240. C'est la meilleure huile pour la friture, le pépin de raisin, en théorie. Il y en a peut-être d'autres, je ne connais pas toutes, mais voilà. L'huile de sésame, normalement, on peut l'utiliser pour frire, vu que c'est une des huiles de base les plus utilisées en cuisine chinoise. J'imagine qu'on peut l'utiliser. Je ne sais pas, je la connais pas bien, mais il me semble qu'on peut l'utiliser en friture. Après, l'huile de sésame a beaucoup de goût, donc tu vas peut-être pas faire une friture dans ta friteuse à l'huile de sésame, surtout qu'en plus elle coûte cher. Donc pour ça, il vaut mieux utiliser l'huile d'arachide. Et puis bon, faut pas être maniaque non plus, on n'aura pas tous des problèmes de cholestérol. Donc si pour la friture, on utilise de l'huile pas chère, qui n'est pas première pression à froid, c'est mieux, parce que pour une friture dans une friteuse où il faut 5 litres, on va pas les payer 5 euros le litre. Surtout que l'huile de friture, on l'utilise quelques fois, mais après on la vire. Donc pour faire des frites, tu utilises de la patate qui coûte pas cher, et t'en as pour 30 euros d'huile, c'est un peu dommage. Donc tout de même, voilà, il faut quand même faire attention à manger des graisses, tant qu'à faire des bonnes graisses. Il y a différents acides gras que je connais pas tous, qui sont un peu variés, il y a une variété. C'est moins important que la diversité des acides aminés, mais c'est quand même bien d'avoir un peu de tous les acides gras. Il y en a différents. Donc dans l'huile d'olive, il y en a certains. Il y en a qui sont pas très très présents. L'huile de lin est bonne aussi, mais on a beaucoup de mal à la trouver en France. Elle se trouve beaucoup plus facilement en Suisse. Mais elle apporte plein de bonnes choses. L'huile de chanvre ne doit pas être mal non plus. Moi, les deux huiles que j'utilise principalement sont l'huile d'olive et l'huile de tournesol. L'huile de tournesol qu'on connaît généralement est une huile neutre et qui n'a pas de goût. Parce que celle qu'on connaît, c'est celle qui est en grosse bouteille plastoc à pas cher. Et celle-là, elle est pressée à chaud, elle est dégueulasse. En revanche, on peut trouver l'huile de tournesol bio, on la trouve de plus en plus. On la trouve chez Carrefour, chez Champion, en boutique bio sans souci. Elle coûte moins cher que l'huile d'olive. Ça revient à peu près à 2,50€ la bouteille, je crois, chez Champion et Carrefour, ce qui n'est pas cher du tout, comparé à 5€ minimum pour une bouteille d'huile d'olive. Et à 2,50€, elle est bio, et elle a du goût. Un goût qu'on se dit, ah tiens, bizarre, l'huile de tournesol, ça a du goût. Ben oui, ça a le goût de graines de tournesol. Donc pour ceux qui aiment les pipas et tout ça, une petite graine de tournesol grillée, c'est pas mauvais du tout. Et ça permet, c'est un goût qui est assez intéressant à utiliser, qui change de l'huile d'olive. Voilà, et en combinant les deux, je n'ai jamais regardé vraiment ce qu'il pouvait y avoir comme acide gras essentiel dans l'une ou dans l'autre, mais c'est toujours bien d'en utiliser différentes.
Il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin en disant que sur l'huile de tournesol, il y avait, c'était là, dans celle-ci où il y avait une acide aminé, en fait, c'était une acide aminé ou autre chose, on trouvait nulle part ailleurs. Oui, l'acide gras essentiel. Nulle part ailleurs, il fallait en prendre au moins une cuillère à café par jour. L'huile de tournesol crue.
Ouais. Enfin, en même temps, c'est ce que je dis, les acides gras essentiels sont moins essentiels que les acides aminés. Si tu as une carence dans un acide aminé, tu vas pas arriver à vivre très longtemps. En fait, tu vas avoir, la carence sera plus marquée, aura des effets physiques plus rapides qu'une carence dans un acide gras essentiel. En revanche, c'est vrai que pour être en bonne santé, c'est mieux de diversifier au maximum. C'est toujours bien de diversifier. Le plus on mange de choses différentes, plus on a de chance d'avoir tous les nutriments qui peuvent être nécessaires. Dans la mesure aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être des nutriments essentiels qu'on ne connaît pas encore. Qui peuvent être importants.
En même temps, on vit longtemps sans avoir une alimentation très variée.
On arrive, les Inuits arrivent à vivre jusqu'à l'âge de 60 ans en bouffant que des trucs animaux, hein, que de la viande et du poisson et des choses comme ça. Mais ils vivent pas super vieux non plus, ils vivent pas forcément super bonne santé.
Une peuplade aussi dont les membres vivent en mangeant que des spaghettis.
C'est les Olivier, c'est ça
vivre, voilà.
On verra jusqu'à quel âge. Non, ils mangent de la marmite aussi. Donc voilà, les graisses, surtout à ne pas négliger. Donc pour les régimes, il y a beaucoup de régimes sans graisse qui sont une erreur. Il vaudrait mieux faire des régimes sans glucides, sans sucre, que le sucre étant pas vraiment essentiel, vu que le corps est capable aussi de produire de l'énergie à partir des graisses et des protéines. Les protéines sont pas très très bonnes parce que quand le corps transforme les protéines en énergie, ça dégage de l'acide urique ou je ne sais trop quoi urique. En gros, ça fait des saloperies dans l'urine, ça surcharge l'urine et ça fait des calculs rénaux, ça pourrit les reins, ça fatigue les reins. Donc vaut mieux éviter. Donc les gens qui se font des régimes hyperprotéinés pour maigrir, ok, ça marche, ils vont pas trop manquer de choses, leurs muscles vont pas réduire et leurs viscères vont pas réduire de volume, mais à côté de ça, ils surchargent leurs reins et ils risquent des gros problèmes de calculs rénaux. Qui est des problèmes qui arrivent très souvent dans les populations qui mangent trop de viande par exemple.
Et qui arrivent aux chats aussi.
Bien possible.
Les chats ont des problèmes similaires avec leurs reins parce que quand on les nourrit que de viande.
Tout à fait. Parce qu'on pense souvent que les calculs rénaux sont dus surtout à un abus de minéraux, en fait, qui a une autre minérale qui est trop minéralisée et que ça fait des cailloux qui restent dans les reins, mais il y a aussi l'excès en protéines qui fait ça. Donc c'est, il faut en manger des protéines, mais pas trop non plus.
C'est pour ça que quand un chat a des protéines minérales.
Non, mais c'est pas la peine.
Cherche pas. Non, c'est...
Petite question sur le beurre.
Ouais.
Les végétaliens remplacent ils ont un substitut au beurre ?
Il n'y a pas de substitut. Alors ça, les substituts, on y viendra après. Le
d'accord,
principe des substituts.
J'ai bien compris que t'aimais pas
trop. Il n'y a pas besoin de substitut. Il y a des
mais
trucs.
Dire,
c'est partiel, son exposé.
C'est ça. C'est tout à fait partiel, bien sûr.
C'est pour ça. Non, j'adore le beurre.
Adore le beurre, mange du beurre. Le beurre, il y a des bonnes choses dedans en plus. Il y a des vitamines A et E dedans, il y a quelques
c'est
vitamines.
C'est la végétaline ou je sais pas quoi, non, qui est censée remplacer le beurre, c'est ça?
La margarine, en gros.
Margarine, ouais.
Si tu veux avoir un truc qui ressemble un peu à du beurre, qui soit jaune et qui se tartine sur un truc...
C'est végétal, ça.
C'est des graisses végétales hydrogénées, c'est-à-dire qu'on utilise un procédé industriel pour que l'huile se solidifie.
C'est pas trop mauvais pour
C'est pas très très bon, ouais. C'est pas très très bon.
D'accord.
Le procédé le industriel est pas... L'hydrogénation est pas très très bonne pour l'aliment.
Et des beurres à l'huile d'olive, hein.
Oui, mais de toute façon, il y a un procédé d'hydrogénation.
Écoute,
qui abîme l'aliment.
Il y a des margarines non hydrogénées
dans les trucs diététiques.
Et ils font
oui,
comment pour la
solidifier? Pomme.
Ah, je sais pas, mais ça coûte deux fois plus
de
cher.
Pomme,
que... Alors, ils ont trouvé un procédé qui coûte deux fois plus cher, mais qui marche. Mais bon, moi, dans tous les cas, je dirais que la margarine n'est pas trop utile, à moins qu'on ait absolument besoin d'avoir un truc gras à tartiner.
Non, bah
bon pourquoi pas, on en trouve. Alors faut se méfier des margarines, il y en a beaucoup qui contiennent des huiles de poisson aussi, ou du lactose, ou des extraits de produits laitiers pour que ça ressemble vraiment à du beurre. Donc la margarine de base de supermarché n'est pas franchement vegan, ni même végétarienne souvent quoi. La margarine bas de gamme contient des huiles de poisson. Huiles de poisson d'ailleurs pour le cholestérol qui sont très bonnes. Les huiles de poisson régulent.
Tu parles de vegan là, ok.
Oui, non, mais je fais un truc un peu général parce qu'il faut être objectif. La plupart des huiles de poisson sont bonnes pour le cholestérol. Les gens qui ont des problèmes de cholestérol ont intérêt à manger du poisson gras, du thon, du saumon, des choses comme ça. Puisque je sais plus si c'est les poly ou les monoinsaturés, les graisses de poisson. Enfin, en tout cas, elles rééquilibrent le taux de cholestérol. Petite anecdote amusante pour le taux de cholestérol d'ailleurs, les végétariens et végétaliens ont souvent un taux de cholestérol inférieur à la normale, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont en mauvaise santé, mais ils ont, ça a été observé chez pas mal de personnes, je connais beaucoup de gens qui ont fait des tests de cholestérol et le médecin a été étonné de leur dire, taux de cholestérol il est en dessous de la norme, norme qui a été établie en observant principalement les omnivores, mais donc les végétariens et végétaliens ont moins de cholestérol que les autres.
Juste une petite question, ça peut paraître stupide, je sais pas, mais d'après ce que tu viens de dire, dans la viande, c'est les protéines qu'il y a en fait.
Il y a tout dans la viande en fait.
Il y a graisses, c'est-à-dire lipides et protéines.
C'est beaucoup. Surtout des protéines et des graisses.
Il y a par exemple, là tu viens de parler du soja, par exemple, pour substituer la viande, ce serait plutôt le soja en fait.
Si tu as peur d'avoir des carences quand tu manges pas de viande, tu peux manger des céréales et des légumineuses qui t'apportent les protéines. Le soja ayant l'avantage d'avoir tout ce qui est essentiel,
voilà,
t'es sûr de ne pas avoir de carence quand tu manges du soja.
Oui, mais franchement, tu n'auras aucun problème sans manger de soja. Hein.
Et en termes de proportion.
Pour avoir des problèmes en termes de protéines,
les légumineuses les céréales contiennent
partout des protéines. C'est vraiment...
Ça dépend, je crois que le soja monte à 35% de protéines.
Bah, c'est les protéines.
Ce qui est à peu près le même taux que la viande.
Il y a un fort taux de protéines qui est de l'ordre de
35%. Le fromage est entre 15 et 30% de protéines. En fonction des fromages, je ne peux plus te dire exactement lesquels. Donc c'est équivalent.
On n'a pas besoin
peut-être en manger un peu plus, disons, voilà, mais pas tellement. Si tu te nourris, si de base de ton repas, ce qui va te remplir le ventre, c'est céréales et légumineuses, tu n'as pas trop de soucis à te faire au niveau des carences.
On n'en parle pas, personne n'en parle.
Et il y a des gens qui ont peur des carences en protéines alors qu'il y a assez peu de risques. Si tu n'en manges pas du tout, tu as un risque, un vrai risque de carence. Mais bon, normalement, on préconise 1 gramme de protéines par jour. Si tu fais 70 kg, il faut 70 grammes de protéines par jour.
Non, après,
on en mange à peu près. C'est ce que l'Organisation mondiale de la santé préconise. Maintenant, je suis sûr qu'il y a des gens qui mangent moins que ça qui sont en très bonne santé.
Aux protéines, tu veux.
Ouais. On était débattu avec Gaïs, selon David, les protéines, il n'y a pas besoin d'en prendre, de toute façon elle tourne en cycle fermé, ce qui n'est pas complètement faux.
Non mais
admettons
qu'il
s'agit des pâtes.
Mais c'est voilà, c'est qu'on il y a une donnée qui est donnée par l'Organisation mondiale de la santé qui est 1 gramme par kilo de poids. Mais ils ne prennent pas de risque en disant ça. Ils disent juste quand tu fais comme ça, tu es sûr que ça aille bien. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas vivre en mangeant 10 fois moins? Je ne vais pas me prêter à l'expérience moi-même parce que j'aime bien manger les trucs qui contiennent des protéines, donc je ne vais pas faire le cobaye. Mais ça pourrait, on pourrait peut-être avoir des informations sur le sujet. On n'est pas sûr de ça.
Non, mais...
Exactement, je vais y venir après en parlant des vitamines.
On écoute le chef, cuisinier, je veux dire.
Alors, il y a d'autres choses donc à tout ça. Il y a les vitamines. Alors les vitamines qui sont... attendez, j'ai la définition là quelque part, que je vous la lise. Où qu'elle est. C'est pas celle-là qu'elle était bien. Alors j'ai des listes ici des vitamines et des oligo-éléments pour ceux qui veulent lire, où il y a décrit quelle est leur fonction, dans quoi ils sont contenus et les risques quand on en manque.
Fonction, est-ce que c'est bien le terme?
Ouais, tout le monde le comprend, donc on dirait que c'est bon. C'est le problème de ne pas être organisé, ça.
Il fallait lui dire que sa cigarette va commencer à mettre le feu à la barre. Mais ça serait peut-être plus utile. Mais...
Alors, les vitamines, ce sont des substances organiques sans valeur énergétique propre, c'est-à-dire que le corps ne peut pas les utiliser pour faire de l'énergie, qui sont nécessaires à l'organisme et que l'homme ne peut pas synthétiser en quantité suffisante. Elles doivent donc être fournies par l'alimentation. C'est donc des produits qui vont intervenir dans différentes réactions du métabolisme et qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Et donc il faut prendre à l'extérieur. Donc il y en a un certain nombre de ces vitamines. Elles ont été découvertes pour différentes raisons. Je crois que c'est la première qui a été découverte, dont la carence était responsable du beriberi. Donc maladie.
Non, c'est la B1.
C'est la B1 finalement.
Oui.
Pour le beriberi.
Mais bon, putain, t'es sûr?
Oui.
J'ai relu ça hier et je pensais pourtant que...
La vitamine A, c'est pour les bâtonnets de l'œil.
Oui, la vitamine A, c'est d'ailleurs plutôt la provitamine que la vitamine.
Oui, tout à fait. Ouais. On trouve dans les carottes
la provitamine. La B1, c'est le beriberi, c'est ça?
C'est la thiamine, la B1. Qui était
c'est la thiamine, ouais.
1905,
c'est ça, tout à fait, d'accord, ça. Voilà.
C'est une maladie.
Ouais.
C'est
alors,
une carence en vitamine B1.
De la même manière que le scorbut est... Voilà, c'est ça. Le scorbut étant une carence à la vitamine C. On n'aurait pas découvert la vitamine C s'il n'y avait pas eu des tas de marins qui étaient morts du scorbut et qu'on s'est dit, mais qu'est-ce donc qui leur manque? Et on s'est rendu compte qu'en mangeant des produits frais, ils avaient moins ce problème-là. Donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose dans les produits frais. On a analysé, on a dit, ah bah tiens, c'est ce truc-là, et si on l'appelait vitamine C? Donc c'est en se rendant compte qu'il y avait des nutriments comme ça qui étaient essentiels au bon fonctionnement de l'organisme qu'on a trouvé les vitamines.
Acide ascorbique.
Acide ascorbique, la vitamine C, tout à fait.
C'est comme scorbut.
Exactement. Bon, donc je ne vais pas vous expliquer toutes les vitamines dans quoi on les trouve. Il vaut mieux que vous en preniez, vous preniez 5 minutes pour lire la liste des choses, ça vous donnera une idée. A savoir qu'il y a deux principaux types de vitamines, celles qui sont liposolubles et celles qui sont hydrosolubles. En gros, celles qui sont dans les graisses et celles qui sont dans le reste. Pas forcément dans l'eau, mais voilà, c'est dans plein de choses.
Dans les cellules, la chose.
Dans plein de trucs. Les A et les E, par exemple, sont liposolubles. C'est pour ça qu'on les trouve dans le beurre, dans les huiles, des trucs comme ça. Quoi. Les B aussi.
Ouais, je dois avoir la liste des unes et des autres. Mais c'est le bordel dans mes feuilles. Je vais pas les relire maintenant, mais je vous les donnerai pour que vous feuilletiez. Voilà.
Donc des vitamines qui sont essentielles. Il y en a pas mal qui sont... Il y en a qui sont assez stables. Du moment qu'on mange varié, on en a. Il y en a d'autres qui sont assez fragiles. La vitamine C est très fragile. La vitamine C est fragile. À l'air, donc elle s'oxyde très vite et après elle réagit plus dans l'organisme. Elle est sensible à la lumière, elle est sensible à plein de choses comme ça. Elle est contenue en bonne quantité dans la plupart des végétaux, les végétaux frais, donc fruits et légumes, un peu dans la viande et dans les produits animaux, mais donc bon, la source principale c'est les fruits et légumes frais. Ce qu'il y a, c'est que s'oxydant très vite, par exemple, si on considère la vitamine C qu'il y a dans la carotte, qui n'est pas en très grosse quantité, les carottes râpées qu'on mange à la cantine, qui sont râpées depuis environ 2 heures, vu qu'elles sont râpées, elles ont une surface de contact avec l'air qui est bien supérieure, donc une vitesse d'oxydation bien supérieure, donc les carottes râpées, au moment où on les mange, on les a sur son plateau, la vitamine C, on l'oublie, quoi. Il n'y en a quasiment plus. Donc, il vaut mieux manger des fruits frais. De la même manière que les vitamines C contenues dans des cachetons, ben, elles sont pas super chouettes. D'autant plus que souvent elles sont d'origine chimique et il faut savoir que je me trompe peut-être, mais j'ai tendance à dire que de prendre la vitamine C chimique, c'est un peu comme de sucer un clou en se disant que ça allait faire un apport en fer. Alors, soit elle est d'origine végétale et elle peut être efficace, mais de toute façon. Ouais, tout à fait, elle est concentrée. Mais de toute façon. Alors, je crois que maintenant ils mettent de la végétale, mais si c'est de l'acide ascorbique chimique qu'ils mettent dedans, ça réagira beaucoup moins dans notre organisme. Ça peut faire le boulot que fera la vitamine, mais ce sera nettement moins efficace.
Mais si c'est une molécule, c'est la même.
Par procédé industriel, si tu veux. C'est synthétisé à partir de différents produits bruts et pas d'un truc qu'il a fait.
Je veux dire, si c'est la molécule, c'est la même, quoi, non ?
C'est d'où qu'elle vienne, quoi. C'est pas tout à fait aussi simple. C'est comme je disais, si tu suces un clou, ça va pas te faire apporter du fer dans le sang. Si ce fer est mélangé dans d'autres molécules, mélangé à d'autres aliments, ton corps va mieux l'assimiler en fait. D'accord. Je pourrais pas te dire exactement, mais en gros ça donne ça. Mmh. Okay. J'ai lu dans plusieurs endroits que les vitamines d'origine naturelle étaient 5 fois plus assimilables que les vitamines d'origine synthétique. Mmh. Bon, je n'ai pas été le vérifier, on s'en fout un peu, mais bon, c'est bien de savoir. Donc c'est quand même bien de consommer plutôt des vitamines contenues dans des aliments que des vitamines en cacheton.
Sauf qu'en cacheton, c'est t'en as 10 fois plus, donc c'est comme c'est 5 fois moins assimilable, t'en as 2 fois plus.
C'est vrai, ça peut marcher.
D'abord, il faudrait boire le jus de combien d'oranges pour avoir l'équivalent d'un cachet de vitamine C.
Le calcul est difficile à faire, mais.
De toute façon, au bout de 2 oranges, tu dois avoir ta ration quotidienne.
C'est ça, faut pas trop s'inquiéter. Sur la vitamine C, t'en as. Alors, pour avoir le scorbut, faut manger pas du tout de vitamine C pendant 2 mois. À peu près. Sinon, tu as toujours suffisamment de vitamine C. Bon, elle intervient dans beaucoup de choses, la vitamine C, entre autres dans l'assimilation du fer. Le fer, surtout d'origine végétale, n'est pas très très bien assimilé dans l'organisme. Il faut qu'il soit associé à la vitamine C pour être fixé. Il me semble que le fer d'origine animale, le fer qu'il y a dans le sang, s'assimile beaucoup mieux. Donc, il n'y a pas de... Autant quand les végétariens et végétaliens consomme du fer qui est contenu dans pas mal de choses, hein. Les lentilles contiennent pas mal de fer, les légumes verts contiennent pas mal de fer, c'est bien d'arroser ça d'un petit coup de jus de citron pour qu'il soit mieux assimilé par exemple.
Et le fer héminique et le fer non héminique, c'est ce qu'on appelle.
Héminique, hépatique, je sais plus comment on dit.
Le fer héminique, c'est le fer contenu dans le fer animal qu'on absorbe très très vite. Le fer non héminique, c'est le fer contenu dans les végétaux.
Tout à fait.
Qu'on a plus de mal à s'appeler.
Celui avec lequel il faut associer de la vitamine C pour qu'il puisse être mieux assimilé. Voilà. Donc pensez à la vitamine C, parce que c'est pas non plus en prenant des cachetons de fer, des compléments, qu'on va avoir du fer. Bon, normalement les compléments sont bien conçus, ils mettent aussi de la vitamine C dedans, parce que les mecs qui les ont fait sont pas complètement cons et ils ont mis de la vitamine C avec. Voilà donc pour la vitamine C. Bon, la vitamine B12, on va en parler vite fait. La vitamine B12 qu'on trouve presque exclusivement dans les produits animaux. La vitamine B12 qui est de la cobalamine, me semble-t-il. Je vais vérifier.
Cyanocobalamine.
En gros, elle est produite par les consommateurs primaires, c'est-à-dire les herbivores. Une plante pousse dans un sol où il y a du cobalt, elle va contenir du cobalt, le consommateur primaire, le bon gros herbivore, il arrive, il mange ça, et les petites fleurs intestinales qui sont dans son long tube digestif vont transformer le cobalt en cyanocobalamine, de la vitamine B12. Et après, à travers la paroi intestinale, ça passe dans le sang, il en a dans son organisme, et les consommateurs secondaires, ceux qui mangent les consommateurs primaires, après profitent de cette B12 parce qu'elle est contenue dans la chair, dans le lait et dans les œufs de ces bestioles-là. Donc si jamais on n'en mange pas de ces bestioles-là, il faut prendre des compléments ou de la Marmite.
Donc c'est ça.
Voilà.
C'est ça, dans la viande en fait, c'est ça. En fait.
Dans la viande, dans le lait, voilà. Dans les œufs,
si
il y en a.
On mange pas, voilà.
Il y a un risque de carence en B12. Voilà, alors après la B12, il y en a qui... On a aussi une fleur intestinale.
Parce qu'il y en a dans les produits laitiers.
Oui, tout à fait. En tant que végétarien, il y a pas de
produits.
En tant que végétarien, il y a... En tant que végétarien, il n'y a pas de souci de carence.
Non, mais enfin, ça dépend si quelqu'un est végétarien à partir du moment où il mange pas. Je veux dire, même si on mange un verre de lait par mois, les gens ils vont dire je suis végétarien, je suis pas végétalien. Mais je veux dire, ça suffit pas. Je veux dire, c'est la B12, il en faut une certaine quantité.
Oui, il en faut pas beaucoup, mais il en faut.
Non, ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des végétariens qui manquent de B12 parce que, comme ils se définissent pas comme vegan, parce qu'ils sont pas tout à fait vegan, pas tout à fait végétaliens, mais ils finissent par avoir des carences quand même, quoi.
Disons qu'il y en a de toute façon plus dans la chair animale que dans les sous-produits animaux.
Je crois qu'il y en a plus dans les œufs que dans le lait.
Mais comme ça.
Que de toute façon, c'est bien. Enfin, sauf si on bouffe beaucoup d'œufs et de lait, c'est quand même bien d'y réfléchir.
Parce que là, voilà. Et puis la carence en B12, elle est méchante. Elle est du genre, après, voilà, il y a paralysie des membres, perte de la vue. Une grosse la plupart des vitamines B sont liées au système nerveux. Et quand on en manque, c'est pas bien.
Par exemple, Yves a eu
une carence absolue.
Il n'en est jamais revenu.
Regardez, ça ne
s'est jamais aperçu.
Et alors, vous faites quoi? Vous prenez tous les jours?
Alors, soit on mange de la marmite à la petite cuillère. Voilà, mais c'est pas bon la marmite. Non, mais il y en a comme ça, hein, les goûts sont de la nature. Cette nature que nous aimons tant. La marmite, c'est une espèce de pâte de marron, de levure que tu peux tartiner.
C'est très salé.
Parce que je pense qu'il y a une des levures qui est dedans.
Non, ils en rajoutent.
Ils en rajoutent.
C'est un supplément. C'est comme si on prenait des cachets.
Ah, c'est complémenté. C'est pas
compliqué. Mais il y a des.
Non, c'est culture de cellules. Oui, voilà.
Disons qu'on prend des petits champignons, des bactéries et on les fait produire des B12. Et on n'a pas besoin d'attendre que la flore intestinale soit dans l'intestin d'une vache. On peut aussi la mettre dans un truc, on lui donne mange du cobalt et fais-moi de la B12. Mmh. Et après on te met ça dans des ampoules et tu la bois. Ça c'est pas encore prouvé avec les plantes, non. Laquelle?
Soit la consoule, soit la bourrache, je sais plus.
Alors ça, on a longtemps cru qu'il y avait de la B12 contenue dans pas mal de végétaux, mais ce serait une molécule qui est proche de la B12, qui fait une partie du boulot de la B12, mais pas tout le boulot. Donc on s'expose quand même à des risques. Dans le soja, on a longtemps cru qu'il y avait de la B12, mais c'est pas exactement de la B12, c'est juste une molécule qui ressemble. Dans des algues aussi pas mal, donc on disait oh, tous ces bons aliments asiatiques, vive la cuisine japonaise avec du tofu et des algues, on a de la B12. Et ben non, ça marche pas, donc faut faire gaffe. La spiruline aussi, on a dit que dans la spiruline, qui est une algue africaine qui est très riche en nutriments, il y avait de la B12. C'est pas de la vraie B12, ça fait une partie du boulot de la B12, mais pas tout le boulot. Donc on s'expose quand même à des risques au niveau de la santé en consommant pas de la B12.
Alors, ne nous alarmons pas parce qu'il faut la stocker longtemps.
Normalement, le foie stocke la B12 pendant à peu près 4 ans. Si on renouvelle pas le stock, c'est quand même mal. Alors il en faut une quantité minuscule, c'est vraiment pas grand chose qu'il faut de B12. C'est pas comme la vitamine C qu'on peut quasiment compter en grammes ou en dixième de gramme.
Milligramme. Avec la B12, c'est en
La vitamine C, non, il y a des gens qui prescrivent 1 gramme par jour, sans souci. En décigramme, ça va vite. Hein. Une orange, ça doit compter, ça fait 30 mg, ça fait 0,03. Enfin, je sais pas, ça t'as vite fait, c'est des quantités qu'on peut comprendre. Alors que la B12, c'est des microgrammes, je crois.
Nanogrammes, non?
Ou nanogrammes. C'est des 0,0000, c'est vraiment tout petit, mais il en faut. Pas beaucoup, il en faut. Donc, faut faire gaffe. Donc, il y a moyen d'en manger, d'en complémenter. Le corps humain, la flore intestinale humaine en produit un petit peu, mais on n'a pas un tube digestif suffisamment long pour que cette B12 ait le temps de rentrer dans le sang. Donc si on mangeait notre caca, on aurait de la B12, mais nous ne mangeons pas notre caca parce que c'est pas bon, donc on n'a pas de B12. Voilà.
Surtout que c'est dégoûtant.
C'est vrai, bah oui, c'est dégoûtant, quoi. Hein,
c'est surtout culturel.
Non, mais il y a apparemment je crois qu'il y a des kibbutz où ils avaient justement des kibbutz végétaliens où ils n'avaient pas de problème parce qu'on a supposé que le compost dans lequel ils mettaient leurs excréments restait présent un peu sur les légumes et que du coup ça leur apportait de la B12.
Ah, c'est
impeccable,
ça.
Mais tout à fait. Tout à fait. Tu transformes le caca en terre, la B12 reste là, et après tu manges de la terre, pourquoi pas.
C'est que les streptocoques dorés...
Ils se développent aussi bien en même temps que la B12. C'est un peu le risque. Donc voilà pour les vitamines. Donc les oligo-éléments.
Au bout de la B12, c'est la question de Valérie. Par exemple,
c'est-à-dire
tout parce que là, tu as laissé le choix entre le caca et le marmite.
Ouais. D'accord. C'est vrai que ça se ressemble un petit peu.
Tu vas pas motiver.
Dans le marmite, on met du sel pour arriver à que ça passe mieux. Non, il y en a, tu prends des compléments. Il y a des cultures de laboratoire, comme je disais, sur des levures. Tu peux acheter des gélules, tu peux acheter des ampoules. Tu trouves ça assez facilement en pharmacie. Il n'y a pas de souci, tu trouves facilement, tu trouves même des... Alors, voilà, de la marmite, c'est un produit qui est complété complémenté en B12.
C'est une gélule tous les mois.
Ça dépend parce que quelle que soit la quantité, ton assimilation est plafonnée. Tu peux prendre 1000 mg, de toute façon, tu n'assimileras pas les 1000 mg. Donc il vaut mieux en prendre un peu régulièrement que d'en prendre une grosse fois.
Souvent, c'est des doses de 1000 microgrammes. Et en fait, voilà, c'est 1000 microgrammes, c'est 1000 fois la dose journalière.
C'est ça. De toute façon, ton corps peut pas assimiler plus d'une dose. Donc c'est pour ça qu'il faut en prendre
assez grand. Être encore plus concret, carrément les marques et tout ça. Enfin, je sais parce qu'après quand on va en pharmacie, on demande c'est quoi, on sait pas trop.
Tout à fait. Si tu connais les marques, vas-y, donne. Moi, je me.
Moi, j'achète Gerda, mais je suis plus tout à fait sûr que c'est vegan.
Ah si, c'est sûr.
Toi, t'avais dit que oui. Moi, je leur ai écrit il y a 2 ans. Ils m'ont répondu pas vraiment.
Il y a toujours le souci, c'est quoi? C'est l'enveloppe des gélules, c'est quoi qui pose problème?
C'est ça. Mais en fait, après l'ESB, là, la maladie de la vache folle, le ministère de je sais plus quoi, la santé avait demandé à ce qu'il se documente précisément sur d'où ça venait et que ce soit marqué et tout ça.
Mais ouais. Maintenant les gélules, souvent elles sont un truc méthylcellulose ou je sais pas quoi.
Ça c'est l'enveloppe végétale et puis des plus de gélatine.
Ils le font en général par sécurité pour pas avoir d'emmerde.
Mais là ils sont en verre là les jardins.
Oui, non, ah, ça, c'est non, pas des gélules.
Ah mais non, mais gélules aussi. Les
alors parce que ouais, les ampoules a priori il n'y a pas de souci, c'est vegan les ampoules.
Oui mais c'est les ampoules qu'on.
C'est vegan, ouais,
c'est
les ampoules
que tu les sens bien.
Non, la ça pharmacie, y a du verre. Tu peux citer le verre.
C'est
ampoule Gerda 1000 microgrammes.
Gerda 1000 microgrammes.
Mais si vous voulez des infos sur la B12, tout est possible de contacter Jérôme.
Moi j'en prends une par semaine. Dans le Vidal ils disent une tous les 10 jours, ou peut-être même moins que ça.
Ouais à peu près, non voilà. C'est ça, c'est une par semaine tous les 10 jours.
D'accord. Ouais, attention aux effets pervers, car moi j'en ai fait pendant 1 mois et puis j'ai arrêté parce que j'arrêtais pas de péter. Ça donne des flatulences, ça peut donner d'autres trucs.
Ah bon, ce truc, il n'y a rien, il y a 3 gouttes dans le machin. Tu vois, quand tu le verres dans le verre.
Ah mais c'est super
actif. Et ben voilà, si t'as à peine ça dans le
alors,
Lise,
est-ce que ça fait péter?
Est-ce
que ça fait péter? Moi, j'aime
pas ça. Et t'en prenais quoi tous les...
Moi ça m'a jamais fait péter.
T'as pas plus qu'avant quoi.
Mais
par contre moi j'ai eu une carence en
fait. T'as eu une carence ouais.
Après,
donc là tu vas y mettre en fait.
On va dire 2 ans et demi de végétarisme et 6 mois de végétalisme, j'ai eu une carence. Enfin, j'étais en dessous.
À savoir qu'il n'y a pas que les végétaliens qui sont carencés en B12, hein. Il y a des gens qui ont un problème morphologique. Il y a des gens qui assimilent plus ou moins bien la B12 et il y a des gens qui ont une carence en B12 parce qu'ils arrivent, parce qu'ils l'assimilent pas tout simplement. Et ils ont même plus de problèmes que les végétaliens.
Moi j'avais lu que chez un médecin anglais, donc ils disaient que c'était mieux.
En fait, moi, le fait par exemple que j'ai eu une carence qui était absolue, hein, il n'y avait même plus de traces en sang et tout ça, ça a été remis en cause par Clem, une copine qui est végétalienne, ouais. Qui a discuté entre autres avec Jérôme Bernard Pelé, ouais. Médecin, qui est végétalien.
Voilà, qui est bien connaître pour ceux qui ne connaissent pas, Jérôme est médecin, il a un diplôme et tout, et il est végétalien, et il est toujours prêt à donner de bons conseils là-dessus.
Ouais, mais
non, non, ça s'achète sans ordonnance. Mais si tu as une ordonnance, en plus, c'est remboursé par la sécu.
Bon, mais je voulais en venir, c'est que moi, j'avais fait un test de dépistage du taux de B12 dans le sang, et d'après les infos de Clem les dernières, en fait c'est un dépistage qui est loin d'être de donner des résultats corrects sur le réel niveau de B12 dans l'organisme, et que c'est un autre produit secondaire qu'il faudrait mieux tester, un produit de réaction du corps, je sais pas quoi.
Déjà ils ont mis 15 jours moi comment
mais du coup ça il faudrait se renseigner plus précisément parce que ça,
si, c'est
ça a l'air
mot...
d'être plus compliqué que demander à simplement ouais. Un
il faut demander la mesure du taux d'homocystéine,
c'est ça,
ouais. Et le truc aussi parce que par rapport à la B12 c'est important parce que d'une part si on a une vraie carence grave on peut avoir des problèmes nerveux et des problèmes nerveux graves, c'est irréversible, ouais. C'est du style,
c'est vraiment méchant.
Pas
quand tu perds la vue, tu la récupères pas en bouffant de la B12 quoi.
Voilà. Et voilà, donc dans ce cas il faut réagir très vite, mais il y a aussi le fait que quand on a une carence, mais une carence modérée, ça provoque des trucs du style l'augmentation de certaines substances du genre homocystéine, enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est un truc apparemment qui est produit en réaction à la carence, qui est produit en plus grande quantité et qui produit des problèmes cardiaques, c'est-à-dire qui augmente ce qu'on a habituellement quand on a des problèmes cardiaques, c'est-à-dire les dépôts de graisse dans les artères. Donc c'est un truc à long terme quoi. Il suffit pas de se dire j'en prends un tout petit peu et j'ai pas de carence j'ai pas de carence grave, bon ça c'est déjà le plus important, mais c'est bien aussi à long terme d'en prendre plus que le minimum. Voilà.
Et quand tu as des carences comme ça, tu le vois venir?
Non,
quand tu as
tu m'as dit que
la B12 ça commence aveugle,
ça affecte ouais. la vue. Tu le vois venir quand même, non?
Bah non, puis tu es aveugle, mais non, si les premiers symptômes, les premiers symptômes de la carence en B12, les premiers symptômes, c'est des fourmillements dans les doigts, des trucs comme ça. Il y a des, tu vois, si tu es un peu attentif à ton état de santé, tu te dis, ah, il y a un truc qui est quand même un peu bizarre là, tu te renseignes et ça peut être une carence. Après, il y a des tas de carences que tu te rends pas compte quand tu quand t'es tout le temps de mauvaise humeur. Il y a des tas de carences qui peuvent jouer sur l'humeur et tu peux juste te dire que tu t'es pas levé du bon pied pendant une semaine, mais ça peut être à l'origine d'une carence. Comme tu peux être fatigué, c'est pas juste parce que tu dors mal. Tu peux avoir une carence en magnésium, en fer, en des tas de trucs. Ça peut être plein de choses. La B12, ça commence par des fourmillements. Après, t'as paralysie des membres inférieurs. T'as des tas de trucs qui sont très sympathiques avec la B12.
Mais bon, moi en tout cas, je sais pas si les tests que j'avais fait étaient valables. En tout cas, c'est des tests comme quoi j'avais plus aucune trace de B12, c'est-à-dire c'est une carence totale.
Donc tu es mort en fait.
Et j'avais aucun symptôme, alors aucun.
Ah. Mais c'est sûr que tu avais donné le bon échantillon.
Alors après, bon, la B12, on n'est pas sûr que la carence, qu'il n'y ait pas des gens qui soient capables d'en synthétiser eux-mêmes, mais vu que le risque est quand même un peu élevé, vaut quand même mieux se complémenter, ça coûte pas grand-chose. Et voilà, dans le doute. Mais bon, il y a encore des recherches à faire dans le domaine, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais dans l'état des connaissances actuelles, vaut mieux, quand on est végétalien, en prendre.
Alors, tu parlais du Marmite, il y en a aussi souvent... Enfin, à une époque, il y en avait, j'ai l'impression qu'il y en a moins maintenant. Mais dans les cornflakes, dans les boissons du style 12 vitamines, un truc comme ça...
Ouais, quand ils complémentent en vitamines, ils mettent de la B12 aussi.
Ils mettaient souvent avec le fer, ils disaient 12 vitamines et du fer...
Mais elle est de quelle origine, cette B12-là?
Mais toujours la même, hein. C'est toujours des trucs
de la culture
de cellules.
Ouais. Ouais, donc ça va normalement les vaches.
Et nos aïeux,
mais lesquels, ils sont morts ceux-là? Ils n'ont pas eu de descendance?
Ils en sont morts.
C'est donc pas nos aïeux.
Non mais si. Comme ils mangeaient des insectes aussi, hein. Tu sais, les frugivores granivores ont vite tendance à manger des larves parce que ça court pas beaucoup plus qu'une pomme, une larve, et c'est très nourrissant.
Non mais
les frugivores granivores ont tendance à être insectivores un peu aussi.
Des insectes?
Enfin, ils avaient trouvé qu'il y avait des Indiens qui... Enfin, des Indiens d'Inde qui avaient déménagé, qui étaient allés vivre en Angleterre. Et en bouffant à peu près les mêmes choses, ils se sont mis à avoir des carences en B12. Parce qu'en Inde, ils avaient des systèmes d'eau courante qui n'étaient pas spécialement hygiéniques et tout ça. Ils avaient des... Et donc ils bouffaient, enfin c'est pas qu'ils bouffaient de la merde, mais ils bouffaient la B12 de l'environnement. Et quand dans les pays où les choses sont plus hygiéniques, aseptisées, c'est-à-dire que dans l'environnement, disons, naturel, traditionnel des humains, il n'y avait pas de problème de B12, même s'ils bouffaient pas d'animaux. Il n'y avait pas de problème de B12 parce qu'il bouffait aussi beaucoup de choses de terre et de trucs comme ça. Et aussi, par ailleurs, avec les problèmes que posait le fait de bouffer de la terre, c'est-à-dire les parasitoses, enfin les maladies.
Les
denrées,
les caries.
Oui, voilà.
Donc il y avait moins de soucis de B12. C'est surtout dans une alimentation aseptisée, ultra hygiéniste comme celle qu'on a de nos jours, qu'il y a des risques de carence parce qu'il n'y a vraiment que ce qui est censé être dans le produit. Il n'y a pas de trucs qui traînent autour. Si tu manges des légumes bio et que tu les laves jamais, bah t'as des chances d'avoir de la B12 dessus. Ouais.
Et les dents rayées.
Les dents rayées.
Ouais. C'est quoi les dents rayées?
Par le sable.
Ça traille les dents parce que tu manges du sable. C'est pas bon pour tes dents de manger du sable. C'est pas bon du tout. C'est peut-être pas mauvais pour le transit, mais pour les dents, c'est pas bon.
Les dents de nos ancêtres, justement, lointains, étaient en piteux état.
Oui,
pour je me suis tapé toute une étude là-dessus pour voir chercher les maladies autrefois.
Bon, d'autres questions sur les vitamines ou je passe vite fait aux oligo-éléments?
Les graines germées,
c'est très très riche en plein de nutriments, comme tous les organismes qui sont en phase de développement. C'est pour ça que les larves contiennent plus de protéines et de vitamines que les insectes adultes. C'est pour ça que manger des bébés c'est meilleur que de manger des adultes. Que les graines germées, comme elles sont en pleine phase de croissance, c'est de croissance rapide. Voilà, non, le bébé est très nourrissant. Le bébé est très nourrissant. Tu peux même manger les os, il croustille à peine sous la dent.
C'est parfait. C'est
vrai. Il y a plein de cuissons différents.
Exactement, c'est très très bon. Exactement. C'est comme les champignons. Les champignons sont très riches en protéines parce que c'est un truc qui a une croissance très rapide. Tout ce qui a une croissance rapide, qui est en phase de croissance rapide, est d'autant plus nourrissant.
C'est une croissance très rapide parce que c'est à base de protéines.
L'un ou l'autre, oui. Bon, c'est oui. Enfin, en tout cas, si tu veux prendre l'indice, si tu vois un truc qui a une croissance rapide, tu sais qu'il y aura, que ce sera très nutritif. Manger du bois, c'est pas très nutritif, parce que ça pousse doucement le bois.
Parce que c'est à base de cellulose.
Le bambou, je sais pas.
Ah, je crois que le cœur de palmier, c'est nutritif.
Ah oui, oui.
Ouais, je sais pas si ça contient tellement de protéines et c'est nutritif.
C'est bon.
Enfin voilà, c'est assez logique de dire que les trucs qui sont en pleine croissance soient riches en nutriments, c'est assez clair. C'est comme les œufs sont très très riches en nutriments parce que ça va servir à faire croître un organisme à grande vitesse.
Mais les ados alors aussi.
Mais les bébés mieux quand même. Les bébés beaucoup mieux. Hein. Non, mais clairement, le bébé reste l'aliment de choix. Hein.
C'est pour le cerveau. Hein.
C'est ça, l'ado, c'est pas... Quoique avec ce qu'il fume, cet enfoiré, il dit ça. L'ado, moi je m'en méfie. Ah, ouais. Il est un peu contaminé.
Un ado bio,
exactement.
Élevé loin des villes.
Élevé des mets, tout ça. Voilà. Nourri au grain, là, sous la mer. Du bon ado sous la mer. Bon, pour les oligo-éléments, donc passons donc à la suite. Les oligo-éléments, c'est des minéraux qui sont pas forcément des trucs composés, qui sont pas forcément des trucs composés. Le fer, par exemple, peut être sous différentes formes. La plupart des molécules qui contiennent du fer peuvent être utilisées par l'organisme pour avoir du fer qui va recycler dans autre chose. Je ne veux pas vous donner l'exemple de noms de molécules contenues dans l'alimentation qui contiennent du fer parce que j'en connais pas et que ce serait ridicule. Mais il y a voilà, les oligo-éléments.
Le boudin.
Les boudins contiennent du sang, donc du fer, bien sûr.
Je crois que le fer, il faut faire attention parce que c'est pas super bon pour l'intestin ou comme ça.
Il y a des risques en excès, c'est quoi ça? Alors, bon, les oligo-éléments essentiels, cuivre, chrome, fer, fluor, iode, manganèse, molybdène, sélénium, soufre et zinc. Et après, si on veut aller plus loin, il y a aussi l'argent, l'aluminium, tout ça, mais qui sont en quantité bien plus négligeables. Ça, c'est la liste courte, mais j'en ai une plus longue à un endroit. Et il y a marqué, si vous voulez, où il y en a. Ça intervient dans plein de choses. Il y en a qui faut pas. Alors l'arsenic par exemple, on se dit l'arsenic, oh là là, c'est du poison, ça tue. En fait, c'est un oligo-élément essentiel au bon fonctionnement de l'organisme, mais qui est nécessaire dans une quantité minuscule, toute petite. Mais il en faut. Après, si on en prend un peu plus, c'est fortifiant, ça fait grossir, et si on en prend trop, on meurt. Mais il en faut, donc il y a plein de trucs qu'on pourrait dire c'est du poison. Et il y a d'ailleurs beaucoup de...
Les carottes, il paraît que 12 kilos de carottes ingérées dans une journée, c'est mortel. Non mais c'est vrai, j'ai lu ça.
Mais un kilo de pépins de pommes aussi, c'est mortel. C'est mortel pour ton estomac, surtout, putain. T'as le pit qui éclate, mais méchamment, quoi. Cru ou cuite?
Je sais pas. Ça libère plus de provitamine A, cuit.
Ah, c'est possible. Bon, donc les oligo-éléments, je ne vais pas vous en faire la liste, ils sont contenus dans plein de choses. C'est bien aussi de surveiller. Si vous avez l'occasion de lire un peu une liste des aliments, alors ce qui est pas mal, voilà, c'est de prendre une liste des vitamines et des oligo-éléments, de regarder vite fait dans quoi ils sont contenus en bonne quantité, de se dire, est-ce que je mange un de ces trucs-là quand même assez régulièrement? Si vous en tombez sur un de ces trucs-là et que vous dites, putain, ces trucs-là, j'en mange jamais, ça tombe pile poil sur les trucs que j'aime pas, ça peut valoir le coup que vous renseigniez un petit peu dans quel aliment il y en aurait que vous seriez prêt à manger et que vous pensiez à le manger de temps en temps. Ça peut être pas mal pour essayer d'équilibrer un peu son alimentation dans ce domaine-là.
Et régulièrement, c'est quoi?
De quoi? D'en consommer régulièrement? J'aime pas trop les données de l'OMS où ils disent qu'il faut manger tant de milligrammes par jour, tout ça, c'est un peu chiant. Si on mange varié, qu'on en mange de temps en temps, on risque pas de carence absolue. C'est la carence absolue qui est vraiment méchante. Maintenant, bon, si tu veux être en bonne santé, selon les critères de bonne santé de certains groupes de médecins, il faut manger telle quantité. Après, pour la vitamine C, par exemple, il y en a qui vont dire qu'il faut ça comme minimum de vitamine C, mais tu as des gens qui font de la recherche sur la vitamine C qui disent qu'il faut en bouffer un gramme par jour. Ce qui n'est pas tout à fait faisable en mangeant que des trucs frais, c'est-à-dire qu'il faut compléter. Mais il y a un type qui disait que si tu bouffes un gramme de vitamine C par jour, tu évites toutes les maladies, tous les problèmes un peu de... au froid, t'as plus de rhume, t'as plus d'angine, les attaques grippaux, toutes ces conneries-là, il n'y a plus. Voilà, quand on est un peu enrhumé ou malade l'hiver, on se bouffe un bon kilo de clémentine et normalement ça va bien se retaper. Un petit jus de citron, ça le fait. La vitamine C est très très efficace pour tout ce qui est truc du au froid et attaques grippaux. Donc dans ces cas-là, on peut utiliser une quantité supplémentaire. Et l'idée que la vitamine C empêche de dormir, c'est une connerie. Quand on manque de vitamine C, effectivement, on est un peu patraque, on est un peu mou, mais on peut en bouffer plein. De toute façon, la vitamine C, si on en absorbe trop, l'organisme élimine l'excédent. Donc il n'y a pas de risque. Il y a des vitamines et des oligo-éléments pour lesquels on risque un excès. Le fluor, par exemple, qui est contenu en grosse quantité dans le thé, n'est pas bon du tout. Il ne faut pas faire d'excès de fluor. Donc les gens qui boivent 20 ou 30 thés par jour, c'est pas bon du tout pour la santé. Je sais plus ce que fait le fluor en excès, mais c'est pas bon. On pourrait dire, mais les Chinois, ils en boivent toute la journée du thé. Le truc à voir, c'est que les Chinois, ils font infuser le même thé toute la journée. Donc ils ont la dose de fluor qui est contenue dans leur thé du matin, et ils remettent de l'eau sur les mêmes feuilles. Donc il n'y a pas plus de fluor que ça dans les populations qui consomment beaucoup de thé. Surtout les Occidentaux qui consomment un sachet nouveau à chaque fois, là il y a un risque d'excès en fluor.
Et en plus, le thé, je crois que c'est un diurétique, donc ça te fait éliminer beaucoup, et c'est pas bon parce que ça te fait éliminer du... Enfin, ça te... C'est pas bon pour ton taux de fer. D'après ce que j'ai lu.
C'est possible, je ne sais plus exactement.
Ça peut-être pas assimilé.
C'est possible que ça bloque un peu l'assimilation du fer. Il y a plein de trucs qui interagissent les uns avec les autres et c'est assez difficile. Après maintenant, faut pas rester bloqué et se dire ah le thé ça bloque l'assimilation du fer, faut pas que je boive de thé, tu vois. Bon, tu peux boire du thé de temps en temps, mais faut se méfier quand on fait des excès d'un aliment ou d'une boisson. Faut faire gaffe, ça peut valoir le coup pour ça de lire un peu ces trucs là. Je vous les laisserai à disposition, ça prend 2 minutes de les lire, c'est toujours bien d'y avoir jeté un œil une fois, histoire d'être au courant. Bon, à côté de ça, faut pas trop s'en soucier. Moi je sais que j'ai lu ces trucs là il y a longtemps. Il y a eu une époque où je pesais mes aliments, je savais exactement à chaque repas ce que j'assimilais. Ça m'a vite fait chier parce que c'est sympathique aussi de saouler la gueule, de fumer des clopes et de manger ce qui nous fait plaisir, plutôt d'être un ayatollah de la bouffe. Et au final, je suis pas Et au final, je suis pas en plus mauvaise santé maintenant. Bon, j'ai pris un peu de bite, c'est vrai peut-être. Mais en dehors de ça, ça va bien.
Il faut faire un peu de sport, hein.
Ouais. Mais bon, voilà, donc il n'y a pas besoin non plus de se prendre la tête à peser. Si vraiment on a peur, mais il n'y a pas de risque, les risques sont faibles, même si on a un petit peu trop ou un petit manque d'un de ces trucs-là, ça va pas pourrir la santé, faut pas être bloqué là-dessus. On se pourrit trop la vie à vouloir trop y penser, et on prend plus le temps de vivre, et si on essaye d'équilibrer ces trucs-là pour pouvoir vivre longtemps, si c'est vivre longtemps à se faire chier à peser ses aliments, c'est dommage, il vaut mieux vivre moins longtemps, mais profiter de la vie. Donc c'est un juste équilibre à trouver, donc faites gaffe à ça. J'ai testé pour vous, c'est pas forcément nécessaire. Donc la vitamine B12, j'en ai parlé. La vitamine D aussi, oui, parlons-en vite fait. La vitamine D qui est contenue, qui est pas présente dans les végétaux. On en trouve dans les produits animaux bien sûr, mais il faut savoir que même ceux qui consomment des produits animaux, de toute façon, il y a environ 75% de la vitamine D qui est synthétisée par le corps quand on est exposé au soleil. Pour ça, quand on mange pas de produits animaux, c'est bien de prendre le soleil. Un quart d'heure en t-shirt, en plein air par jour suffit largement. Mais il faut penser à prendre le soleil. Ceux qui vivent dans une cave toute l'année et qui en plus sont végétaliens, ceux-là risquent une carence en vitamine D. Vitamine D qui sert à fixer le calcium. La carence en vitamine D chez les enfants fait des problèmes de rachitisme, c'est-à-dire que les os vont mal se développer, ils vont être fragiles. Donc c'est bien de prendre le soleil. Sans trop en prendre, sinon après ça fait des cancers de la peau, c'est mal. Du coup de soleil et ça fait mal de base. Donc voilà. Mais donc la vitamine D, on l'a vite fait. Donc le fer qu'il fallait prendre du citron avec, d'arroser d'un jus de citron, c'est lentille, c'est pas difficile à faire. Et c'est pas mal. Alors les jus de fruits, on pourrait dire aussi boire un jus d'orange avec de la vitamine C dedans avec leur pain, ça peut être pas mal. Bon. Principe de base d'alimentation qu'on devrait apprendre à tous les gamins à l'école tellement c'est élémentaire sur le fonctionnement de la digestion. Il y a des aliments qui se digèrent dans l'estomac, d'autres qui se digèrent dans les intestins. La plupart des nutriments contenus dans les fruits n'ont pas besoin d'être digérés dans l'estomac. L'estomac va servir à décomposer les glucides, c'est-à-dire une longue chaîne de glucides, l'amidon qui est la farine par exemple, a besoin d'être décomposé en glucose. L'amidon est composé de petites molécules de glucose à la chaîne. L'organisme, pour passer dans le sang, il faut que ce soit du glucose. Donc la salive d'abord va casser cette chaîne d'amidon, puis il y a des sucs gastriques dans l'estomac qui vont le diviser, et quand c'est que du glucose, ça passe à travers la paroi de l'estomac, la paroi de l'intestin, ça vient dans le sang, le sucre. Donc les sucres, ça se fait comme ça. Les protéines, il faut les décomposer en acides aminés pour qu'elles puissent être assimilées dans le sang, pareil. Mais les sucres contenus dans les fruits n'ont pas besoin d'être digérés comme ça. Les vitamines contenues dans les fruits passent directement dans le truc. Donc les fruits n'ont pas besoin d'être digérés dans l'estomac. Et même, on aurait tendance à dire que les fruits qui n'ont pas besoin d'être digérés, se trouvant bloqués pendant 3-4 heures dans un milieu chaud et acide, ont tendance à fermenter. Donc ça détruit les vitamines qui sont dans le fruit, ça fait des aigreurs d'estomac, ça perturbe la digestion des autres aliments, donc il vaudrait mieux ne pas manger de fruits sucrés qui risquent de fermenter en même temps que le repas. Manger un fruit en fin de repas, au niveau de l'équilibre alimentaire et de la bonne digestion, c'est une absurdité. Il y a des fruits qui fermentent moins que les autres. A priori, les baies, il n'y a pas de souci. Mais manger de l'ananas à fin de repas, c'est pas forcément très très bon. Essayez de bouffer du chocolat
avant,
qui vous bloque.
Ouais, juste avant le repas.
Avant le repas, le mieux c'est de manger des fruits à jeun. C'est là que tu vas mieux assimiler ce qu'ils ont dedans. Au petit déjeuner, tu te fais un petit déjeuner de fruits, c'est très bien. À 6h, genre ça fait 4-5 heures qu'on a mangé le repas le midi, on a un petit creux, mais le repas est passé. On va pas manger le repas du soir. La petite pause de fin d'année, le goûter, c'est très bien de manger des fruits. Voilà, une heure avant le repas, on a un petit creux, manger un fruit, c'est là que c'est le mieux. C'est le meilleur moment pour bien assimiler et pour être sûr que ça ne perturbe pas la digestion. Voilà, donc pour ce qui est des fruits. Donc c'est pour ça que prendre un jus de fruits au repas, c'est pas très bon. Les gens qui prennent un jus d'orange et un bol de lait le matin, ça fait cailler, ça fait mal au ventre, c'est pas bon. Ça c'est très bon, il y a plein de bonnes vitamines là-dedans.
Pour ça que
si
je
on prend le jus de fruits d'abord.
Tu peux prendre le jus de fruits d'abord. Genre si tu veux le matin tu prends ton jus d'orange, tu vas prendre ta douche, après tu prends ton petit déj, c'est bon, tes vitamines sont passées, tu as la pêche. Et ton estomac s'est réveillé, il a fait coucou, il s'est pas complètement réveillé parce qu'il n'a pas eu besoin de travailler, mais il y a le jus d'orange qui est passé, il s'est dit tiens il y a quelque chose, et il est en pleine forme quand ton petit déjeuner arrive.
Ah,
et voilà. Donc le petit jus d'orange ou le petit kiwi au réveil, très très bien.
Et Coca-Cola à la place du jus de fruits.
Ça doit bien réveiller aussi. C'est plus violent comme réveil pour l'estomac, mais ça marche.
Ça évite les fermentations.
Oui, c'est possible. Ça évite aussi beaucoup de choses. C'est un bon désinfectant, c'est vrai. Ça décape. Je pense que même quand t'as des amibes, le Coca-Cola peut être utile. Faut voir. Il y a des choses à en faire. Donc voilà pour les fruits. Donc pour dire que boire un verre de jus d'orange en même temps que ses lentilles en disant la vitamine C va m'aider à assimiler, c'est pas forcément judicieux. Après on est plus ou moins sensible à ça. Moi je sais qu'avant je bouffais n'importe quoi, j'ai commencé à faire attention. Et puis il m'est arrivé quelquefois de prendre un verre de jus d'ananas en même temps que mon repas. D'un seul coup, j'ai mon estomac qui était habitué à un autre confort, à marcher dans des conditions bonnes pour lui, d'un seul coup il a dit hey, qu'est-ce que tu déconnes, ça fait mal, et j'ai eu un mal de bile énorme. Ça arrive assez souvent, il y a pas mal de gens qui ont des problèmes de digestion, des aigreurs d'estomac, tout ça. Si déjà ils supprimaient les fruits ou les trucs qui fermentent trop pendant les repas, ça diminue déjà pas mal de problèmes de cet ordre là donc la salade de fruits comme dessert, c'est pas une bonne idée. Les fruits qui ne fermentent pas dans l'ensemble, les baies, donc framboises, cassis, groseilles, les fraises fermentent pas trop, les kiwis non plus. La banane, ne la considérons pas trop comme un fruit, c'est un concentré de sucre et d'amidon, c'est plus au niveau de la digestion, ça se digère dans l'estomac, c'est pour ça que ça cale bien le ventre aussi la banane. Ça se digère comme des céréales quasiment, ça contient pas les protéines, mais au niveau du sucre, on ne considère pas comme un fruit. Même au niveau de la façon dont ça pousse, ce serait presque plus une graminée, je ne sais pas exactement dans quel domaine ça appartient, mais voilà, ça pousse en une seule fois, ça fait une grosse grappe, ça ressemble presque plus à un épi, un régime de banane. C'est pas tout à fait un fruit, c'est un truc un peu particulier, c'est pas exactement un fruit au sens, c'est pas... ça contient des graines, mais la manière dont ça pousse, c'est une place à part, disons qu'on suit les classifications, on a du mal à comprendre.
Non, c'est pas une graminée, c'est une...
Je sais plus dans quel domaine ça
parle. C'est monocotylédone.
C'est monocotylédone. Enfin, je sais plus où ça se situe, mais...
Oui, enfin bon...
En tout cas, c'est au niveau de la digestion, en tout cas, c'est assez particulier la banane. Ça se mange pas comme ça, va pas se digérer comme une pomme, comme une orange. Quoi.
Et la tomate ?
Alors la tomate. Ah oui, donc petit truc comme ça pour expliquer une question à la con qui se pose souvent, la différence entre les fruits et les légumes. Le fruit est un terme de botanique, c'est la partie de la plante qu'on obtient après la fleur et qui contient les graines et qui va tomber, qui va pourrir tout ça. Un légume est un végétal comestible. Il y a des légumes fruits, des légumes racines, des légumes feuilles. La tomate est un légume fruit.
Mais c'est un légume qui...
C'est un fruit. Est-ce qu'on peut manger la tomate pendant le repas ?
Ben oui, mais c'est pas le problème.
Et c'est une question qui se pose très 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 souvent et à laquelle je n'ai pas de réponse. Donc à la limite, si on mange de la tomate, bien voilà. Donc autant manger la tomate en début de repas.
Oui, ou même.
Ou même manger en dehors des repas, la manger comme un fruit, la croquer comme un fruit. Tout à fait.
Si on mange tout en dehors des repas, à la fin.
C'est un problème. Non, mais les fruits que tu manges en dehors des repas. C'est exclusivement les fruits. Les fruits cuits ne posent pas de problème. Manger une compote en dessert, il n'y a pas de souci. La tomate cuite ne pose pas de souci.
Manger les frugivores.
Ils mangent des fruits pendant le repas, mais en même temps, ça se trouve que les frugivores ne font plus de repas en fait. Peut-être qu'ils ont oublié le principe de repas.
Oui.
C'est ça. Donc voilà, le petit speech sur les fruits, les petites questions sur les fruits et les légumes, comme ça vous serez moins con en société quand on vous posera la question. C'est une question qui ne devrait pas se poser. Voilà, légumes c'est un terme de cuisine, fruits c'est un terme de botanique. C'est pas le même registre. Donc, voilà.
Je peux vous donner une définition.
Le du fruit,
oui.
Le fruit, c'est ce qui vient après la fleur et qui contient les graines sur un végétal. Et alors que tu as des légumes fruits, alors les haricots, les courgettes, les tomates, les petits pois là c'est la graine dans le fruit, les légumes feuilles, tout ce qui est salade, épinards, tout ça, et les légumes racines, radis, carottes, navets, patates, tout ça. Terme légumes, et un légume c'est un végétal comestible.
Donc les fruits sont des légumes.
Les fruits sont des légumes. On va aller par là. Après, au niveau de la cuisine, on a tendance, quand on utilise le mot de fruit, c'est un usage abusif, mais généralement, ça veut dire un végétal qui a un fruit, mais qui est sucré, et qu'on mange comme une petite douceur et sucré à la fin du repas, ce qui est une erreur, ou en dehors des repas. Voilà, c'est un légume fruit sucré, qu'on résume à fruit.
On peut manger, par exemple, un plat épicé, machin, truc avec des fruits crus. Bon.
Non, des fruits crus c'est jamais bon. Cuit, y a pas de problème, mais cru c'est pas bon. Ouais. Alors après
La salade d'endives avec des pommes là et des petits raisins.
C'est pas très sale. Après t'es plus ou moins ton corps est plus ou moins sensible, parce que je dis, il y a des gens qui peuvent bouffer n'importe quoi, ils peuvent bouffer 3 kilos de fruits après leur repas, ils en ont rien à foutre, ils ont un estomac blindé et ils digèrent tout. Ouais. Y a pas de problème. Y a d'autres qui sont plus sensibles et dans ce cas-là faut faire gaffe. Mais bon, tu peux, il y a des tas de gens qui mangent leur petite salade d'endives, pommes, noix, roquefort avec un peu de vinaigre et que c'est très bon et qui sont très contents d'un petit bout de pomme dedans. Mais selon ces principes-là, c'est pas très digeste. Après, ça dépend de chacun, hein. C'est juste au niveau du fonctionnement des digestions, ça se digère dans l'intestin et pas dans l'estomac. Mais bon, on peut bouffer des fruits à la fin du repas, c'est pas pour ça qu'on va dépérir.
C'est pas évident pour tout le monde de digérer.
Tout à fait. Après, il y a d'autres trucs à voir au niveau de la digestion. Il y a des choses sur lesquelles on est bloqué au niveau de la digestion qui sont pas. Il y a des gens qui disent qu'ils digèrent pas le concombre. C'est parfois souvent les pépins de concombre qui sont trop pleins de flotte, qui se digèrent pas. Et il y a aussi un truc à voir, c'est peut-être aussi des gens qui vont dire je digère pas le poivron, quand j'en mange pendant 5 heures. Il y a d'autres aliments qui mangent pendant 5 heures après, parce qu'il y a beaucoup d'aliments qui te restent là. Mais sauf que ça leur est moins désagréable que le poivron, donc ils aiment juste pas avoir le goût du poivron. Ça se trouve, quand ils ont du fromage qui leur remonte pendant 5 heures, ils aiment bien le goût du fromage, ils sont contents de manger pendant 5 heures. C'est surtout à ce niveau-là que ça les dérange, c'est parce que le poivron qui arrive, mais il y a plein d'aliments qui reviennent comme ça. Pour le poivron, bon, c'est bien d'enlever la peau, pour le concombre, c'est bien d'enlever les pépins. Il y a deux, trois petits
choses. Quand tu enlèves la peau au poivron,
tu les fais griller. Ça sera atelier pratique, ça, si vous voulez. Tu passes sous un grill, quand ta peau est bien grillée, tu l'enfermes pour que l'humidité aide la peau à décoller. Et après, tu le pètes très facilement. Il y a beaucoup de salades est-européennes qui font ça, beaucoup de salades juives où ils te font ça. Tu fais griller ton poivron, tu mets de l'ail et de l'huile d'olive, c'est très très bon. Méditerranéen, poivron grillé, c'est très simple à faire et c'est très bon. On en fera certainement dans la semaine, c'est vraiment tout con à faire et ça marche très bien. Alors il en faut beaucoup pour arriver à faire un plat rien qu'avec ça, mais c'est un très bon petit truc à rajouter. Et du coup, il y a moins de problèmes de digestion.
Tu fais mariner avec de l'ail et de l'huile.
Avec de l'ail et l'huile, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, donc maintenant, on va passer au niveau alimentation diététique, c'est bon ? Vous avez d'autres questions ? Vous avez vu à peu près les trucs de base ?
Quelqu'un m'a demandé à propos du calcium. Comment je fais en étant végétalien ?
Alors du calcium.
Et je savais pas quoi répondre.
Il n'y a pas de carence en calcium. Le calcium, faut juste que tu aies de la vitamine D pour le fixer. Mais sinon, le calcium, il y en a presque plus dans les végétaux que dans les produits animaux. Il n'y a aucun souci.
Parce que tu vois que tout le monde pense que le calcium, ce n'est que dans le fromage.
C'est une connerie énorme.
Le lait,
il y en a, les calciums, il y en a principal. Il y en a beaucoup dans les fruits de mer et il y en a beaucoup dans les céréales. Les noix contiennent du calcium en grosse quantité.
Les fruits secs, les choux.
Les fruits secs contiennent, les choux contiennent du calcium. Donc il n'y a pas de souci avec le calcium. Ce qu'il y a, c'est qu'après, il faut le fixer. Alors au niveau du calcium, les gens qui vont prendre des... Alors pour l'eau, par exemple, l'eau très minéralisée, c'est comme de manger des cailloux. Les minéraux qui sont dans les eaux ne sont pas franchement assimilables directement. Ce que je disais, c'est mieux, on en revient au même truc, il vaut mieux manger si on veut absorber les vitamines, il vaut mieux qu'elles soient contenues dans un aliment que d'être mangé brut, un truc comme ça. C'est pareil, c'est manger du caillou, ça fera pas, c'est pas parce qu'on mange du calcaire qu'on va avoir un apport en calcium. C'est pas, ça ne s'assimile pas aussi facilement que ça. C'est pour ça que les minéraux qui sont contenus dans l'eau sont pas forcément très bons. Pour l'eau, il vaut mieux boire une eau très peu minéralisée, puisque la fonction principale de l'eau, c'est de nettoyer l'organisme. Donc le moins elle est chargée elle-même, le plus elle aura de place pour embarquer des choses quand elle repartira. Donc il vaut mieux prendre des eaux très peu minéralisées. Les meilleures en France, alors la Montroucous, c'est très très bonne.
La
Montroucous. Elle coûte un petit peu cher, mais c'est l'eau la moins minéralisée. Elle a un résidu de moins de 30 mg à sec, donc elle est très bonne. Parmi les eaux pas trop chères, l'eau de source de montagne de Carrefour est à moins de 100 mg. Excellent rapport qualité-prix quant à ce critère-là.
Il vaut mieux
Château Juppé à Bordeaux.
Château-Juppé,
robinet, hein.
Elle a combien robinet, de milligrammes de résidus à sec?
Ça dépend des zones.
Ça dépend des zones.
Oui, sur le Jura, il y en a beaucoup de calcaire dedans.
C'est ça. Donc c'est pas mal. Bon, après, c'est pas ça. Si on veut faire gaffe à sa bonne santé, c'est bien de prendre une eau très peu minéralisée. Ça permet de mieux nettoyer l'organisme. Puisqu'il y a la fonction
élémentaire.
Il y a plein de trucs. Ça peut être pas mal. Je sais pas ce que l'eau filtrée fait. Après, il y a l'osmosée. Il y a plein de trucs pour l'eau. J'ai lu des trucs là-dessus, je m'y connais pas suffisamment, ça m'a l'air un petit peu barré. C'est tout juste si on n'a pas des tendances animistes avec l'eau, qu'il faut respecter l'âme de l'eau pour qu'elle soit plus efficace, pour qu'elle reste vivante. Ça peut avoir un côté vrai, moi ça me prend un peu la tête ces trucs-là, mais il y a des choses. Pour la dynamiser, il faut dynamiser l'eau, oui.
Un côté vitaliste, il y a aussi l'eau de vie.
Oui, celle-là, elle est bien, elle est bonne, l'eau de vie.
Ouais, super.
Elle te décrase pas trop l'organisme, mais elle te décrase bien les boyaux. Hein. Ça, elle décape et puis elle réveille.
L'épar, par exemple, ça serait pas bon.
Ah non, l'épar, c'est très mauvais. L'épar, la contrex.
Ça apporte un apport de magnésium.
Oui, mais ce magnésium-là, j'irai pas débattre de ça avec nutritionniste, mais l'impression que j'ai de ce que j'ai lu, de ce que j'ai cru en comprendre, c'est que ce magnésium-là est moins assimilable que si tu bouffes des aliments qui contiennent du magnésium.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu manges de la B12 et tu bois de l'épar.
Bon. Tu fais quoi ici, magnésium? Ça fait péter aussi?
Et non, ça peut faire caca.
Ah bon?
Ah ouais?
Attends, je regarde vite fait magnésium, si je le retrouve dans tous mes papiers que j'ai imprimé vite fait hier matin. Mmh. Qu'il est le magnésium? Allez, magnésium! Non mais
je veux le cherche pas sur ce chocolat.
Ouais, mais je suis pas sûr que le chocolat. Non, le magnésium dans le chocolat, c'est une bonne excuse pour en bouffer, mais c'est pas ça qui est la meilleure source. Non, genre j'ai une carence en magnésium dans le chocolat.
Ah ouais, c'est ça.
Dans le ketchup,
Le ketchup aussi, oui. Certainement, ouais.
Dans le spaghetti sauce tomate.
Ouais. Magnésium, est-ce qu'ils me disent encore il y en a? Fruits oléagineux, céréales complètes, algues, graines germées, légumineuses, soja, fruits séchés, cacao, sucre de canne complet, viande des animaux bien nourris. Animaux bien nourris et les légumes, donc du magnésium il y en a partout et pas, il marque pas le chocolat là, bizarrement. Si j'ai dit cacao, ah oui, cacao, mais il est pas en tête de liste.
Oh non, mais...
mais il y en a, donc il y a pas mal de choses comme ça. Donc le magnésium, bon voilà, l'épar, le problème un peu en nutrition, c'est qu'il y a encore des. C'est que les connaissances médicales ont un peu du mal à se renouveler. C'est-à-dire que le vieux là, qui a étudié il y a 50 ans la médecine, là, c'est encore lui à lui qu'on se réfère parce qu'il est plus vieux, il est plus sage forcément. Sauf que la médecine fait des progrès entre-temps. Et que c'est les jeunes qui profitent de ces progrès dans leurs études et pas les vieux. Et le vieux qui continue de croire que de bouffer des cailloux, ça apporte des minéraux, bah celui-là, on l'écoute encore, hélas. Et c'est lui qui te fait boire de la épar, à mon avis. Je me trompe peut-être, mais c'est cette impression-là. Il y a beaucoup encore de médecins, les bons vieux médecins de famille qui se permettent de donner des conseils de nutrition. Tu te rends compte qu'ils ont au moins 15 ans de retard quand même. Non, pas mal de trucs. Je pourrais pas. J'ai déjà eu des exemples, j'arriverai pas à les retrouver là, mais il y a pas mal de fois, j'ai entendu des gens qui me racontaient ce que leur médecin leur avait dit. Ouais. Je n'ai pas étudié grand chose de diététique. J'ai étudié ça au lycée parce que j'ai fait un bac bio et que je m'intéressais pas mal à ce domaine-là. J'ai lu pas mal de bouquins en essayant de faire la part des choses entre les conneries de régime pour mes mères et les vraies données intéressantes. Ça m'a permis quand même de savoir qu'il y avait quand même pas mal de gens qui racontaient des conneries. Et j'ai eu l'occasion de tomber sur un anesthésiste d'ailleurs, qui était jeune, hein, qui avait 27-28 ans, qui apparemment ne connaissait rien, qui, ayant eu 8 ans d'études, se permettait de me dire qu'il en savait plus que moi. Il en savait moins que quelqu'un qui a passé 2 semaines à s'intéresser un minimum au sujet. Donc faut pas toujours écouter les conneries de... Si on va voir un spécialiste, oui, un nutritionniste, qui se tient au courant, qui écrit des bouquins, qui fait de la recherche, lui on peut l'écouter. On pourra même plus l'écouter que moi, parce que moi je peux encore dire des conneries alors que lui normalement connaît son sujet. En revanche, le médecin de famille, il vaut mieux pas l'écouter dans ces domaines-là. Pour soigner une angine, oui, il connaît bien. Pour conseiller quoi manger, pas forcément.
La plupart des gens nous disent, ben oui, mais regarde les nutritionnistes, ils nous disent de manger davantage, ils nous disent de manger de la viande.
Alors voyons un truc, c'est que les nutritionnistes, il y a ça d'habitude. Tu regardes les régimes pour mes mères dans les bouquins, voilà, les bouquins de la presse féminine. ils vont toujours se démerder pour essayer de concilier. Parce que si tu donnes, si tu dis directement aux gens, faut faire ça pour être en bonne santé. Et que les gens ils lisent et qu'ils disent, mais je peux pas moi, je peux pas, ils laissent tomber directement. Donc ils essayent de faire des compromis. Comme ils vont te dire, ok, la mère de famille de maintenant, le repas important en famille, comme tout le monde travaille, tout le monde est séparé, c'est le repas du soir qui est important. Alors que normalement, c'est le matin qu'il faut beaucoup manger, le midi pas mal, mais le soir on mange pas. Et t'as beaucoup. T'as beaucoup de régimes qui te sont présentés où on te dit il faut manger le soir parce que c'est un repas familial et que c'est un rôle social important. Donc ils concilient des choses comme ça. Et puis tu peux pas dire aux gens arrêtez complètement de manger ce que vous aimez. C'est pour ça qu'ils disent mangez des laitages. Il y a un équilibre qui est fait où on intègre ces choses-là. Mais on essaye de les réduire. On dit manger des laitages, mais mangez-en pas trop, parce que le lait, on sait, ça commence enfin à être, même au niveau de la santé, hein, en dehors des principes d'exploitation animale, tout ça, même pour la santé, le lait est mauvais, surtout le lait brut, les produits laitiers transformés un peu moins, mais le lait brut n'est pas bon du tout pour la santé. Ça fait 10 ans qu'on trouve ça, qu'on croise ça dans tous les magazines, les diètes info, tous les trucs de presse un peu diététique. Maintenant, on le croise dans Figaro Madame ou Elle Magazine, ou je ne sais quoi, comme presse féminine, où ils expliquent les régimes et les nouveaux trucs à la mode. Ça fait 2-3 ans voilà, qu'on en parle là-dedans. Donc, on commence à réduire. Et du coup, les nutritionnistes peuvent se permettre intégrer ça dedans. Mais tous les gens qui vont voir des naturopathes, par exemple, c'est très à la mode, il y a plein de gens maintenant, les médecines les médecines douces, des naturopathes, tu vas voir un naturopathe pour ta santé, le premier truc qu'il te dit, arrête les produits laitiers. Comment ça, t'es un peu fatigué, t'as des rougeurs, t'as des problèmes d'allergie, arrête les produits laitiers. Il y a plein de gens qui ont des allergies alimentaires, ils arrêtent les produits laitiers, ben, bizarrement, toutes leurs allergies alimentaires, ils disparaissent. Parce qu'à force de fatiguer l'organisme avec un truc qu'il a du mal à digérer, il devient vachement fragile. Alors si d'un seul coup tu supprimes le lait et que l'organisme reprend de la force, des trucs auxquels il est un petit peu fragile à côté de ça, d'un seul coup il les encaisse beaucoup mieux. C'est pour ça que tous les nutritionnistes, de base, tous les gens que j'ai croisés dernièrement qui sont allés voir un nutritionniste, ils arrêtent les produits laitiers. Ils commencent par arrêter les produits laitiers. Parce qu'ils s'y pas bon. Parce qu'ils savent pas quoi te recommander d'autre.
Mmh. Et parce que si une femme est enceinte. C'est ce qu'ils disent. Quoi.
Parce qu'ils veulent.
Ouais. J'ai eu un problème l'année dernière avec un problème de santé très fort. Et ils voulaient absolument que je mange de la viande, j'avais dit qu'il y avait une tradition. Et donc ils ont voulu absolument me faire une cure de sang d'œuf.
Ouais.
J'ai refusé aussi, mais voilà. Mais j'étais hyper inquiète parce que du coup, je me disais que j'ai en face de moi des pompes. Qui s'occupe de ma santé et moi j'ai pas envie de leur obéir et en même temps
Mais c'est pour c'est voilà. Le problème, c'est que ces mecs-là, quand ils vont te conseiller quoi manger, ils ont leur référence culturelle de bouffe. Ils disent qu'est-ce que dans la bouffe que je connais, il faut te conseiller. Ils te conseillent ces trucs-là, qui pour eux sont des choses normales. Si toi, t'en décalage, t'aurais un groupe de pontes vegan, ils te conseilleraient autre chose.
Moi, en l'occurrence, on m'a dit qu'il fallait absolument que dans les 15 jours qui suivent, j'ai un apport en protéines que
carnet. Mon
corps puisse assimiler très très vite. Voilà. C'est-à-dire qu'il fallait, en 8 jours, il fallait que je puisse assimiler un certain nombre de protéines que je ne pouvais pas assimiler autrement que par le sang d'œuf.
Oui, peut-être.
Ça s'est avéré.
Ça s'est vérifié. C'est parce qu'il y a aussi un truc. Ils n'ont pas envie de prendre de risques.
Je ne peux pas dire que voilà, c'est avéré.
Ils n'ont pas envie de prendre de risques. Mais ils savent que le sang de bœuf ça marche. Ils ont pas envie de te trouver un truc bizarre dont ils soient pas sûrs. Ils savent que le sang de bœuf ça marche. Pour pas risquer d'être accusé de faute professionnelle en t'ayant pas bien conseillé, ils préfèrent risquer de dire ça.
Parce que moi en fait on m'a rien dit du tout au départ. On m'a donné un médicament et comme évidemment je regarde toujours les compositions, j'ai vu que c'était à base de sang de bœuf. Et bon voilà, j'ai réagi à ce moment-là. Mais au départ ils m'ont rien dit du tout. Donc ça veut dire que si tu leur dis pas que t'es végétarien, donc.
Oui, mais c'est ça, il faut l'exprimer. Pour eux, les gens sont normaux. Végétariens, c'est pas être normal.
Ben oui.
Ben ouais, c'est aussi comme ça.
Mais non, parce qu'après, moi, j'en ai vachement parlé avec eux. Ils n'étaient pas du tout contre le fait que je mange pas bien. C'est qu'à un moment donné, il en fallait, quoi.
Dans ce cas-là, le mieux à faire, c'est on fait allô Jérôme et on lui demande. Lui, il a étudié la question. Lui, il est médecin. Il n'est pas infaillible.
Pas.
Mais il se posera peut-être la question.
Il m'a dit qu'il allait se poser, mais en l'occurrence, il ne savait pas.
C'est vrai que les protéines animales sont censées être un peu plus assimilables que les protéines végétales. Comme le fer animal est plus facile à assimiler,
J'ai mis beaucoup plus longtemps et puis j'ai encore des carences énormes.
Si on sait qu'on mélange les protéines, on peut avoir exactement les mêmes protéines.
Oui, mais elles s'assimilent pas pareil, c'est ce qu'on dit. C'est que les protéines animales s'intègrent plus vite à ton corps. De la même manière que le fer animal va être plus facile à assimiler, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une question de rapidité. Au niveau des protéines que tu as pour ta santé, tu les auras, mais elles viendront moins vite. Il n'y a pas besoin que tes protéines aillent vite, il suffit que tu en manges. Mais dans le cas d'Isabelle, qui avait besoin de protéines très vite pour un problème de santé...
Hein, je ne sais pas ce qui a été exactement le problème.
C'est un problème de sang, de globules rouges.
Ça veut dire que j'avais plus de globules rouges.
Donc dans ce cas-là, effectivement, mais dans ce cas-là, le sang de bœuf, c'est bingo, t'as à la fois le fer et les protéines. C'est vrai que si t'as un problème de sang, tu manges du sang, ça aide, quoi. C'est le plus clair, le plus évident, le plus direct.
Je veux dire qu'au niveau des protéines, il n'y a pas de vraie différence protéines animales, protéines végétales. Les protéines, c'est des protéines, c'est des chaînes d'acides aminés. Dans tous les, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, les acides aminés, c'est les mêmes 20 acides aminés, je veux dire, c'est une constante de tous les êtres vivants. Alors ça, c'est un des rares trucs qui sont vraiment, très très rares exceptions, c'est les mêmes 20 acides aminés partout, et pratiquement toutes les protéines contiennent toutes ces 20 acides aminés, enfin, dans des proportions différentes. Tu peux avoir des trucs de protéines végétales qui soient moins faciles à assimiler, mais parce que les cellules végétales sont plus difficiles à briser, parce qu'elles sont... La cellule est faite de cellulose, donc elle est moins digeste, il y a des problèmes de digestibilité à ce niveau-là. Mais il y a des préparations à base de protéines végétales. Par exemple, la levure, c'est des protéines végétales qui sont extrêmement faciles à digérer. Et qui s'assimile aussi vite que la même quantité de protéines animales.
Les graines germées aussi, j'imagine, s'assimilent très vite.
Bah, les graines germées, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, il y a des traitements aussi. Je veux dire, le Marmite, par exemple. Bon,
le Marmite, je ne savais pas.
Ben, disons que c'est des protéines. Alors, c'est pas conseillable dans ce cas-là parce que c'est plein de sel et que tu ne peux pas en bouffer une grande quantité. Mais je veux dire, par exemple, la sauce soja, c'est le même principe. C'est des protéines fermenté et qui permettent briser les cellules.
Mais un truc qui peut bien marcher dans ces cas-là, c'est
le tempeh, c'est très très digeste. Par exemple, le tempeh, c'est c'est prédigéré un petit peu par
un truc qui doit être efficace dans ces cas-là, c'est les compléments alimentaires pour bodybuilders. Les mecs qui font de la muscu, ils ont besoin de protéines justement qui vont très vite. Et ils t'en font des trucs véganes. Je sais pas si on les trouve en France.
Mais souvent c'est
au Vegan Festival, je sais où j'étais allé il y a 3 ans à Londres, il y avait un stand de bodybuilders véganes et ils te proposaient des gros pots de protéines en poudre véganes. Donc ça, a priori, elles sont super assimilables.
Souvent c'est des acides aminés synthétiques, c'est-à-dire ils mettent dedans des acides aminés synthétiques. Alors, on peut se dire c'est pas naturel et tout ça, mais les gens qui bouffent de la viande, ils bouffent des acides aminés synthétiques parce que les mêmes acides aminés, pour des raisons économiques, sont fabriqués aussi à partir de pétrole et de produits purement minéraux. On fabrique des acides aminés, de la méthionine en particulier. Il y a des usines entières de fabrication de méthionine pour les élevages de poulets. Et puis après, les gens, ils bouffent du poulet, la méthionine qu'ils récupèrent de la viande de poulet, c'est de la méthionine
elle vient de
synthèse, quoi. Donc c'est pas enfin, je veux dire que c'est pas spécialement bizarre que des fois on puisse remplacer les trucs par des trucs de synthèse, quoi.
Mais pour ce qui me concerne, ce que je voulais dire aussi, c'est que mon équipe médicale n'a pas été complètement diagnostiquée. Elle m'a aidé aussi à trouver.
Oui, mais il n'y a pas que des cons, c'est les médecins. Hein. Oui, non, il n'y a pas que des abrutis, il y a des gens qui sont ouverts et qui sont ouverts à tes choix aussi, bien sûr. Et qui peuvent, d'ailleurs, ils ont normalement suffisamment de connaissances, s'ils sont un peu ouverts, pour justement s'adapter et te renseigner. Si jamais ils sont pas foutus de le faire, ils ne méritent pas leur diplôme un peu, quoi. S'ils ont leur diplôme que pour savoir faire une opération d'appendicite ou que pour savoir faire une... S'ils savent faire qu'une seule chose, ils ne méritent pas leur titre. Faut qu'il soit capable de s'adapter un petit peu aux différents patients.
Une chose que je pense dans ce coup, j'ai entendu des gens parler de protéines végétales, mais j'ai pas entendu écouter des gens parler du fait que pas de différentes variétés de légumes ont des
acides aminés différents. Par exemple, les légumineuses, ils ont le protéine, ils ont, justement, pas le nom, mais ils ont une combination comme ça, mais il faut avoir le riz, ou
c'est
le,
ça exactement noix, ce que disait. C'est ce que disait. Le seul végétal qui contient tous les acides aminés essentiels, c'est le soja.
Oui, exactement.
Sinon, après, il faut, c'est ce que je disais au début sur les protéines, c'est comme c'est là-dessus que j'ai commencé. Il faut mélanger les céréales et les légumineuses, alterner, pas forcément dans le même repas. Parce que de toute façon, le stock de protéines, d'acides aminés de l'organisme, il se tient sur longtemps, hein, ça tourne. Hein, il y a même une partie de celui qui est évacué. Dans les excréments, la période où les excréments sont dans l'intestin, il y a même une partie des protéines qui sont évacuées dedans qui est déjà recyclée. Qui part, donc ça tourne. S'il manque un acide aminé sur un repas, il n'y a pas de problème. Sur le repas suivant, ça viendra. Du moment que le stock de l'organisme, globalement, est entretenu, ça va.
Oui, François, c'est ce que tu dis et c'est ce qu'on entend souvent. Particulièrement en France, mais je veux dire par exemple en Angleterre, ça on l'entend pratiquement plus. Je veux dire, au niveau médical, ça ils le disent plus, ils le disaient une époque, ils l'ont dit à partir des années 20-30 parce que c'était. Et puis dans les années 70, il y a eu un bouquin qui est sorti qui a parlé de cette histoire de combinaison de protéines. Et bon, c'est resté un petit peu, mais pour moi, c'est des trucs qui font partie de la légende. D'abord, dire qu'il n'y a pas les mêmes, que les protéines animales n'ont pas tous les acides aminés.
Végétal qui vient en
végétal, au niveau factuel, c'est faux.
Pas dans les proportions qu'il nous faut, en fait. C'est pas dans les bonnes proportions. Alors,
les proportions sont différentes. C'est-à-dire, il va y avoir, par exemple, un des trucs, c'est un acide aminé qui est plutôt dont il n'y a plutôt pas assez dans les graines, dans les céréales. C'est la lysine, c'est un acide aminé qui manque plutôt. Mais ça veut dire qu'il y en a, disons, à peu près 30% inférieur à ce qu'ils disent qui serait le taux, disons qu'il y a 1,5% de lysine au lieu d'avoir 2% qui serait le taux préférable, quoi. Mais je veux dire, c'est pas vrai de dire qu'il n'y en a pas, quoi. Je veux dire, quand on lit souvent dans les magazines, les protéines végétales n'ont pas tous les acides aminés. C'est même pas qu'ils n'ont pas tous, enfin, c'est même pas que. Mais je veux dire, c'est des différences de proportions qui sont de l'ordre de 50% de moins, 20% de moins. Et en plus, ça porte sur deux acides aminés précis et pas sur tous les acides aminés essentiels, quoi. C'est juste deux trucs.
Mais c'est le même problème que la B12, c'est dans le risque de carence, autant essayer de faire un apport large.
Et en même temps, si on regarde les chiffres qui sont donnés par l'OMS, même si on bouffe que des céréales, si on mangeait que des céréales, on aurait assez de lysine. Je veux dire, ça serait vraiment une carence, mais vraiment minime, quoi, je veux dire, indétectable. Et comme personne ne mange que des céréales, ou alors vraiment dans des cas très particuliers, je veux dire, les gens qui mangent que du riz, parce que c'est la macrobiotique et des trucs comme ça, il y a des gens qui peuvent ne manger que ça, ou dans certains pays, le manioc, par exemple, c'est très pauvre en protéines, ça peut faire des carences. Mais je veux dire, à mon avis, l'histoire qu'il faut faire des complémentations, c'est quelque chose qu'on nous dit, mais qui est pas vrai, qui est vrai, à mon avis, que pour les gens qui sont
qui mangent pas de trucs assez variés,
qui sont pour les protéines, je pense qu'il faut faire attention pour les enfants en croissance et pour les femmes quand elles sont enceintes ou allaitantes. Il faut qu'elles fassent attention à leurs protéines. Mais pour un être humain adulte, enfin en fin de croissance, qui a fini sa croissance et qui est pas en train de faire un bébé, il n'y a pas besoin de faire attention à ces protéines, sauf si on mange que des bonbons toute la journée.
Voilà. Mais quand quelqu'un qui travaille dans une construction, par exemple, quelqu'un qui fait des travaux très 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 physiques, j'ai fait ce genre de travail de temps en temps. Et, il y a des gens qui, ce que j'ai appris, c'est impossible de faire ce genre de travail si on ne fait pas attention.
Non, ça c'est pas vrai, c'est même le contraire, c'est-à-dire que plus on mange, plus on fait d'exercice physique, plus on dépense d'énergie, donc on va manger plus. Alors si par exemple on a besoin de deux fois plus d'énergie, on va manger automatiquement deux fois plus de protéines, grosso modo. On va manger deux fois plus d'aliments, on va absorber tout naturellement deux fois plus de protéines. Mais quand on a besoin de plus d'énergie, on n'a pas besoin de deux fois plus de protéines.
Tu vois ce que c'est, je veux dire? L'énergie, c'est pas les protéines.
Quand tu travailles avec le muscle, tu fais des choses qui cassent le muscle, qui fait douleur le jour après.
Oui, mais
c'est des choses qui fait croître le muscle. Parce qu'il y a le travail qui est fait
par bien sûr.
Ou qui peut faire le contraire. Parce que quand tu fais des choses, tu travailles comme ça, et tu n'as pas assez de protéines, le contraire se passe.
Non, mais quand tu fais croître le muscle, tu as une période où tu as peut-être besoin proportionnellement d'un peu plus de protéines, mais comme tu dépenses plus d'énergie, déjà tu as plus de protéines.
Tu manges plus, donc tu as plus de protéines qui viennent dans ton alimentation, ouais. Forcément.
Le seul truc, c'est que par exemple, un sportif qui veut simplement se maintenir en forme, mais qui veut battre des records et tout ça. Là, oui, c'est vrai, disons que ça sert à rien dans le sens que plus lui bat de records, plus les autres ils en battent pas, quoi. Enfin, je veux dire que c'est pas quelque chose d'utile. Mais pour arriver à faire le plus de muscles possible, plus tu manges de protéines, plus tu fais de muscles.
Un bodybuilder a besoin de beaucoup de protéines parce que justement, il veut que ses muscles grossissent vite. Donc il faut qu'il y ait le matériau, il faut qu'il y ait les protéines pour que les muscles grossissent vite.
Mais c'est presque une forme de dopage, quoi. Ça
peut être le même cas quand on commence ce genre de
muscles. La testostérone, ça aide à développer les muscles. C'est pour ça que les hommes ont des muscles plus développés que les femmes, parce que la testostérone fait que ça, les muscles se développent plus vite.
Mais c'est pas vrai que quelqu'un qui a besoin simplement qui fait de l'exercice, beaucoup d'exercice physique, il n'a pas besoin de beaucoup plus de protéines ou de plus de protéines que quelqu'un d'autre.
Surtout que s'il a besoin de plus d'énergie, les protéines ne donnent pas d'énergie. Les protéines donnent de quoi construire le corps, mais pas de l'énergie. Le corps est capable de faire de l'énergie avec les protéines, mais c'est mauvais. Si tu manges que des protéines, ton corps va faire de l'énergie avec, mais comme je disais, ça va faire des résidus et qui sont mauvais pour tes reins. Tu vois ce que c'est les reins ? Kidneys.
Oui.
Et tu vois, quand tu utilises les muscles, tu dis ça fait mal après. Mais je veux dire, peut-être qu'il y a des cellules, des muscles qui sont détruites par l'effort. Mais je veux dire, c'est détruit, ça veut dire que c'est retransformé en acides aminés qui sont réutilisés pour faire à nouveau des muscles.
Non, la douleur dans les muscles, c'est même pas forcément le muscle qui se détruit, c'est l'acide lactique qui se dégage. C'est l'énergie qui est dans tes cellules musculaires, les stocks d'énergie qui sont là, qui dégagent un résidu. Et pour l'évacuer, il faut boire de la bière, par exemple. voilà.
Là, c'est le base.
Voilà, David, un bon bodybuilder, boit de la bière pour pas avoir de problème de...
Voilà, c'est le but. Ouais.
C'est le but, voilà. C'est pour pas avoir de points de côté et de.
Il y a beaucoup de vitamines et de douleurs dans la bière.
Les vitamines, oui.
Mais c'est bien la bière.
Raison, ouais.
Oui.
Le principal défaut de la bière, c'est que le sucre qui est contenu dedans est très glycémiant et du coup ça te fait des grosses montées de sucre et c'est mauvais pour ton taux d'insuline.
Et puis il y a de l'eau dans la bière. L'eau,
c'est la vie.
C'est l'origine de tout.
Voilà. Et puis la bière, ça nourrit. Manger rapide, manger liquide, buvez de la bière.
Buvez de l'eau qui a du goût.
C'était le cours de cuisine, manger de la bière.
Mais dans ce cas, c'est un peu difficile parce qu'il y a des gens qui... Oui, je suis d'accord. Petit à petit, j'ai commencé de faire de moins en moins des combinations. Quand j'ai commencé d'être végétarien, je pensais que c'était nécessaire d'avoir...
Bien sûr, parce qu'on parle tellement des carences que tu as peur et que tu fais attention.
Oui, mais maintenant, c'est de moins en moins, j'ai fait des combinations. J'ai fait des combinaisons toujours un peu... J'essaye d'avoir un peu d'alcool chaque jour.
Voilà, mais il faut manger, chaque jour c'est pas nécessaire, mais il faut manger varié. Ouais. David, si tu manges que du riz, tout le temps que du riz, tu risques un problème. Mais bon, si tu manges varié, si tu manges de temps en temps du blé, du riz, un peu de lentilles, du soja, de ci, de là, il n'y a aucun problème. Je disais, il n'y a pas besoin de mesurer exactement les quantités que tu assimiles. Du moment que c'est varié, tu auras toujours le minimum nécessaire, il n'y a pas de grosse inquiétude à se faire. Au niveau des carences, les gens qui mangent que des pizzas, des sandwichs grecs et des McDonald's ont beaucoup plus de soucis à se faire que les végétaliens. Et c'est pourtant ceux qui se posent le moins de questions parce qu'ils mangent la bouffe la plus commune qu'il y ait. Et pourtant, eux, ils ont des gros risques de carence. Hein. Même un bon vieux scorbut, des fois. Hein. Heureusement qu'il y a un petit cornichon, une rondelle de tomate dans le Big Mac.
de cholestérol, par exemple.
Ah oui, ça, mais alors ça...
Et même bien. Un truc au niveau du tiers-monde, où souvent on dit dans les pays du tiers-monde, il manque de protéines. Enfin, je sais pas, des fois on montre des images d'enfants qui ont l'énorme ventre, là, le crochet corps, quelque chose comme ça, ils disent oui, c'est un manque de protéines. Il y a peut-être une question de manque de protéines spécifique par rapport à certains types d'alimentation, mais une des raisons principales de manque de protéines, c'est le manque de calories. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sous-nourri en termes de calories, en termes de quantité totale d'aliments, d'énergie, il va brûler les protéines pour faire de l'énergie. Parce que l'énergie, c'est le premier besoin physique. Et donc, comme il va brûler des protéines, je veux dire, c'est pas en lui donnant plus de protéines qu'on va lui permettre d'être en meilleure santé. C'est en lui donnant plus d'énergie, plus
si
de calories.
Si on lui donne plus, si on lui donne de l'huile et du sucre, et ses protéines, plutôt que de les utiliser pour l'énergie, il les utilisera pour construire son corps.
Et classiquement, je veux dire, les aliments qui étaient considérés comme des aliments riches, des aliments très nourrissants, c'était des aliments qui donnaient beaucoup d'énergie. Et on parlait à une époque, on disait les oléagineux, pour dire les graines qui sont, par exemple, le soja, on appelait ça un oléagineux. Et ça fait quelques années, une dizaine d'années, qu'on se met à en parler en termes de protéagineux. Parce que aujourd'hui, de plus en plus, on déplace l'accent sur les protéines. Mais c'est pas pour des raisons fondamentales de diététique. C'est parce que les protéines, c'est ça qui permet de faire pousser les poulets. C'est pas parce qu'on a besoin de protéines, besoin de beaucoup de protéines. C'est parce qu'on a besoin de beaucoup de protéines pour faire pousser des poulets. Et on finit par nous mettre dans la tête que l'aliment de base fondamental, qui est le plus important, le plus riche, qui manque dans le monde, c'est les protéines. Mais c'est pas les protéines qui sont l'aliment qui manque. Ce qui manque, c'est l'énergie. C'est le... Puis les oléagineux, c'est l'huile. C'est-à-dire, l'huile, c'est très riche en énergie. Et c'est ça qui...
C'est un peu les deux quand même.
Ah oui, de toute façon, quand tu manges pas assez, tu manques de tout.
Non, mais je...
Mais c'est déjà...
Un petit peu, très peu.
Oui, mais j'avais regardé, parce que j'avais été étonné par des gens qui disaient « Oui, moi, je mange que des fruits, je suis en très bonne santé. » Si on regarde la composition des fruits, ou même de la salade, ou des pommes de terre, on peut être étonné par ça, ou tu regardes sur l'étiquette, tu regardes, je sais pas, sauce tomate, jus de tomate, eh bien, tu regardes le rapport, la quantité de protéines par rapport à l'énergie totale, et c'est suffisant pour les besoins qu'on a de protéines. Je veux dire, les besoins presque, enfin, officiels de protéines qui sont 50 grammes par jour. Grosso modo, on a besoin de 12% de notre énergie en protéines. Eh bien, sans, si on mangeait que de la salade, on aurait assez de protéines, sauf qu'il faudrait bouffer 10 kg de salade, enfin de l'étude.
Vas-y, pour les intestins, avec tous les fibres.
Oui, avec tous les acides aminés, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que ça ferait des grosses quantités. Il y aurait peut-être des problèmes par ailleurs. Enfin, je ne dis pas de faire ça, mais je veux dire que foncièrement, on n'a pas, il n'y a pas un vrai problème de quantité de protéines. Dans certains aliments restrictifs, il y a un problème. Si tu manges trop d'huile, tu peux avoir des problèmes de protéines. Pour les enfants en croissance, c'est bien d'avoir plus de protéines, mais...
Pour les femmes enceintes.
Oui, pour les femmes enceintes, oui.
C'est ça, ouais.
Oui.
Surtout tous les moments de la vie où il y a besoin d'une croissance rapide à un niveau ou à un autre, il faut des protéines parce qu'il y a besoin de plus de matériaux.
C'est-à-dire que, par exemple, pour une végétalienne, il va falloir faire particulièrement attention à l'association de ces aliments, c'est ça?
Parce que, ouais, donc toujours à manger varié, mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe à manger, peut-être pas manger comme elle mange d'habitude sans se poser trop de questions. Ouais. C'est vrai que dans ces cas-là, ça peut valoir le coup de se poser des questions et de surveiller son alimentation un peu plus que d'habitude.
Toutes les femmes enceintes, qu'elles soient végétariennes ou pas, de toute façon, on leur donne des conseils de diététique. Enfin, il en faut, oui, pour une femme enceinte végétarienne, il faut des conseils de diététique.
Comme pour les autres, de toute façon.
Voilà.
Bon, on est prêt, on passe au côté cuisine de l'atelier cuisine.
Juste un truc.
Vas-y, dis. Mais c'est bien, c'est important, de toute façon, il faut le dire.
Tout consommer des légumes crus.
Ouais.
La valeur nutritive d'un aliment d'un légume ou d'un légume cru est beaucoup plus...
Alors ça dépend. Alors t'as des vitamines, t'as des vitamines et des nutriments d'ensemble qui se surtout les vitamines qui se détruisent à la cuisson. Si tu fais cuire tes fruits, la vitamine C, tu l'oublies. La vitamine C, il faut bouffer des fruits et légumes crus, c'est clair. Tu en auras un petit peu parce qu'elle ne se détruit pas complètement, mais s'il t'en reste peut-être moins de 5% de ce qu'il y avait à la base. En revanche, il y a des nutriments, je crois que c'est le lycopène qui est contenu dans la tomate, qui est bon pour le cœur, qui est très très bon pour le cœur, et il me semble qu'il est plus assimilable dans la tomate cuite que dans la tomate crue. Il y a ce que disait Yves, c'est dans la carotte cuite, la vitamine A est mieux assimilée dans la carotte cuite que dans la carotte crue.
Ouais, mais si tu cuis la carotte, tout ce qui est... Enfin,
tu perds certaines vitamines, ouais, mais t'en gagnes d'autres. Ouais. Donc c'est bien de varier. Sauf faut équilibrer. Même au niveau de la satiété, de quand tu comptes ton appétit, c'est un des points que je dois aborder, le cru et le cuit, c'est que c'est bien de mélanger les deux. Moi, pendant un temps, j'étais quasiment crudivore. J'avais jamais l'impression d'avoir l'estomac rempli. J'aime bien la sensation d'avoir le ventre bien rempli. Je suis un gros mangeur. quand je bouffais juste de la salade de la tomate, à l'époque j'étais végétarien, je mangeais 50 grammes de fromage avec, ça me suffisait pas, j'avais l'impression d'avoir de la flotte dans l'estomac. Alors qu'il suffisait que je mange une courgette cuite à côté, ça j'avais l'impression d'avoir mieux mangé. Parce que le cuit donne une impression de satiété plus importante. T'as l'impression que ça te calme mieux. Donc c'est bien d'avoir un peu des deux. Ce sont les principes assez généraux en diététique aujourd'hui qu'on apprend aux assistantes sociales qui doivent s'occuper des familles pour leur dire comment bien manger. J'ai une copine qui a fait ça, avec qui on a discuté. Dans un menu équilibré, normalement, il y a une crudité et une cuidité. Il faut les deux.
Une
cuidité. Ouais, oui, il faut. Il y a des études de pointe où ils utilisent des mots compliqués. Hein. C'est cuidité. Et ben voilà, t'as appris quelque chose aujourd'hui. Il est cuidité. Et oui, aussi, alors, le défaut de ces trucs-là pour équilibrer, c'est qu'ils essaient d'équilibrer tout au niveau d'un repas, ce qui est absurde. L'alimentation ne s'équilibre pas sur un repas, ça s'équilibre sur une journée, sur une semaine, sur un ensemble. Quand on élabore du coup dans ce truc-là un menu pour une cantine, par exemple, pour la restauration collective, on est censé mettre un produit laitier, un produit animal, une crudité, une cuidité et une céréale, par exemple. S'il y a tout ça dans un menu, c'est un menu équilibré. Mais moi, je dirais, le produit laitier plus la chair animale, c'est trop. Il n'y a pas besoin d'en manger autant. Il n'y aura même pas besoin d'en manger vu qu'on arrive à équilibrer sans ça. On peut faire un menu équilibré vegan sans aucun souci. En revanche, c'est bien d'intégrer effectivement les crudités et les cuidités pour avoir un apport de vitamines, bien manger tout ça. Et que des crudités, ça a des défauts aussi. Mais en même temps, il y a des crudistes qui sont en très bonne santé et qui assimilent bien.
Avec d'autres choses évidemment, pas que ça quoi. Avec du citron, du riz complet, machin, bon.
Ça peut être très bon. Mais ça, c'est un truc à voir aussi. Alors, un autre truc à voir, qui fait partie, alors on va commencer doucement dans les trucs de la cuisine, les fruits et les légumes. Les légumes, on n'est pas forcé, c'est pas parce qu'on a l'habitude de bouffer un légume cru ou de le bouffer cuit qu'on peut pas faire l'autre sens. La salade se cuit très bien. La salade se cuit très très bien. En cuisine traditionnelle, on a tendance à faire des endives braisées, des trucs comme ça, qu'on fait généralement griller avec du jus de viande. Mais on peut tout à fait, dans ses légumes sautés, dans son soupçoy ou sa ratatouille, mettre le petit fond de batavia qui reste, on le coupe en petits morceaux, on le fait sauter avec. C'est très chouette, quoi. Ça peut être très très bon. Moi, j'en ai mis autrefois, j'ai essayé, ma femme connaissait pas, elle trouvait ça génial. C'est un truc élémentaire. La salade qui traîne dans le frigo, on ne sait plus quoi foutre, clac 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 clac, on la fait sauter avec les légumes et ça marche. Pourquoi pas la faire cuire? On fait bien cuire des épinards qui sont des feuilles. Pourquoi pas faire cuire les feuilles de batavia? Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Il y a les gens qui découvrent la betterave crue, que c'est très bon la betterave crue. La betterave, on a l'habitude de la manger cuite, mais rien n'empêche de la manger crue. Le navet peut très bien se manger cru aussi. Le céleri rave cuit est très bon. Une soupe au céleri rave cuit est bien meilleure. Et c'est moins fort même que le céleri branche. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le céleri branche. Alors que le céleri rave a un goût beaucoup plus fin. Ça passe mieux. Il faut pas hésiter. Disons que... Il faut pas hésiter à goûter tous les aliments sous différentes formes. Ils n'ont pas les mêmes propriétés, ils n'ont pas le même goût. Une carotte râpée, coupée en petites lamelles, sautée ou bouillie n'aura pas le même goût. La carotte n'a pas tout le temps le même goût. Carotte râpée et carotte bouillie, ça n'a rien à voir. Et sur les formes, ça n'a rien à voir. Si la carotte, si elle est cuite à l'eau, elle va avoir un certain goût, mais si elle est sautée, qu'elle grille un peu et qu'elle caramélise, elle va développer un autre goût. C'est pour ça que dans les légumes cuits, le légume grillé, sauté et le légume bouilli ou cuit à la vapeur n'ont pas du tout les mêmes goûts. A voir au niveau de la conservation vitaminique, que comme la chaleur est pas bonne pour les vitamines, et qu'en plus il y a beaucoup de vitamines qui partent dans l'eau, faire bouillir les légumes, c'est pas très très bon parce qu'il y a beaucoup de vitamines qui se barrent. C'est pour ça que dans les méthodes de cuisson, si on peut éviter de jeter l'eau de cuisson, c'est toujours mieux. On évite de perdre des vitamines. Pour ça que la vapeur, c'est bien, parce que la vapeur, l'eau elle passe juste sous forme de vapeur, elle apporte la chaleur, elle évite de dessécher, mais elle n'emporte pas les vitamines. Donc c'est un bon mode de cuisson. La cuisson en cocotte minute est pas mal préconisée par beaucoup de nutritionnistes et de gens qui parlent de diététique et de tout ça, parce qu'en cocotte minute, ça cuit à une température moins haute, grâce à la pression, c'est pour ça que ça bout plus vite. Donc les vitamines sont moins attaquées par la chaleur, et en plus ça va plus vite. Donc on garde plus de vitamines dans une cuisson à la cocotte que dans une cuisson où on fait mijoter ou bouillir dans l'eau pendant des heures et des heures.
Un potage, c'est idéal.
Ah. Voilà. Ouais, mais tu cuis souvent longtemps le potage. Fais ton potage à la cocotte et ça c'est impeccable. Mais mange-le tout de suite. Ouais, ouais.
garder.
Faut pas trop le garder parce qu'après ça détériore et puis en plus ça il y a des saloperies qui se développent dedans.
C'est un truc avec la pression.
La pression fait que ça boue plus haut. Comme en altitude, ça boue. La pression. Comment ? La cocotte ? Oui, d'accord. La cocotte minute, oui, c'est la cuisson. C'est pas tout à fait autocuiseur. Autocuiseur, c'est autre chose. En autocuiseur, vraiment, c'est un truc électrique et tu mets dedans et c'est magique, c'est cuit. Le rice cooker, le nom en français, c'est autocuiseur. Donc voilà, donc pour aborder la cuisine, mes petits conseils donc pour voilà, faut cuisiner. Donc ne pas hésiter justement à goûter les légumes dans tous leurs états. Les céréales, c'est pas la peine. Manger du riz cru, c'est pas nécessaire. Vous pouvez essayer, c'est toujours instructif. Il faut pas hésiter à faire des expériences, mais c'est pas nécessaire. En revanche, n'hésitez pas à goûter. Alors le navet cru, c'est intéressant à goûter. Le navet cru est pas mauvais. Tout le monde va pas particulièrement aimer. C'est vrai qu'il faut une certaine ouverture d'esprit que par rapport aux légumes que les végétaliens peuvent avoir. Le carnivore de base, on lui fait bouffer du navet cru, il va un peu faire la gueule. Mais c'est pas mauvais.
Mais le navet cru, c'est vachement. C'est super bon. Enfin,
carrément.
Mais ça a du goût.
Mais carrément, ça a du goût. C'est un petit peu piquant, mais un peu sucré en même temps.
C'est un goût de radis. Enfin, ça n'a rien à voir avec le navet.
Ça n'a rien à voir. Ce que je dis, ça n'a rien à voir. Comme la carotte crue ou la carotte cuite n'ont pas le même goût.
Non, mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir une ouverture. En fait, tout le monde aime les radis. Enfin, pas tout le monde.
Oui, non, mais c'est le goût de l'expérimentation. Parce que si on reste sur les habitudes qu'on a, on mange pas le navet cru. Personne ne mange, il n'y a aucune recette qui intègre du navet cru normalement. Faut pas être limité par les habitudes alimentaires.
Le navet. C'est une racine, c'est comme un radis, et c'est grand, c'est blanc.
De quoi le navet?
Rava.
C'est une racine rose et blanche.
Rapa, rava. Rapa.
Comment tu dirais?
Non, c'est rouge,
c'est blanc. Je sais plus. Non. Tu dis comment? Radis, c'est facile, radis. Et ça s'utilise dans quoi comme recette, tes navets?
Non, c'est cuit, c'est comme le betterave.
Ça devient transparent. C'est ça, c'est celui-là.
Radis, betterave et navet.
Le navet.
Ah bon?
D'accord. Tu vois pas la différence?
Non, mais j'explique pas. Hein.
Bah du coup, tu goûtes, et avec tes papilles gustatives, tu feras la différence. Le radis aussi peut se cuire, il n'y a pas de souci à cuire le radis. Le radis se cuit très bien, au moins comme le navet. On peut tout cuire, la pomme de terre crue est pas bonne. Il y a des trucs qui ne se mangent pas crus. C'est même
comme ça, un peu plus ou moins.
Et il paraîtrait même que ça peut être nocif, la patate crue.
Le radis avec des feuilles un peu comme ça.
Le radis, ça se voit bien.
Oui, mais
le navet, c'est comme ça, mais c'est plus gros, c'est une taille comme ça.
Donc voilà, donc ça, ne pas
rose
ne pas hésiter à tester les goûts des choses.
Oui, c'est d'accord.
Pour cuisiner, pour élaborer des recettes, il faut connaître le goût des aliments. Il faut connaître le goût des aliments tout seul. Le goût des aliments indépendamment sur leurs différentes formes. Il ne faut pas hésiter, comme je disais pour la carotte, à faire de la carotte toute seule avec un peu de sel à la limite, la tester râpée, la tester coupée en rondelles fines, crue. La tester sautée et la tester bouillie pour arriver à connaître les différents goûts que peut avoir la carotte elle-même. Parce que toujours mélanger ces légumes dans un truc, on finit par pas connaître le goût qu'il a indépendamment. Comment savoir quelle épice associer avec tel ou tel légume si on ne connaît pas le goût de l'épice seule et le goût du légume seul? Si on veut essayer d'innover et de se faire soi-même son idée des goûts qu'on a, ce qu'on apprécie et ce qu'on pourrait aimer mélanger, il faut connaître le goût des différents aliments indépendamment. Maintenant, on n'est pas obligé de manger du curcuma à la petite cuillère pour connaître le goût du curcuma. Il suffit de sentir, d'en prendre un petit peu sur le bout du doigt, d'essayer de voir si on aime ou si on n'aime pas. Voir ça. Après, ce qui est important, c'est justement de savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Faut pas essayer de cuisiner des trucs qu'on n'aime pas. On n'arrivera jamais à les préparer correctement. C'est clair, c'est net. Voilà, moi j'ai jamais été capable de cuisiner le poisson, même avant d'être vegan. Je suis content d'être vegan, ça me fait une bonne excuse pour qu'on n'essaye pas de m'enfourguer. Le poisson, ça sent mauvais, c'est atroce, je sais pas comment les gens font pour manger ça. Et par extension, les fruits de mer et les algues, c'est dégueulasse, ça pue, ça sent la mer, c'est comme la marée basse, bah c'est sale. Donc ne me demandez pas par exemple comment on fait des putains de cuisine japonaise avec des algues dégueulasses, qui sont des poissons pourris. Ça, je ne sais pas faire.
C'est vrai que les algues, c'est dégueulasse.
C'est sale,
oui,
les
algues. Ça, je sais pas, mais c'est un goût. C'est juteux de...
une paella végane, bah, tu mets des algues et t'as le goût de la mer sans tuer l'animal.
Ouais, mais le goût de la mer, moi j'aime pas le goût de la mer. C'est toi qui me gêne, c'est le goût de la mer.
Les choses, tu peux dire ça, mais parfois quand tu, quand quelqu'un d'autre te montre une autre façon de faire la même chose. Apprendre de,
ah mais bien sûr, mais il est possible que quelqu'un me prépare un jour des algues et que je dise waouh c'est génial, vive les algues. ça m'est arrivé, comme ça m'arrive souvent de préparer. J'ai réconcilié des gens avec le chou rouge, ils pensaient que le chou rouge c'était mauvais. J'ai une salade de chou rouge que je fais avec du vinaigre de riz, de la coriandre, des trucs comme ça qui passe très bien et qui est très bonne. Il y a pas mal d'aliments comme ça parce que moi-même j'aime pas beaucoup le chou rouge, mais le chou rouge je le prépare d'une manière qui me paraît bonne. Et du coup, il y a plein de gens qui n'aiment pas trop le chou rouge qui d'un seul coup disent ouais, dans cette combinaison-là, dans cette recette-là, ça va. Parce que moi-même, j'ai goûté le chou rouge, je me suis dit qu'est-ce qui peut me plaire dans le goût du chou rouge, avec quoi je vais l'associer pour souligner ce goût qui me plaît et pour cacher la partie qui ne me plaît pas. Mais c'est parce que j'ai goûté le chou rouge cru tout seul et que je sais ce qui me plaît dedans. Chou rouge qui est excellent cuit aussi, qu'on fait peu en France, mais que les Allemands font pas mal. Et c'est pas mal du tout, très acide, mais très très bon. Avec quelques petites graines de carvi, c'est excellent. Donc voilà, donc vraiment goûter les produits eux-mêmes et les apprécier et pas trop essayer de cuisiner des trucs qu'on n'aime pas. Moi j'aime. Si tu trouves une occasion, pourquoi pas. Si tu trouves une recette que tu as envie de dire j'aime pas, mais peut-être que je peux aimer, tu peux faire des expériences. Mais c'est de l'expérimental. Tu vas pas pouvoir développer une recette dès le début en partant d'un aliment que tu n'aimes pas. Tu n'arriveras pas à trouver les bonnes idées pour en faire quelque chose de bien. Il faut que tu aimes les aliments pour dire « Ah oui, j'ai envie de les mélanger comme ça, ça va être super bon. » Si tu n'es pas enthousiaste par rapport à ce que tu vas faire, ta recette, tu ne peux pas vraiment la réussir. Tu n'auras pas l'envie de la réussir.
Mais en fait, je ne peux pas penser d'un aliment particulier que je dise que j'aime pas ça. Je peux dire que j'aime pas quand c'est fait comme ça.
Tout à fait, mais il faut goûter les aliments sous leurs différentes formes. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout les carottes cuites, mais qui adorent les carottes crues. Pour en revenir à l'exemple de la carotte qui me paraît bon parce que le goût est vraiment. La différence de goût est vraiment marquée.
Pour moi, c'est bon. Brocoli, c'est comme ça.
T'aimes pas le brocoli cru?
Cru, ça doit être cru. Pour moi,
cuit, t'aimes pas?
C'est excellent.
Ils en mangent énormément aux États-Unis.
Ils ont du fer dans
le brocoli.
Le coq, tu as raison.
Ma mère a toujours fait le brocoli cru.
À cuit?
Oh, ça, même avec le fromage, parce que je fais des choses avec le Velveeta. Et il y a plusieurs enfants qui disent « Oh, c'est bien avec le fromage !» Mais même ça, je fais pas.
Mais donc t'as pas besoin de chercher à mettre du brocoli cuit dans ce que tu cuisines par exemple. Si t'aimes pas ça, n'en mets pas. On n'est pas obligé de le mettre.
Mais en fait, oui, j'aime bien le brocoli cuit quand c'est fait avec la sauce de soja, un peu de l'ail, il y a des gens qui peuvent le faire très
mais dans ce cas-là, ce que tu...
chinois.
Ouais. Oh, c'est comme la coriandre. La coriandre est une herbe que beaucoup de gens n'aiment pas parce qu'ils trouvent que c'est un goût de savon. Moi aussi, la coriandre, pendant longtemps, ça m'a dérangé. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la coriandre parce qu'on en bouffe dans la cuisine chinoise souvent et c'est difficile. Moi, j'aime pas la coriandre dans la cuisine chinoise. En revanche, j'en ai mangé en Inde avec des tomates et d'un coup, j'ai goûté des recettes où je me suis dit, ouais, là, le goût de la coriandre est intéressant. Et maintenant, j'arrive à l'intégrer dans certaines recettes. Pas partout, il y a des maniaques de la coriandre qu'on met partout, comme il y a des fous du persil qu'on met partout. Ça marche pas partout. Il faut arriver à trouver dans quel. Voilà, il faut être attentif aussi quand on goûte des plats et se dire d'un seul coup, ah ouais tiens, comme ça c'est pas mal. Mais quel est le mélange? Essayer d'analyser, de se dire quel est le mélange qui me plaît là, pour essayer justement de le cultiver, de l'entretenir et de se dire voilà, je sais que j'aime cet aliment quand il est combiné comme ça. Et voilà, comme j'ai testé, je sais que la coriandre avec le chou rouge, ça marche super bien. Et j'ai réconcilié des gens aussi bien avec la coriandre qu'avec le chou rouge grâce à cette recette-là. Qui est une pauvre salade de chou rouge, tout ce qu'il y a de plus banal.
Moi, je l'ai connu là-bas, le
coriandre. Et moi, avant, dans le guacamole que je faisais, je mettais de la coriandre, ça m'embêtait parce que je trouvais que ça donnait un goût de savon. Maintenant que je me suis entraîné à ça, je peux en mettre et je sais dans quelle proportion en mettre pour pas qu'il y en ait trop.
Il en faut pas beaucoup, hein.
Oui, mais il en faut. Alors ça, j'ai discuté avec des Mexicains. Les deux seuls ingrédients qui sont constants dans le guacamole, c'est l'avocat et la coriandre. Les autres, il y a tout le monde à sa recette différente qui est soi-disant la seule recette de guacamole. Ça, c'est comme pour le couscous chez les Maghrébins. Ils ont tous, toutes les mamas, c'est la recette du couscous. Alors le concentré de tomate qu'elle met dedans, je doute que ce soit un ingrédient traditionnel du Maghreb. Mais en tout cas, en tout cas, c'est tout le seul couscous qui existe.
On les connaît.
Voilà. Exactement, ils ont leur recette. Exactement, chacun a ses petits trucs. Et le guacamole au Mexique, apparemment, c'est ça. Il y a des grands débats qui se font sur quelle est la vraie recette du guacamole. Voilà, est-ce qu'il faut l'avocat en purée, l'écraser ? Mais bon, guacamole, ça veut dire purée d'avocat, à peu de choses près. Hein.
Oui, mais... Waka, ça veut dire purée.
Non, molle, ça veut dire purée. Waka, c'est aguacatel, c'est l'avocat, et molle, c'est sauce.
Ah d'accord.
Ouais. Ça veut dire sauce d'avocat, un peu sauce frais, guacamole. Bon, c'est... Il y a des...
Ça se dit comment, guacamole?
Je sais pas, si tu veux en nahuatl ou si tu le veux en espagnol ou en français.
Je sais pas, oui.
En nahuatl, le mot originel d'avocat, c'est aguacatel. Ouais. Qui veut dire avocat. Qui a donné avocat.
Aguacate.
Aguacate. En nahuatl, c'est ça?
En quoi?
En nahuatl.
En nahuatl. C'est la langue, c'est la langue d'Amérique centrale, qui est la langue des, qui est la langue traditionnelle des indigènes du Mexique, qui était la langue des Aztèques, de tout cela. C'est le nahuatl. Et donc c'est le mot avocat vient de là, c'est aguacatl, je le prononce peut-être pas très bien. Et le guaca de guacamole, à mon avis, vient directement de ça. Et mole, dans la cuisine mexicaine, ça désigne souvent des sauces. La sauce mole, c'est la fameuse sauce au chocolat et au piment. Mais dans l'ensemble, ça veut dire sauce. Et j'en suis arrivé à la conclusion assez directe que guacamole, ça veut dire sauce d'avocat. Ce qui n'était pas très très compliqué à voir. J'ai pas besoin d'être un grand linguiste pour en arriver là. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est assez juste.
Mais je me demande si le mot mole qui vient de nahuatl, parce qu'en espagnol, molaire.
C'est possible. C'est possible que ce soit un mélange de nahuatl et d'espagnol.
Ou si fait. Je fais de la sauce tomate, c'est la tomate tamolée.
Tomate tamolée.
Tomate molée.
Tomate
molée.
Le mollet, je
crois
que c'est un plat aussi traditionnel dans l'Équateur. À base, c'est en fait une genre de fondue au chocolat, mais épicé.
C'est ça, la sauce mollet au Mexique, c'est la sauce au cacao.
Ouais,
sauce au chocolat, épicée. Oui, tu fais revenir de la tomate, de l'ail, tout ça. J'ai pris quelques cours de cuisine mexicaine auprès d'une des seules personnes qui a été capable de donner des cours.
Ouais.
Est-ce que c'est bon?
La sauce mollet. Si tu vois un peu, tu vois un peu les sauces sucrées qu'on fait avec le gibier, des trucs comme ça, les viandes, tu vois ces sauces un peu épaisses et brunes qui sont assez fortes et sucrées, c'est un peu dans le même domaine. C'est pour ça que ça peut être pas mal aussi à utiliser des fois pour des carnivores, parce que tu as ce goût fort. Tu vois, l'ail qui est revenu, qui a un goût très fort, le chocolat, tout ça, ça peut donner un truc. C'est une sauce épaisse et brune. Ça ressemblera à un fond brun qu'on utilise en cuisine de viande. C'est pas mal du tout. Essayez. Moi, je connais pas bien la recette. Faut demander à Anna, une amie mexicaine, végétarienne, qui cuisine bien, qui a fait pas mal de cuisine végane, végétarienne, mexicaine sur Paris, et qui a des recettes à m'apprendre. Ce qui est rare, mais elle a des recettes à m'apprendre. Vu qu'elle utilise des ingrédients que je connais pas, il y a des ingrédients. Là, j'ai des pâtes sautées, qui est une variété de kenopode mexicaine, qui a un aromate qu'on connaît pas du tout en France, qui a un goût très particulier. Les feuilles vertes qui traînent sur la table là. Ça a une odeur très particulière
c'est
qui.
L'intro.
Hmm
cilantro,
c'est le coriandre.
Ah ouais.
Voilà. Non, ça c'est pas de sauté le nom en espagnol, mais c'est vraiment une herbe mexicaine. Il y a deux trois aromates comme ça. Il y a la hierba santa aussi, qui est une variété de poivre mexicain, qui est très particulière et qu'on n'a pas dans la cuisine de par chez nous. Les Mexicains ont pas mal de, ont récupéré pas mal d'ingrédients de la cuisine traditionnelle des indigènes et qui donne un goût très particulier. Et qu'on a des goûts qu'on n'a pas du tout par ici, qui peuvent être intéressants, qui peuvent être très intéressants à goûter et à intégrer justement. Ça peut être très chouette de mélanger des nouveaux ingrédients. Parce qu'il faut. Ils ont énormément de choses. Il faut pas hésiter justement en cuisine, surtout en cuisine végétalienne. Il faut arrêter d'essayer absolument de rester sur les bases qu'on a de la cuisine traditionnelle. Il faut arrêter de vouloir faire de la choucroute, absolument, parce que de la choucroute sans saucisses, à moins de mettre des saucisses véganes, choucroute, cassoulet, tout ça, sans viande, c'est pas possible. Donc oublions, il faut pas chercher à imiter sauerkraut.
Ah, oui.
Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord.
J'ai fait une tarte à la choucroute.
Non, pas chercher à imiter, moi je suis dans la phase où au contraire...
Mais c'est bien, mais tu vas être limité. Mais tu vas être très limité, tu te laisses pas... Si tu, voilà, c'est bien d'essayer de limiter, mais il faut aussi s'ouvrir et dire, ok, il faut être prêt à innover complètement. Il n'y a pas, d'inquiétude à innover. On peut innover.
Je suis d'accord, mais le fait aussi. Ben non, en vrai, je suis le premier à dire qu'il faut innover en cuisine. Mais si tu as la nostalgie, je suis certaine que certains d'entre
bien
nous
sûr.
Ont la nostalgie, j'allais dire de n'importe quoi, du lapin à la moutarde. Enfin, je pense au lapin à la moutarde parce que c'est une recette que j'aime détourner et avec du seitan, c'est trois fois meilleur qu'avec du lapin. Et j'ai convaincu des carnivores vraiment. Avec, et donc je trouve que là, si on peut détourner, au contraire,
tout à fait. On peut obtenir des choses très bien, mais il faut pas rester. Voilà, ce qu'il faut, c'est il faut pas rester bloqué là-dessus. Il voilà. Faut pas rester bloqué sur la culture gastronomique qu'on a. Il faut savoir sortir de ces plats, les plats traditionnels où il y a forcément de la viande. Il faut pas rester sur ces plats et se sentir obligé de trouver des substituts de viande. Ouais, ça peut donner des résultats très chouettes, c'est certain.
Ouais.
Mais faut, voilà, il faut se permettre d'innover parce que de toute façon, on a une culture culinaire où la viande a une place. Elle est prépondérante et elle est même constante. Surtout dans la gastronomie occidentale, les Asiatiques et les Orientaux ont moins ce problème-là. Mais dans la cuisine occidentale, il y a de la viande partout. Tous les plats, il y a de la viande à un endroit.
Le légume n'est pas si important que ça en fait. C'est
non, du tout.
Et on
tout
met
à
pas
fait.
En valeur,
ouais,
il y a des pays
en fait.
Où c'est pire. Hein. Genre l'Espagne, on va faire un séjour en Espagne, ça va être malheureux.
Ah, tu bouffes. Oui, mais tu as plus de facilité pour trouver des légumes, peut-être aussi.
Non, ouais, mais pas dans les restos. Dans les restos, les trucs comme ça.
Non, tu n'en pas toi-même.
Il faut également des mélanges. Comme nous, on n'a pas. Nous, on va faire accompagnement riz. Voilà. Ouais. Comme ça. En Espagne, maintenant, ils ont besoin des accompagnements.
Ils utilisent ça plus en sauce, en fait, qu'en vraiment en accompagnement à part entière. Tu vois
genre,
Donc voilà, faut.
Aussi, hein, tu peux trouver des lentilles, des pois chiches, dans n'importe quel restaurant en Espagne. Hein.
Moi j'aimerais bien la fondue savoyarde vegan.
Ce serait bien aussi, mais le fromage je crois qu'en tant que français hein, c'est dur. Hein.
Mais on peut pas essayer avec le fromage à
cannelle. Moi
je n'aurai pas assez pour faire une fondue savoyarde pour 20 personnes,
oui,
mais ce sera à tester à l'occasion.
Oui, ouais.
Mais de la même manière que de faire de la chantilly avec le lait de coco, ça j'ai pas encore testé, faut que j'essaye, mais la chantilly et le lait de coco, à mon avis ça serait pas mal. À savoir que le lait de coco, voilà par exemple que j'en parle, le lait de coco c'est un peu mon ingrédient fétiche, c'est un ingrédient qui est très peu exploité. Il est exploité en Asie comme base de sauce, pour faire un curry de quoi que ce soit. En France on a tendance à le faire avec de la crème, c'est lourd, c'est pas bon. Au lait de coco c'est beaucoup plus léger, ça passe mieux. Pour beaucoup de sauces aux épices, le lait de coco passe beaucoup mieux.
Mais c'est quoi le lait de coco? Parce qu'il y a lait de coco, il y a jus de coco transparent.
Il y a l'eau de coco.
Il y a plusieurs trucs et moi je
t'as noix de coco à de l'eau dedans, de l'eau de coco. Oui. Ça c'est ce que tu. Quand tu casses un noix de coco, tu bois dans ton verre, ça c'est de l'eau de coco.
Et ça c'est de l'eau qui est transparente.
C'est de l'eau de coco, c'est juste
ça. Oui.
Le lait de coco, c'est tu prends la chair de noix de coco, tu la râpes,
d'accord,
tu la mélanges avec un peu d'eau et tu l'écrases et c'est le gras et le jus qui sortent. Avec un peu de elle est broyée, mixée,
en fait,
très fin.
C'est du jus de la pulpe, enfin du comme une orange sur la pulpe.
C'est ça, c'est du jus c'est pressé de noix de coco.
La noix de coco, la chair de la noix de coco, tu râpes, tu mixes, etc. Et ensuite tu retires le jus de ça et tu retires
d'accord.
La partie
on
pressant. De la pulpe, en fait la partie.
Et ça donne un liquide qui réagit, qui au niveau de la composition est très proche de la crème liquide allégée par exemple. Ça contient 15% de matière grasse comme les petites briques de crème bleue là.
Je pas les rouges, mais les bleus. Bien défini. Si j'achète lait de coco, je suis sûr d'avoir à peu près
ça s'appelle ce truc-là. Crème ou lait de coco, c'est celui-là.
Ouais. Il y a aussi.
C'est ça, c'est plus comme la crème. C'est comme de la crème liquide. Et ça s'utilise exactement pareil. Ça réagit pareil. D'où la question que je me pose, est-ce qu'on peut pas le monter en chantilly? Et il y a des chances.
Moi j'ai essayé. Hein.
Tu as essayé, ça marche pas? En le refroidissant? Tu l'as mis dans un bac de glaçons?
Oui.
Et ça marche pas?
J'ai aussi un truc que j'avais acheté.
Moi j'ai réussi à le faire monter.
Ça reste très bleu, mais ça monte pas.
Ça monte pas. Moi j'avais réussi à le faire un peu monter, mais pas obtenir la. J'ai pas encore fait suffisamment d'expérience dans ce domaine-là. Et vu que je suis un des seuls à faire autant d'expérience sur le lait de coco, forcément il n'y a personne d'autre pour me filer un coup de main. Mais il y a pas mal de. Il y a pas mal de choses à en faire du lait de coco. Et pour beaucoup de sauces, pour toute la bonne vieille sauce champignon qui va sur les pâtes, celle qu'on met sur les escalopes de dinde ou des trucs comme ça, avec du lait de coco, ça passe très bien. Pour remplacer la crème, ça va. Alors bon, le goût du lait de coco, il y a un goût de coco assez particulier qui n'est pas le goût du Bounty. Il y a plein de gens qui disent qu'ils aiment pas la noix de coco parce qu'ils sont gavés de Bounty. J'ai jamais supporté les Bounty.
J'adorais les Bounty.
Ah ouais, mais moi je supporte pas, c'est écœurant. C'est
écœurant. C'est écœurant.
Voilà. Donc c'est pas, la noix de coco, c'est pas le goût du Bounty, il faut arrêter. Si on met du sucre dedans et qu'en plus on rajoute de la noix de coco râpée, oui, ça reviendra à ça, mais le noix de coco, pas ça. En revanche, tout à fait, tu peux la saler, la poivrer. Et c'est même conseillé d'y ajouter beaucoup d'épices, parce que sinon ça peut être un peu dérangeant. Avec du safran, très bien.
Une recette brésilienne, je suis tombée amoureuse de cette recette quand je suis allée au Brésil, je ne me rappelle plus le nom du plat, mais en fait tu fais revenir donc les légumes dans de l'huile de palme, et ensuite tu rajoutes en fait, bon, il y a du persil, un certain nombre d'épices, et des petits piments malaguettes, et en fait pour contrer un peu le piment, tu mets donc en fin de cuisson du lait de coco. Et avec des cœurs de palmier, mais c'est délicieux. Tu sers ça en fait en accompagnement du riz. Un mélange des deux, c'est mes...
Le lait de coco, c'est un ingrédient qui est... Plafond, alors bon, pour le trouver, le problème, c'est que ça coûte un petit peu cher souvent quand on l'achète dans le supermarché. Moi, là, je le trouve chez les Chinois. C'est du lait de coco qui vient de Thaïlande, puisque les deux cuisines qui intègrent le plus le lait de coco sont la cuisine thaï et la cuisine brésilienne. Sauf que les Brésiliens en exportent assez peu parce qu'ils utilisent plus du lait de coco frais, ils le font eux-mêmes. On en trouve dans certaines épiceries brésiliennes, mais il coûte vraiment très cher. Il vaut mieux acheter du lait de coco thaï, qu'on ne peut pas boire tel quel parce qu'il est un peu indigeste, mais qui pour la cuisson est très bien. Je le paye 1,50€ le litre, ce qui est vraiment pas cher. C'est le prix qu'on paye la petite brique de Suzy One de 20 centilitres chez Carrefour. Alors que Suzy One est dégueulasse, hein. Il a un goût de plâtre, il est atroce. Hein. Il est vraiment dégueulasse. Celui-ci est bon et il coûte rien. Faut juste avoir un supermarché asiatique pas loin, quoi. Donc il y en a pas mal, d'ailleurs s'il y en a qui veulent en embarquer à la fin des estivales, si on n'a pas tout bouffé, vous pourrez en prendre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il faut avoir le bon plan, la bonne adresse pour acheter du lait de coco. Mais ça coûte pas cher et c'est super pratique. Ça, c'est pas, et c'est pas un substitut, c'est pas de la fausse crème. C'est pas comme de la crème de soja qui cherche à imiter la crème liquide. C'est un vrai ingrédient qui existe dans des tas de cuisines, ils utilisent du lait de coco. C'est pas un substitut. Moi, je préfère largement utiliser des vrais ingrédients que d'utiliser des substituts. Ça sert à rien d'essayer de... Ça peut être chouette de retrouver des goûts qu'on connaît et qu'on aime. Mais chercher absolument à essayer d'imiter les produits animaux, on n'arrivera jamais à obtenir les mêmes goûts que les vrais produits animaux. Ça sert à rien de... Si on veut une viande qui a du goût de viande, on prend de la viande, on prend pas de la viande de soja.
Mais des fois, c'est quand même pratique de trouver du lait de soja.
Bien sûr.
Du lait de crème vache.
Tout à fait. Ça peut être très pratique. Surtout qu'encore une fois, on a une culture à la base, une culture gastronomique, qui est où il y a des produits animaux. Tu peux bouffer tes céréales avec du thé, mais de base tu prends plutôt avec du lait. Et si t'as pas de lait de vache, tu prends du lait de soja. C'est quand même mieux. On reste sur ces habitudes là. Mais c'est bien aussi d'en sortir un peu et de développer d'autres choses. Alors au niveau des substituts, ce qui est bien à voir aussi dans la composition d'une assiette par exemple. La plupart des gens ont besoin de quelque chose qui occupe la place de la viande. On peut faire un repas équilibré avec des légumes et des céréales, il n'y a pas de souci. Mais faire un truc qui a la forme d'une galette, c'est génial. La galette de lentilles, c'est tout con, ça ressemble à un steak haché, ça fait le truc grillé dans l'assiette. Dans mes menus de démonstration que je fais aux potes qui disent « Ah mais non, on ne peut pas manger bien quand on mange végétalien », j'ai mon petit menu de démo qui marche très très bien et je leur fais des galettes de lentilles et c'est impeccable. Parce que ça ressemble vraiment à un steak haché. Un peu de ketchup dessus et youpi, on se croirait dans l'enfance. Ils manquent que les frites et youpi quoi. C'est génial. C'est parfait. Le beau vieux steak haché frites ketchup avec une galette de lentilles, ça passe bien. Ça ressemble au niveau de l'aspect. C'est grillé autour, c'est moelleux à l'intérieur, ça ressemble. Et c'est pas un substitut de viande, c'est une galette de lentilles. Mais au niveau de l'organisation de l'assiette, de la composition du repas, ça, au niveau de la présentation de l'aspect, ça va vers des repères qu'on connaît et qui rassurent. On a sa portion de trucs. Et c'est très simple. On prend n'importe quel haricot ou lentille, on les écrase, un peu de farine pour que ça tienne. Et on fait, ou avec des flocons, on les fait. Il suffit juste d'obtenir une consistance qui tienne sous la main, qui soit un peu, qui tienne en galette, qui se décompose pas. Il suffit de les faire bien revenir dans un peu d'huile, un côté et l'autre, quand c'est bien grillé. C'est comme un steak, c'est aussi con à cuire que de la viande. Il n'y a rien de plus simple. C'est juste un peu plus long à préparer qu'un steak. Avant. Mais à cuire, c'est aussi simple. Et ça marche très très bien et ça plaît à tout le monde. Et même, c'est bon en plus. Même quand c'est pas pour un substitut de viande, c'est très bon à manger. Donc ça, c'est pas mal. On peut aussi mettre un peu de boulgour. Si on veut, cette même préparation, on peut la faire en boulette. Les keftés des Turcs ou des Libanais, ou qui sont des boulettes, qui peuvent se faire à la viande, mais eux-mêmes traditionnellement en font. Les falafels sont des boulettes de pois chiches et de fèves, avec un peu de boulgour. Ça ressemble à une boulette de viande à peu de choses près, parce que c'est cuit pareil. Les céréales et les légumineuses peuvent tout à fait se substituer à la viande si on trouve un moyen de le cuire pareil. Et ça occupe la place dans l'assiette. Et ça, c'est vraiment un truc qui marche bien. Je sais que moi, sur mes buffets, je fais des boulettes de lentilles. Je prends des lentilles, je mélange avec un peu de boulgour, de l'échalote, du persil, quelques épices, du sel, du poivre, une petite goutte d'huile, et je fais frire ça. Ça marche super bien. Super, super bien.
Ça, c'est un grand produit
de la récongère, c'est génial. Ça marche bien. Alors le problème en grosse quantité, c'est qu'au bout d'un moment, ça pue un peu la friture chez toi. Moi, je l'ai fait par 200 et...
Moi, je fais partie de celles qui
préfèrent
que ça pue une bonne fois pour toutes.
Oui, oui, tout à fait.
Et une fois de temps en temps.
Ouais. Ouais, on est bien d'accord. Moi, j'ai des voisins et je crois que le petit rappel des règles de copropriété qui ont été fait dernièrement sur les odeurs, à mon avis, venait entre autres de mes pratiques de boulettes de lentilles. Parce que ça sent la friture pendant longtemps.
Mais ce qui est pratique aussi quand on fait dans grosse quantité, c'est que bon, tu as la même préparation, ouais. Tu les congèles, et tu arrives à midi, tu es à bout, machin, tu sors, c'est d'autres boulettes, même ta galette. Moi, ce qu'on me dit souvent aussi, c'est que le fait de manger végétarien.
C'est long à préparer.
C'est long à préparer, alors qu'effectivement.
Et c'est la cuisine classique est longue à préparer aussi, sauf qu'on a plus facilement accès à des trucs qui sont préparés. Alors qu'en vegan, il n'y en a pas, mais rien n'empêche effectivement de congeler des trucs. Voilà. Tu fais ta sauce, tu la congèles et puis tu n'as plus qu'à la mettre un coup. On peut passer des trucs végétaliens en micro-ondes comme le reste, hein. Ça se cuisine aussi vite. C'est juste que tu les trouves moins facilement au supermarché. Ouais. Mais si tu les fais toi-même, il n'y a aucun souci. Tes boulettes, tu peux les congeler, ta sauce, tu peux la congeler, même si ta sauce bolognaise, tu mets pas de la viande, tu mets de la protéine texturée de soja dedans, tu peux la congeler ou la mettre en pot aussi facilement.
Et au niveau des vitamines,
ça conserve plutôt bien. C'est le meilleur mode de conservation. Non, il y en a un autre qui est pas mal, c'est la conservation à l'huile. Parce que oui, alors ça, pour conserver l'huile, c'est pas mal parce que l'huile, c'est isolant. Par exemple, vous avez un plat qui risque de s'oxyder. Une petite, juste ce qu'il faut d'huile pour que ça couvre, ça protège de l'air. Ça protège pas de la lumière, mais ça protège de l'air, donc ça s'oxyde plus.
Si vous avez par exemple beaucoup de tomates, je sais pas, il y a des gens qui ont plein de tomates, tu les mixes, tu fais un peu de tomates, tu mets dans une bouteille d'eau, de vin, une bouteille de
Et une goutte d'huile par-dessus.
Une goutte d'huile par-dessus et on la bouche avec un.
Comme l'huile flotte, ça reste au-dessus, comme l'huile plus légère, ça reste au-dessus, et ça isole. Comme quand on met de la paraffine sur un pot de confiture.
Il
faut faire cuire.
Mais quoi, l'huile? Non, du tout.
Non, les tomates.
Non,
crues. Crues, non, il n'y a pas de tout.
Ce qui te parle, tu peux les garder tout l'hiver. Hein? Ah
ben
oui,
mais
le fait qu'elles soient dans la bouteille, avec ce, elles sont plus oxydées, elles ne sont plus à l'air.
Ça fait une isolation, ton huile isole, ça protège.
Non, ma mère faisait des. Elle avait, je crois, une quarantaine de bouteilles.
T'as compris les ingrédients des galettes et de
tomates. Alors, tu prends des lentilles ou des haricots que tu fais bien cuire et que tu écrases. Tu mélanges avec du boulgour. Du boulgour, c'est de la... Tu vois ce que c'est que le boulgour? Tu prends du keftelik boulgour chez les Turcs.
Du boulgour cru?
Du boulgour cru, mais fin. Du boulgour fin. Sinon, tu peux prendre de la semoule fine aussi. Mais t'es même pas obligé d'en mettre. Moi, au début, je mettais que de la farine un peu. Mais il en faut parce que les lentilles, sinon, tiennent pas. Faut quelque chose qui...
La farine de pois chiches?
Plutôt de la farine de blé, mais la farine de pois chiches, pourquoi pas? J'en ai fait la farine de châtaigne. La farine de châtaigne, ça coûte cher, mais c'est super bon.
Châtaigne.
J'ai réussi comme ça, en mélangeant des lentilles pour Noël il y a 2 ans, je m'étais dit, tiens, la farine de châtaigne, ça fait Noël, c'est chouette. Je fais mettre des galettes de lentilles avec de la farine de châtaigne. Bon, 6,50€ et 500 grammes, c'est cher, la farine de châtaigne. Mais ça avait une odeur de saucisse de morteau. C'était superbe, quoi.
Saucisse de?
De morteau. Non, c'est pas du substitut, mais ce goût-là, il est bon et quand je le retrouve, c'est pas mal.
Et ben voilà, ben moi, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure.
On est bien d'accord. Je dis que c'est pas ça qu'il faut forcément rechercher, mais c'est un goût qui est intéressant et c'est un goût que je vais pas chercher à imiter les saucisses de morteau. Mais il se trouve que là, je retrouve un goût et je me dis, putain, on peut aussi le trouver dans les végétaux, il est sympa ce goût-là, il était bien.
Attends, c'est quoi une saucisse de morteau?
C'est une saucisse qui vient de la ville de Morteau. Qui est une saucisse franc-comtoise en Franche-Comté, t'as la Montbéliard, la Morteau, et là...
Francfort.
Non, Francfort, c'est pas en Franche-Comté. C'est en Allemagne, c'est un peu plus loin. Mais il y a 3 ou 4 variétés de saucisses en Franche-Comté, et il y a un côté un peu terroir, rustique, tu vois, que tu retrouves beaucoup avec la farine de châtaigne, qui est très bien. Donc, tu écrases tes lentilles, tu mets un peu de farine pour obtenir une consistance, pour que ça tienne en galette. Tu les écrases dans la main, faut pas trop que ça colle aux mains, il faut que ça tienne, faut qu'elle tienne.
C'est que ça,
tu mets des épices, tu mets du sel, tout ça. Faut pas mettre que du boulgour, faut forcément mettre un peu de farine pour que ça tienne. Parce que ça va, normalement ça risque de se décomposer. Mais quand tu le fais griller à la poêle, ça forme une croûte. Et la croûte va faire que ta galette va tenir en un bloc. Faut faire cuire suffisamment longtemps, mais une fois que ta croûte est bien formée, tu retournes ta galette, puis tu fais cuire les deux côtés. Dans une poêle avec un peu d'huile.
Ah, les galettes de pois chiches, si tu prends des flocons de coquilles, des flocons de pois chiches, que tu fais cuire dans du lait gris. Un verre de flocons de coquilles, coco pour deux verres de lait de riz. Que tu fais cuire de lait de riz. Quelqu'un qui n'est plus du tout de liquide, après tu rajoutes une cuillère de farine de pois chiche aussi, de farine de pois chiche.
Ça, donc, est-ce que je fais un étoile pour regarder un peu ça.
Tu mets un peu
oui,
de
voulu,
du riz,
de...
Oui. Moi je mets du curry souvent.
Tu mets les épices qui te branchent,
tu vois.
Le cumin, le curry, c'est toujours facile, ça passe bien partout.
J'avais. Les gens qui aiment un peu l'ail,
je savais pas qu'ils me rendaient ça. Tu me rendais des trucs, mais qui étaient pas. Tu l'avais pas.
C'est pas compliqué, il faut juste prendre le temps. Et à la limite, même tu vois, pour le truc de lentilles, tu prends de la lentille en boîte, ça marche très bien. Et si t'as la flemme, tu la mets dans le mixeur avec un peu de farine. Et ça marche très bien. Je l'ai fait une fois, c'était une des fois où je les ai le mieux réussi. Pour les proportions, je pourrais pas dire exactement. Généralement, je le fais un peu, je regarde la consistance que ça a. Mais. Donc voilà, les galettes de lentilles, de haricots, tout ça c'est très simple à faire, ça marche bien, ça plaît bien à tout le monde, ça plaît bien aux végétaliens, ça plaît bien aux carnivores, c'est youpi, vive des galettes de lentilles comme ça. Et en plus, et au niveau de l'apport nutritionnel en plus, ça c'est proche de l'élan parce que c'est riche en protéines, donc ça occupe, à plein de niveaux, ça occupe la même place dans les, pour équilibrer un repas. Pour équilibrer un menu, voilà. Et si d'habitude on voudrait mettre de la viande pour l'équilibrer, on colle une galette de trucs. Et c'est mieux, au niveau de la composition de l'assiette, encore une fois, c'est mieux que de faire un mélange. Il y a un plat exactement que je vais faire, du mjaddara. C'est un truc, un plat populaire libanais et israélien. C'est un mélange de riz, de lentilles et d'oignons grillés. C'est très bon. On sert une petite ratatouille avec ça, ça passe tout seul, c'est très chouette, les goûts sont bien. Mais au niveau de la composition de l'assiette, on voudrait presque mieux faire des galettes de lentilles et du riz tout seul. Au niveau de l'allié, pour l'aspect que ça a, par rapport aux repères qu'on a au niveau de notre culture gastronomique, c'est presque mieux de faire ça. Et quand on a des carnivores à manger, pas les carnivores dans l'assiette, mais les carnivores autour de la table, c'est pas mal de faire ces trucs-là. Ça leur fait un repère et ça les rassure. Ça les rassure et c'est chouette. Faut les faire cuire avant parce que sur le barbecue, sinon elles tombent à travers les trucs de la grille souvent.
Enfin, elles sont déjà grillées.
Mais à réchauffer au barbecue, sans
et
problème.
Au barbecue, c'est vachement bon aussi. Et on est tous invités chez des. Enfin, moi je sais que ça m'arrive assez souvent d'être invité à des barbecues, évidemment, c'est toujours un problème. Donc au départ, j'en ai amené pour moi, parce que et puis ben, on se rendait compte que nous, on n'en avait pas à manger parce que les autres mangeaient avant, ils trouvaient ça très très bon, tu vois. Après, j'en faisais 40 et on y allait avec...
Et ça marche très bien. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir, alors un truc à préciser quand même, c'est que souvent, bon, on milite, on dit, oh là là, il faut arrêter de manger les animaux, il faut arrêter de manger tout ça. Bon, la question qu'on a souvent, mais alors, vous mangez quoi? L'avantage de discuter de ça autour d'une bonne bouffe, c'est qu'ils évitent la question, vous mangez quoi? Parce qu'ils sont en train de manger, ils mangent bien. Ils vont arrêter d'essayer de supposer qu'on mange que des trucs qui n'ont pas de goût. À partir du moment où ils sont convaincus, comme ma sœur, pendant un temps, qui est végane depuis plus longtemps que moi, faisait des cakes, des vegan cakes, qui marchaient très bien. Elle n'arrivait pas en disant, goûtez, c'est mon vegan cake, sinon les gens en a priori. Et de base, ils vont dire, c'est vegan, ça peut pas être bon. Alors que quand ils viennent de le manger, qu'ils disent, qu'est-ce que c'est bon? Oh, c'est quoi la recette? Là, on balance que c'est vegan, eh ben ils peuvent pas dire que c'est pas bon. Ils peuvent pas être sur leurs a priori et leur envie de dire, vous êtes des vegans, vous êtes des cons. Non, ils viennent de dire que c'était bon et qu'ils veulent la recette. Et on est dans ce cas dans une position bien meilleure pour arriver, pour leur montrer qu'on peut bien manger en étant vegan. Et c'est quelque chose qui est super important parce que c'est souvent le problème des gens, c'est qu'ils veulent pas arrêter la viande parce qu'ils savent pas quoi manger à la place. Ils ont peur de perdre le plaisir de l'assiette. Alors que si déjà ils ont le plat, moi je sais que sur les tournages sur lesquels je bosse, au bout d'un moment, même si je leur sers de la charcute, au bout d'un moment ils en mangent plus, et même ils sont prêts à manger juste végétalien parce qu'ils savent qu'ils vont bien manger. S'ils n'avaient pas vu ce que je leur. S'ils savent pas ce que je vais leur faire avant, ils vont penser qu'ils vont bouffer que de la salade et voilà, céréales bouillies et légumes à la vapeur, moi ça me fait pas super plaisir non plus quand j'en bouffe quoi. C'est pas le pied quoi. Donc c'est vrai que s'ils s'attendent à ça, bof. Et il y a beaucoup de véganes qui ne sachant pas quoi faire et faisant un peu attention, bouffent des céréales bouillies, des légumes à la vapeur. C'est triste. Et ça donne pas, on n'arrivera pas à convaincre avec ça les gens de changer leurs habitudes alimentaires. Si ce qu'on a à leur proposer, c'est pas. Voilà. Les spaghettis au ketchup, c'est très bon, mais c'est pas suffisant pour convaincre les gens de devenir vegan. Ils sont pas, voilà, quoi, c'est...
Il y avait des grosses chaînes de genre, tu sais, Pizza Hut ou je sais plus quoi, je sais plus laquelle c'était, mais qui avait proposé un truc avec des steaks de cornes. fait des protéines de champignons.
Le quorn, cucu, je sais pas comment on appelle, mais c'est cucu.
Alors je sais pas comment ça se prononce, mais ils étaient proposés vraiment carrément dans des grosses chaînes comme ça, donc c'est bien.
Mais dans le garçon, on faisait des burgers pendant un temps. Des galettes de haricots rouges, justement, qui remplaçaient très bien le truc. J'avais goûté ça à Londres il y a quelques années. Je sais pas s'ils le font encore. En France, je crois qu'ils l'ont essayé, mais que ça n'a pas marché. Mais en Angleterre,
on en trouvait, mais on...
Et pourquoi on n'en trouve plus du quorn? Parce que c'est super bon. Je me suis demandé s'il y avait un problème.
Moi, je m'étais renseignée auprès d'un monoprix, mais un petit petit monoprix, parce qu'ils ne le vendaient pas.
Ouais.
Enfin, ils n'arrivaient pas là.
Mais il y a beaucoup de produits comme ça qu'ils n'ont pas. Je parlais encore.
Mais d'après ce que j'avais su...
Il le vendait, le mien, et à un moment donné, il a arrêté. Je me suis demandé si c'était un problème...
Le problème, il est que...
C'était super bon, quoi.
Non, mais le quorn, c'est pas...
Ah ouais, il y en a.
Ouais. Le corn, il y a un problème, c'est que c'est pas... C'est vegan, en principe, dans le sens que c'est du champignon, je crois que c'est des trucs...
Il y a du blanc d'œuf.
Ah ouais.
Non, mais c'est que ça pousse sur du blanc d'œuf. C'est du champignon, mais qui est cultivé pratiquement sur du blanc d'œuf pur ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que, bon, on bouffe que du végétal, mais en fait, c'est comme si on bouffait le blanc d'œuf, quoi. De toute façon.
Mais c'est comme les légumes bio qui sont faits pousser sans sécher la poudre de corne, ça c'est pareil ça.
Oui,
non, mais les engrais bio, il y a des engrais bio qui sont pas vegan du tout.
Pour le vegan. Mais bon, là c'est vraiment clair quoi, le corne
c'est cultivé sur du blanc d'œuf.
Ouais. Il y a plusieurs recettes.
C'est ça, c'est horrible quand même. C'est vrai qu'ils font plein de trucs, ils font des
gilets, des
burgers.
Mais comment est-ce qu'on fait ça?
Bon ben, je sais pas, j'ai lu sur les sites qui en parlaient, enfin, mais ça a l'air d'être un truc avéré, quoi. C'est pas du tout caché.
Pourquoi c'est bizarre, pourquoi est-ce que forcément ça donne un goût particulier aux champignons, alors?
C'est
un champignon, ça doit être une forme de moisissure, enfin de champignon, pas un...
C'est dommage, parce que...
Ouais, j'avais goûté, mais...
Bon après dans les trucs qui ressemblent à de la viande, il y a toujours des classiques, le seitan marche très bien. Maintenant moi je trouve un peu dommage d'utiliser le seitan absolument pour remplacer la viande. En même temps c'est un aliment qui est consommé traditionnellement dans pas mal de... surtout au Japon je crois, qui mange comme ça. Comme moi ça me dérange pas d'utiliser le tofu dans la cuisine chinoise, puisque c'est normal dans une recette chinoise, le tofu est un ingrédient qui n'est pas là pour remplacer la viande. Il a sa place là-dedans, dans cette recette-là. Le seitan a sa place dans certaines recettes japonaises. J'ai dit seitan, après bon...
Enfin ça va à l'encontre de ce que tu disais tout à l'heure.
Comment ça?
Tu disais qu'il faut innover dans la cuisine.
Oui, mais en partant avec des trucs de base. Moi ma sauce coco que je fais, je suis une sauce coco au poireau, au poivron. Les poivrons et les poireaux sont pas utilisés dans les endroits où ils font le coco. Pourtant ma sauce coco elle est bonne. Je mélange des trucs, je suis pas resté bloqué sur des recettes des pays où ils font les sauces coco. Faut se permettre d'innover.
Bah oui, mais alors pourquoi est-ce que tu n'innoverais pas avec du seitan ou dans une cuisine purement française?
Ah mais tout à fait, mais rien n'empêche, bien sûr. Mais je me permets d'utiliser le seitan parce que c'est un ingrédient qui existe en vrai. C'est comme le... C'est mon principe à moi, c'est mon approche de la chose qui éthiquement n'a rien de... Voilà, c'est moi juste une question, mon petit plaisir à moi. Au niveau éthique, pourquoi pas bouffer de la crème de soja qui essaie d'imiter la crème? C'est pas animal, bon, youpi. Mais je préfère utiliser de la coco qui est un ingrédient qui est utilisé tel quel. C'est pas un ingrédient qui essaie d'imiter. C'est la démarche d'imiter que j'aime pas trop entretenir. Maintenant, voilà, le seitan peut en faire des choses très bien. Et ta recette de lapin à la moutarde qui n'est pas avec du lapin, qui est avec du seitan, le truc, c'est que tu dis que c'est une imitation de lapin à la moutarde. Mais tu pourrais partir dès le début en disant que c'est du seitan.
Non, j'ai fait simplement la recette du lapin à la moutarde, et puis à la place du lapin, j'ai mis du seitan. Enfin,
mais au niveau du principe, tu pourrais dire que c'est du seitan à la moutarde, tout simplement.
Dit,
et ben voilà. C'est juste une façon de présenter la chose, moi.
Du seitan de Garenne.
C'est du seitan de Garenne à la moutarde à l'ancienne, c'est ça. C'est juste.
Voilà, on peut aussi détourner des recettes.
Bien sûr. Mais tout à fait, bien sûr. Il faut détourner, il n'y a pas de limite. Il faut même essayer de faire un maximum de trucs. Il ne faut pas rester à essayer absolument d'imiter la viande et de rester sur cette recette-là. Il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Mais on peut toujours trouver des trucs très chouettes comme ça. Hein. Il y a des bonnes idées à avoir, justement, parce qu'on s'inspire d'une recette à la viande, qu'on essaye de remplacer la viande et on tombe sur une recette qui est meilleure même, comme tu le dis. La blanquette de seitan marche très bien. Le seitan, ça marche très très bien. Et la plupart même des carnivores, le seitan, ça arrive bien à les convaincre. Il y a une texture qui marche bien, ça résiste un peu sous la dent, ça se mâchouille comme de la viande.
C'est
très chouette.
C'est aussi le goût de... Enfin,
Ça s'imprègne bien. Tout à fait. Faut pas l'utiliser. Alors après le seitan, je sais qu'on peut le faire soi-même avec du gluten, mais je sais pas le faire moi. Donc si vous voulez des cours pour fabriquer le seitan vous-même, c'est pas moi qui vous apprendrai.
C'est bien dommage. Ah
ouais, mais je sais, mais faut que j'a... oui, mais je sais, il faut que j'apprenne. Ouais, mais les recettes sur internet, voilà le problème des recettes, c'est que il vaut mieux voir à quoi ça ressemble en vrai, parce que tu peux lire les choses, c'est jamais pareil. Donc moi j'attends quelqu'un qui sache faire le seitan qui me montre. Parce qu'on peut aussi. À partir de la farine de blé ou à partir du gluten?
Parce qu'on peut aussi. On passe sous l'eau pendant longtemps et puis je sais pas comment on fait.
Normalement, il faut, alors pour le faire complètement, il faut prendre de la farine, arriver à extraire le gluten et après, en gros, laisser, enlever l'eau, quoi, peut-être le faire sécher ou je ne sais quoi.
Ben, si on veut l'utiliser sec, mais de toute façon on l'utilise humide, donc...
Oui, mais un peu réduit, pas liquide, si tu veux.
Oui, je sais pas.
Je sais pas exactement. Enfin, il doit y avoir un procédé qui peut être intéressant à...
C'est pas très très compliqué, je crois.
Non, c'est ça, ça doit être assez simple.
On peut enlever l'amidon.
Ouais, en lavant avec l'eau, mais en pratique, je sais pas comment on fait, parce qu'il faut... Enfin, il faut une passoire ou quelque chose qui permette de...
Oui, le seitan c'est du gluten. Ah bah non, le seitan c'est du gluten.
On flotte dans l'eau puis on verra.
C'est composé de gluten le seitan. Hein. C'est le...
On laisse décanter.
Le seitan sans gluten, bah, ça n'existe pas.
Du riz, quoi.
Mais t'es beau, mais le gluten c'est pas méchant, le gluten faut pas en manger trop tout le temps.
Moins dedans.
Si tu parles de la farine elle...
Ah, qui sont allergiques, bien sûr. Dans ces cas-là, pas de seitan, clair. Allergique au gluten, pas de seitan.
L'amidon qui...
Ah oui, non, ça faut pas. C'est très mal. Ouais, seitan pour les allergiques au gluten, à bannir, absolument. Total niette.
Il y a un truc, tu nous as dit beaucoup de recettes que tu fais et que tu réussis. Je suis pas
tu veux savoir celle que je rate?
Non, je suis pas sûr de te croire, je voudrais voir. Faudrait que tu...
Oui, bah attends, hein, j'en ai testé. Vous avez déjà goûté la sauce curry coco ce midi? Que normalement je suis avec du poireau, mais là je l'ai faite avec des pâtes, le poireau n'était pas nécessaire.
Non, ça c'était bon, mais je veux dire, ça prouve pas que les autres sont bonnes.
Mais tu me diras à la fin de la semaine de ça. Hein. Non, mais je les ai testés sur des gens bien plus chiants que vous. Je les ai testés sur des gens qui sont prêts à payer pour le faire, donc c'est que c'est mangeable. Voilà. Et il y a des recettes en revanche que je fais pas payer parce que je sais qu'elles sont bizarres. Je me sers pas de tous mes clients comme cobayes quand même. Ceux qui me payent le moins, qui ont pas de budget, je leur dis d'accord, je suis prêt à bosser pour pas cher, mais alors je me fais plaisir, vous allez tester des trucs bizarres. Et quand je les ai bien testés, après je me permets de les intégrer au menu payant.
Moi j'aime bien le piment.
Ben, je vais peut-être faire de la sauce qui pique du père François, qui si tu aimes le piment, j'ai prévu ce qu'il faut comme piment qui est.
Excellent pour la santé.
Oui, mais c'est pas forcément excellent pour les boyaux au bout d'un moment. Moi je sais que pendant un moment je mangeais des tartines parce que j'avais rien d'autre à mettre sur le pain à la maison. Au bout d'une semaine, j'avais un petit peu l'estomac flingué quand même. Alors que normalement j'encaissais bien le piment. Là ça fait 6 mois que j'ai un petit peu ralenti quand même. Parce que... Ça équilibre bien. Mais l'argile comme aliment, je suis pas convaincu par le goût, les qualités nutritives de l'argile. À tester l'argile. Si t'en as pour le dessert, j'en goûterai volontiers. Bah, très bien, bah, tu feras tourner, alors on goûtera l'argile. C'est bien à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas l'argile. Bon, alors, donc, pour les ingrédients exotiques, le lait de coco. Hein?
Clay.
Clay, ouais.
Comme Cassius.
Mais non, c'est Mohamed.
Comme Mohamed Ali.
Clay comme Mohamed Ali. Allez, 8h moins 10.
On passe à la pratique.
Ouais, on va vite passer à la pratique. Je vais finir vite fait les thèmes que j'avais dit que j'abordais. Donc le cru, le cuit, pensez à mélanger les deux dans un menu équilibré, il faut qu'il y ait du cru et du cuit. C'est important. Les ingrédients exotiques. Un autre ingrédient que moi j'aime beaucoup, c'est le tahin.
Le quoi?
Le tahin. Tahin, tahina, tu peux le prononcer dans toutes les langues que tu veux. Ça s'écrit T-A-H-I-N en français.
C'est du sésame.
C'est de la crème de sésame. Alors pour faire une sauce tahine, ça marche très bien. Pour ceux qui ont mangé des falafels, la petite sauce qui va dessus, c'est génial. Il y a plein de trucs sur lesquels ça marche très chouette. Il y a des menus que je fais où je fais une faisselle à la nette, donc par exemple, donc une faisselle que je mélange avec de la nette, c'est végétarien, c'est pas vegan. Il m'est arrivé de faire à côté une sauce tahine à une occasion où j'avais des allergies au lactose, des allergies aux produits laitiers. Et ben la sauce tahine, elle est mieux partie que ma sauce à la nette. Alors qu'elle est bonne ma sauce à la nette hein, quand même. Mais celle au tahine est très bien partie. Mais non, tu peux pas en manger, c'est de la faisselle.
La faisselle.
C'est de la faisselle, c'est du fromage frais. Tu peux pas.
Kessel, c'est du fromage frais.
Ben oui, bon. C'est des fromages frais égouttés dans une petite passoire dans le pot.
D'accord.
Faut qu'on enlève le jus. Mais donc le tahine marche très très bien, très facile à faire. J'ai pas pris le temps d'en acheter, mais je me débrouillerai pour que ma femme en rapporte jeudi soir. Au moins vendredi, je vous montrerai 2-3 trucs avec le tahine. Tahine que j'ai testé récemment, petite poêlée de légumes que je fais sauter, et à la fin de la cuisson, je mets une petite cuillerée de tahine dedans. Et ben c'est super chouette. Ça donne de la consistance au truc, ça le rend vachement plus nourrissant, et ça marche bien.
J'en peux plus, c'est intenable. J'ai trop la dalle.
Ça c'est un gros défaut. Moi j'arrive à parler de bouffe sans avoir faim, mais je donne souvent très très faim.
Une chose que j'ai appris quand j'étais en Allemagne, une chose ils achetaient des sésames crus et ils faisaient cuire dans une casserole.
Ouais, casserole, oui.
Casserole comme ça, dans 5 minutes, et après tu peux mouler.
Moudre.
Oui, moudre.
Moudre comme ça. Moudre comme ça, ou le mettre dans le.
Bien sûr, le sésame grillé. Mais talgomasio aussi, qui est un condiment très utilisé, c'est du sésame grillé salé, et que tu utilises sur le truc, qui est très très bon aussi. Qui est bien aussi à utiliser pour, quand on veut varier la cuisine, faire découvrir de nouveaux goûts, il y a peu de gens qui connaissent et ça marche super bien. Comme la levure aussi, bien sûr. Mais le gomasio, ça marche très très bien. Quoi. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser des ingrédients comme ça, qui sont un peu exotiques parfois, qu'on n'a pas forcément dans notre cuisine, les goûter, apprécier leur goût, et se démerder pour les... Faut pas hésiter. Il y a des trucs qui se cuisent pas, mais le tahine, moi je me suis dit, bah pourquoi pas, c'est du sésame, ça se cuit, pourquoi pas le mettre. Et ben c'était une bonne idée, j'étais très content de ce test là.
Et tu fabriques toi-même ?
Non, du tout.
Ah,
non, non, j'achète chez les Libanais en pot, ça va très bien quoi.
Et tu l'utilises avec quel légume ?
N'importe quoi, courgettes, oignons, aubergines, tout ce que tu fais sauter à la poêle, des carottes, tous les légumes que tu peux avoir envie de faire sauter. T'en mets un peu dans le houmous du tahine. Donc voilà, des ingrédients comme ça qui sont pas très durs à trouver. Pas beaucoup plus dur à trouver que le lait de coco, faut avoir ces petites adresses d'épicerie orientale. Quand on a du bol dans le supermarché du coin, on en trouve, mais c'est pas tout le temps. Les Carrefour et le Auchan, pour peu qu'ils ont un rayon cuisine du monde, on peut en trouver. Pas toujours.
Chez les Turcs.
Chez les Turcs, dans les boutiques de trucs juifs aussi, il y en a pas mal. Parce que la cuisine israélienne et la cuisine libanaise, c'est la même. Hein. C'est parce qu'ils se ressemblent beaucoup qu'ils se tapent sur la gueule d'ailleurs, il n'y a pas de mystère. Hein. Mais au niveau de mjadala, qui est le plat populaire libanais, ce mélange de riz et de lentilles, j'ai croisé une israélienne qui passait qui me dit « Ah, c'est le mjadala !» Bon, bah d'accord, il n'y a pas de problème, elle connaît. C'est aussi populaire chez les Israéliens que chez les Libanais. Donc tous ces trucs-là, on les trouve aussi. Ces ingrédients ne sont pas durs à trouver, c'est suffisamment original et ça permet, je sais que le tahina par exemple, ça permet de faire une sauce pour les concombres qui vaut largement la sauce yaourt. Ça fait une sauce un peu épaisse qui marche très très bien et c'est presque plus frais, c'est plus frais en bouche presque que la sauce yaourt. Au citron d'abord, alors c'est marrant parce que tu mets du citron qui est liquide sur un truc qui est liquide et ça devient plus épais.
Oui.
Et donc faut rallonger à l'eau à peu près juste à obtenir la bonne consistance, celle qui te plaît. Plus ou moins liquide selon ce que tu vas en faire. Tu veux faire une sauce très liquide, tu veux faire un truc un peu épais. Si tu veux le mélanger avec des concombres qui vont rendre de l'eau, tu fais plutôt épais pour que ça s'équilibre. Mais ça je vous montrerai, je vous ferai ça une sauce tahine aux concombres vendredi certainement. Tout à fait, bien sûr. Le tahine va très très bien, ça solidifie le truc, ça marche très bien. Le tahine, il y a plein de choses à en faire. Voilà donc des ingrédients que moi j'utilise pas mal. Donc la de coco et tahine sont les deux trucs que j'utilise beaucoup, que les gens connaissent pas toujours, qu'on a pu tester, mais qui marchent bien et desquels on peut faire plein de choses. Faut pas hésiter à sortir de leurs utilisations habituelles. Comme je vous dis, le lait de coco, c'est l'ingrédient merveilleux dans mon cake que j'aurai pas le temps de vous faire aujourd'hui, hélas, qu'on aura que pour demain. Mais c'est une recette très simple. Farine. Levure, c'est normal, farine c'est un cake, levure parce qu'il faut que ça lève, du sucre parce qu'il est sucré, et après, ah, c'est une poudre, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une pâte à cake ? Il faudrait que ce soit liquide. Bon, il faudrait que ce soit un peu gras pour que ça reste moelleux après la cuisson. Youpi, du lait de coco, c'est liquide, c'est gras, c'est une recette très simple, c'est plus simple qu'à 4 quarts, c'est meilleur, c'est plus léger, après on met les épices qu'on veut, les morceaux de fruits qu'on veut, tout ce qu'on veut, et c'est un cake qui marche super bien. Et moi on me le réclame, et j'ai des équipes de gros machinaux, mangeurs de viande et buveurs du pinard sur le tournage de film. C'est les premiers à réclamer mes cakes. Et ils me réclament mon cake. J'en ai eu qui en ont bouffé tous les jours pendant 2 semaines. Il n'y avait pas de problème. C'est moi qui ai eu des problèmes pour en faire des différents à chaque fois. J'ai eu l'occasion d'expérimenter pas mal de recettes. Hein, toutes les plus variées possibles. Donc j'en ai testé beaucoup les recettes de cake. Et à chaque fois, ça marche. Et selon ce qu'on met dedans, c'est plus ou moins sec. Mais c'est très très bon. Avec du lait de coco.
Et tu peux nous donner des ingrédients ?
Ah, mais je vais vous la montrer. La recette, ce sera en atelier pratique, le cake. Il n'y a pas de souci. Je vais même vous faire 2 ou 3 fois. En atelier pratique, vous noterez. Et alors, et ça, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est qu'en cuisine traditionnelle, j'ai le frère d'un pote qui a fait des études de restauration, qui avait goûté mon quête, parce que sa mère, a été qui est un peu curieuse de plein de cuisines, a été la première à appliquer ma recette et à la développer. Elle ne fait pas cuire comme moi. Elle en fait même des trucs que moi, j'aurais pas fait avec, mais ça marche super bien. Et ce pote-là, donc, qui se retrouve en cours de cuisine, le prof qui lui dit on peut pas faire de cake sans œufs. Bah, il a dit bah si. Le prof qui dit non. Bon bah tant pis pour le prof. C'est con qu'il puisse se prétendre cuisinier alors qu'il est aussi bloqué que ça. Faut pas. Le problème de la cuisine, surtout de la cuisine française, c'est qu'elle est très 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 fermée. Elle est trop traditionnaliste. Et elle se permet pas de sortir. De plus en plus maintenant avec la cuisine moderne, ils essayent des nouveaux trucs. Il y a des trucs expérimentaux, il y a des cuisiniers qui font quasiment de la chimie. Donc ils s'ouvrent un petit peu. Ils s'ouvrent un petit peu. Mais il y a quand même encore, ils restent convaincus que le cake, et qu'il faut des œufs dans le cake. Les œufs à la base dans les cakes sont utilisés pour faire le levure. À l'époque on n'avait pas de farine parce que l'œuf très frais permet de bloquer les bulles de gaz qui vont faire lever. Le blanc d'œuf est un liant qui va faire que ça va lever. À partir du moment où on met de la levure, il n'y a plus besoin d'œuf. C'est aussi con, mais de toute façon même dans le s'il y a du gluten, le gluten sert aussi à enfermer le truc. Le pain, il n'a pas besoin d'œuf pour lever quoi. Le pain, c'est de l'eau, de la farine et de la levure. Après, le principe de base, on rajoute du sucre à du pain, bah, ça fait du sucré, et on rajoute de l'huile, ça fait un cake. C'est pas plus compliqué que ça. Les choses sont simples, faut pas rester bloqué dans les recettes. Il y a des réactions chimiques, surtout en pâtisserie, il y a des réactions qui sont précises où il faut bien mettre les ingrédients. Un cake, s'il est trop liquide, bah, les bulles d'air elles vont s'envoler, elles resteront pas dedans et il va pas lever. Donc il faut quand même garder une consistance et des proportions, il faut surveiller un peu. Il faut avoir fait quelques cakes pour avoir une idée de la consistance à avoir. Mais c'est pas un souci, il ne faut pas hésiter à utiliser des trucs, des ingrédients comme ça. Alors au niveau de la composition d'un menu, quand même, un truc à voir. Un truc qu'on néglige souvent, les couleurs. Quand un menu arrive, pour que les gens apprécient la bouffe, avant toute chose, c'est l'aspect qu'ils vont voir. Une grosse patouille marron, même si elle est super bonne, c'est une grosse patouille marron. Elles ne sont pas enclins à l'apprécier. Voilà. Donc ça arrive, c'est... Oui, c'est peut-être très bon, mais... Ouais, bof. Truc tout con. Prenons une référence de base, le steak frites, que tout le monde connaît. Ou la galette de lentilles frites. C'est jaune, c'est marron. Ouais, bon, c'est pas top. Une feuille de salade, une rondelle de tomate ou une goutte de ketchup, et d'un seul coup, il y a du jaune, du vert, du rouge, du brun. L'assiette est jolie. Il faut toujours penser, essayer au maximum d'avoir du vert et du rouge dans un plat qui ressortent. À partir du moment, et en plus, normalement, même au niveau des goûts, c'est magique, ça s'équilibre. Si on fait attention aux couleurs, les goûts normalement suivent. Faut pas mettre des fraises non plus n'importe où, parce que même si elles sont rouges, des fois ça peut faire bizarre. Les fraises mozzarella, je suis pas sûr que ça soit bon. Avec la tomate mozzarella, rouge, vert, blanc, ça se combine bien. Bon, faut pas faire non plus n'importe quoi. Le tofu cru.
De plus en plus, sont des fraises dans le
salé, oui.
Oui, mais même avec des galettes ou des choses comme ça.
Il y a des choses à faire, mais c'est pas parce que voilà, autant la tomate c'est rouge, ça passe à peu près dans tous les trucs sucrés. Le poivron c'est rouge dans tous les trucs salés. Le poivron c'est rouge, ça passe partout. La fraise c'est rouge, ça passe pas partout.
La framboise aussi.
La framboise passe pas partout non plus. Mais ça va être pas mal. Donc pensez aux couleurs, c'est super important les couleurs et ça donne tout de suite un truc.
Des spaghettis aux fraises, enfin beaucoup de fraises.
Ah, ça peut être très bon, tout à fait. Il faut pas rester bloqué là-dessus non plus. Mais si tes spaghettis aux coulis de fraises, en plus d'être bonnes, tu leur mets un petit peu de persil ou un peu de poivron vert ou je ne sais quoi qui a la couleur, d'un seul coup, en plus, c'est joli. Et quand ça arrive, c'est qu'est-ce que c'est beau. Et voilà, c'est ça arrive sur la table et tout de suite, c'est oh, c'est chouette, on va bien manger. On n'a même pas encore goûté, on se dit oh ouais, c'est super bon. T'as pas goûté, c'est juste parce que c'est beau. Et c'est super important donc de penser à ça, de penser à l'aspect que ça a. De la même manière que dans l'assiette, la place de la galette de lentilles, ça rassure, les couleurs, ça met de bonne humeur pour bien apprécier le plat. C'est pour ça qu'il faut bien penser aux couleurs. J'aurais tendance à dire vert, jaune, rouge de base. Mais c'est surtout vert et rouge. Si le jaune est là, c'est chouette. Mais il n'y a pas forcément besoin du jaune. Mais le vert et le rouge tout le temps. Alors, le bleu ça peut marcher, mais on s'en méfie hein, quand même. Le bleu faut s'en méfier. Oui, mais même faut s'en méfier aussi. Ça met pas. Alors, quand on est ouvert d'esprit, il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup de gens un peu fermés qui n'ont pas confiance dans le bleu ou le violet dans leur assiette. Ça leur rappelle trop la couleur du vieux jambon camoisi ou des trucs comme ça. Le bleu ou le vert fluo marche très mal. Généralement, c'est pas une couleur, c'est pas si c'est instinctif ou culturel, mais en tout cas, c'est pas un bon truc, quoi. Mais donc vraiment penser aux couleurs, quoi. Il y a des petites astuces que je vous montrerai aussi, des trucs tout cons pour la présentation. Faire une rose de tomate, c'est un truc qui est tout con à faire.
Ah ouais, c'est joli ça.
C'est tout con, il suffit de couper le truc, on pèle ça comme une pomme, et on l'enroule après, ça fait une rose. C'est vraiment super simple, ça prend 2 minutes. On sacrifie une tomate, c'est vrai, mais d'un seul coup, on a l'impression que c'est de la grande cuisine. c'est ça claque quoi. C'est oulala, qu'est-ce que c'est beau. Alors que n'importe quel abruti qui sait tenir un couteau dans sa main est capable de le faire. C'est vraiment très 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 simple. Mais tout de suite, c'est de la et ça fait la tache de rouge. N'importe quel plat, n'importe quel plateau présenté de n'importe
il
quoi.
Il faut une pelure de tomate. Et ça en forme de rose.
Et ça paraît super con. Mais le plat de carottes râpées qui est orange, bon, il est pas mal. Il y a un peu de persil dedans, ça fait du vert. Une petite rose de tomate et deux feuilles de basilic ou de persil, ça y est, c'est de la grande cuisine quoi. Mais c'est voilà, mais c'est tout con intégré. Mais tout de suite, il n'y a pas besoin d'être super doux parce que pour faire des carottes râpées, il n'y a quand même pas besoin d'être une bête de la cuisine quoi. Il suffit d'avoir une râpe à carottes ou des bons bras sur une râpe à la main. C'est tout con, un peu de citron, de l'huile, et puis ça y est, c'est des carottes râpées, c'est très bon, il y a plein de gens qui apprécient. Mais si on arrive à faire cette présentation-là, à épater nos amis, mais c'est important d'épater nos amis. Et ça marche super bien, parce que même pour toi en plus, si tes amis sont contents, et ben toi t'es content aussi, ça te met en confiance et tu t'assures mieux pour ta cuisine après derrière. C'est pour ça que la présentation c'est super important. Alors, bon, l'état des légumes, je vous en ai parlé, les différents degrés de cuisson, donc à tester beaucoup, comme je vous disais, cru, sauté ou cuit, bouilli, tout ça, il ne faut pas hésiter à les tester, à les combiner, être très ouvert à ce niveau-là. Et puis voilà, donc à peu près, je vous ai tout dit. Pour les créations des menus, j'essaierai de vous en montrer ça dans la pratique, donc toujours les mêmes trucs. Hein. Essayez de penser une base de céréales, de trucs nourris, pour un menu qui marche pour tout le monde. Une base, un truc qui tient au bide, un féculent, une légumineuse, n'importe quoi, un truc qui tient. Patates, riz, pâtes ou des lentilles, ou combiner les deux si jamais on veut essayer, si jamais vous tombez sur des gens qui ont envie de faire chier au niveau des protéines. Voilà, genre, ah mais t'as des carences, t'inquiète pas, le riz, les lentilles, il n'y a pas de carence, tu vois, parce qu'ils ne sont pas forcément instruits comme David Olivier, et on n'a pas forcément les références qu'il a pour leur fermer leur bec, mais quand même, donc directement, on leur met ça dans leur assiette et ils sont contents. Donc voilà, pensez à cette association là. Les crudités, les cuidités. Tout con, un menu qui marche bien, une crudité en entrée, une céréale, un légume et youpi, on a un menu complet, un petit dessert derrière et ça passe pour tout le monde. C'est aussi simple que ça à faire. Mais c'est bien de penser à ces différents éléments là. Après on peut avoir d'autres idées pour innover. Mais si on part déjà sur cette base là, c'est un bon départ pour avoir un menu réussi et qui s'équilibre et qui soit complet.
Un truc que j'ai goûté au Brésil, que j'ai adoré, c'est l'ananas rôti.
Ça caramélise un petit peu.
Ouais. Des tranches d'ananas rôti, c'est délicieux. Hein ?
Tu rajoutes du sel ou comme ça simplement ?
Non, tu le fais juste rôtir barbecue. Ah, tu le piques, l'idéal c'est de le piquer au milieu, puis tu le fais tourner au barbecue.
Alors les autres petits points, pour les épices, je vous expliquerai surtout en pratique. Bon, les épices, il ne faut pas hésiter à les tester, être attentif quand on les goûte, quand on a l'occasion de découvrir un truc, ne pas hésiter à demander. Il y a des épices qui se combinent pas partout. Moi le curcuma, seul, j'utilise exclusivement pour les courgettes sautées, parce que je trouve que ça va super bien. Alors sur d'autres trucs, le curcuma a un goût de terre, je trouve, et ça c'est pas bon. Mais sur les courgettes, merveilleux, génial, ça passe. En plus, ça donne une couleur jaune. Le curcuma est surtout un colorant. Un colorant jaune-orange. Il n'y a pas de souci, c'est une racine qui est entre le gingembre et la carotte. Quand on le mange cru, on a les dents oranges pendant 3 jours. Mais, et ça pique un peu la langue.
C'est pas
mais...
ça que tu as dit qu'il y a un goût de savon ?
Non, c'est la coriandre qui a un goût de savon. Mais ça, le goût de savon, il y a beaucoup de gens qui le trouvent goût de lessive. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que le gingembre a le goût de savon, qui trouvent que le persil a le goût de savon, la coriandre, c'est un truc qui revient assez souvent. Il y a une association d'idées qui ne sait pas d'où ça vient. Ah, le gingembre confit, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça a le goût de savon.
Confit.
Ouais, surtout confit. Pour ceux qui ne connaissent pas le gingembre confit, j'en ai rapporté un kilo, vous avez de quoi tester. Moi j'utilise comme fruit confit dans des cakes, ça marche bien. Ah, tu testeras dans mon cake aux épices au gingembre confit. Alors si tu n'aimes pas ça, coupe en petits morceaux. Ça passe très très bien. Ouais, donc pour les épices, faut les tester. Il y en a qui passent partout. Le cumin, ça passe bien dans n'importe quel truc salé. C'est un peu comme la cannelle dans n'importe quel truc sucré. On se plante rarement en mettant de la cannelle dans un truc sucré ou du cumin dans un truc salé. Le curry passe bien partout. Moi, je mets même du curry dans le guacamole, ce qui fait que mon guacamole, il est bon. Il faut pas en mettre beaucoup parce que sinon, après, ça prend un goût un peu... Ça colle aux papilles, c'est pas bon. Il faut pas en abuser, mais c'est pas mal. Alors après, il y a des gens qui disent les épices, faut les mettre en fin de cuisson parce qu'il faut pas que ça cuise. Il y en a d'autres qui disent faut les faire revenir dans l'huile. J'ai entendu tout et n'importe quoi sur les épices, du coup, je m'en fous. Je les mets n'importe quand dans la cuisson. Voilà. Je le mets au moment où j'y pense. Voilà. Après, ça dépend, ça n'a pas tout à fait le même goût. Le curry, quand on le fait revenir au début, on aura un goût un peu plus fort, on souligne un peu plus le goût de piment. Alors quand on le met à la fin, ça donne plus de couleur. Ça dépend, mais ça, faut faire ses expériences et voir soi-même ce qui nous plaît, quoi. Faut pas tester tout et n'importe quoi. Il y a des... Faut pas hésiter à commencer avant d'utiliser une épice par sentir, voir, goûter un petit peu sur le bout du doigt, comme ça. Alors, ils n'ont pas forcément tous le même goût. Le cumin cuit ou cru n'a pas le même goût. Hein. Il y a des épices aussi en graines. Le cumin, le carvi, n'ont pas tout à fait le même goût en graines qu'en poudre et que cuit. voilà, faut tester, quoi. Après ça, un autre truc qui revient souvent pour la bouffe végétalienne, on va dire, ça coûte cher, ça coûte cher. Bah ouais, forcément, si on achète des steaks de seitan chez un biocoop, ça coûte cher, ça coûte plus cher qu'un steak de viande. Mais un plat de riz, de lentilles et de légumes, ça coûte que dalle. Moi, je fais à manger sur les menus que je fais, j'en reviens à 4 ou 5 euros par personne, parce qu'il y a la moitié, au moins la moitié du prix, qui part dans la charcuterie et le fromage. Et encore, si je supprime le vin, j'en reviens à 1,50€ par personne pour faire un menu complet vegan. Il n'y a pas de souci. Le riz, ça coûte rien. Les légumineuses, ça coûte rien. Et les légumes, si on prend des légumes de saison, ça coûte rien.
Ah non, mais moi,
non, même pas. Aucun souci. Hein. Un couscous, ça te revient à moins d'1€ par personne. Hein. Couscous, c'est de la semoule, ça coûte rien. De la carotte, du navet, ça coûte rien. T'as un peu de courgettes, quelques poivrons et d'aubergines qui te coûtent un peu cher, mais il n'y a que ça qui coûte cher. Le reste coûte tellement rien. Les pois chiches, ça coûte rien. Tes épices, bon, on s'achète, tu les payes 60 centimes chez les Chinois, le sachet. T'as de quoi en faire un paquet de couscous avec un sachet de cumin. Hein. Ça coûte pas cher tout ça. C'est les substituts qui coûtent cher. Parce qu'il y a peu de demandes, que c'est un produit particulier qui vise un public particulier. Mais le riz, ça coûte pas cher. Le riz, même basmati, il te coûte 2€ le kilo, quoi. Et avec un kilo de riz, tu fais manger 15 personnes, 10-15 personnes. Non, parce que les mangeurs qu'on a ici, c'est plutôt 10 personnes, 10-12 personnes avec un kilo de riz. Ouais. Des gens qui mangent plus de 100 grammes de riz, il n'y en a pas beaucoup. La dose normale, c'est entre 60 et 80 grammes. Ouais, voilà, si sur une équipe de tournage où j'ai des petites scripts qui mangent rien parce qu'elles sont au régime et des gros machinaux qui mangent beaucoup, en moyenne, ça me fait les 80 grammes. Mais quand je prévois 100 grammes par personne, j'ai énormément de reste. Comme pour les pâtes aussi. Remarque, les pâtes, je prévois 100 grammes par personne au minimum. Parce que quand on fait à la maison avec les potes et tout, tu prévois 100 grammes par personne, il n'y en a jamais assez. Ouais. Et ben d'un seul coup, tu as 40 personnes autour de la table, tu prévois 100 grammes par personne, il t'en reste plein sur les bras, quoi. Et en plus, elles sont bonnes, tu as les boules après à la fin de les jeter à la fin du repas. Mais tu as fait des pâtes pour 20 personnes, tu te dis je les mangerai pas, alors je les jette. Mais ces quantités-là, ça va, il n'y a pas besoin d'énormément en fait. Surtout quand tu sers à l'assiette, quand tu as un plat, mais quand tu sers à l'assiette, tu composes ton assiette, la portion de riz de 60 grammes, elle est déjà bien belle dans ton assiette. Pour peu que tu aies un légume à côté, ton assiette est pleine. Quelqu'un qui voit arriver une assiette où tu as des trucs dedans, si l'assiette a l'air assez bien garnie, ça normalement ça fait une portion suffisante, il n'y a pas besoin de se servir derrière. Il y en a qui aiment bien se péter le bide, ceux-là, ils vont peut-être en reprendre une autre assiette, mais le mangeur de base, normalement ça lui suffit. Donc ça revient pas cher du tout. Après, ça prend du temps de cuisson, c'est certain. Cuire du riz ou des lentilles, il faut presque une heure pour les faire cuire. Tu les prends en boîte, ça revient un petit peu plus cher forcément, mais c'est toujours pas très cher.
Tremper 2 heures.
Mais sinon, tu les fais tremper.
Les lentilles, ouais. Oui, enfin, si tu les fais tremper 2 heures, t'as aussi vite fait de les faire cuire 1 heure. Hein.
Oui.
Non, mais c'est que ça te coûte pas de gaz, quoi.
Oui, c'est ça.
Oui, les lentilles, il faut les faire tremper.
Non, les lentilles, il n'y a pas besoin de les faire tremper. Tu peux les faire tremper, mais il n'y a pas besoin de les faire tremper.
Pour les chats, je les fais tremper. J'ai besoin que tu enlèves un peu les...
La nuit, c'est ce qu'il y a en 10 minutes.
Les glucides, en trop...
Oui, ça enlève un peu moins.
Et puis ça te coûte moins de gaz, surtout.
Le lendemain, ouais, voilà.
Ouais, mais tu gagnes combien de temps au niveau de la cuisson?
En 10 minutes,
c'est... Oh, tu gagnes beaucoup.
T'es sûr?
Ah ouais.
C'est possible, j'imagine.
Tu gagnes au moins moitié.
Après, je suis au micro-ondes.
Ah, ça, je sais pas, mais...
Tu fais tremper au micro-ondes?
Non, je fais tremper d'abord, puis ensuite je fais micro-ondes avec la dose de flotte, et puis je mélange jusqu'à ce que ça soit mou. Le truc, c'est de faire une espèce de purée, en fait.
Ouais,
mais moi, j'ai fait gaz à cause de ma bouteille de gaz qui est à prendre à 17 bornes de chez moi.
Oui, et puis que c'est une grosse bouteille, c'est pas un petit cube facile, c'est ça?
Et puis que j'ai pas de voiture.
Oui, c'est vrai. Et que t'as une entorse, alors porter la bouteille de gaz de 25 kg sur l'épaule.
Je la fais porter par les voisins.
Avec une voiture.
Parce qu'ils n'ont pas d'entorse. Non, à pied.
À pied.
Non.
Mais ils sont jeunes et vigoureux, c'est voisins.
J'attends que quelqu'un passe avec une voiture et puis j'organise le truc. Justement, je préfère avoir du gaz. Ouais. En rare.
Donc voilà, quand on cuisine soi-même, ça revient pas cher de manger vegan. Et bon, cuisiner soi-même, c'est long, mais quand on a un congélateur, faut pas hésiter à l'utiliser, quoi.
Pour beaucoup de copains.
Pour beaucoup de copains. Mais une sauce lentille, par exemple, qui accompagnera très bien le riz ou un truc comme ça, bah, il suffit. Les lentilles mettent pas beaucoup plus de temps à cuire quand on en fait cuire 100 grammes que quand on en fait cuire 2 kilos. Ça met un tout petit peu plus de temps à bouillir, mais c'est voilà, ça prend pas beaucoup plus de temps de cuisiner pour 20 personnes que de cuisiner pour 2. Ça prend un tout petit peu plus de temps pour couper les légumes à la limite, mais si on cuisine d'un seul coup pour longtemps, on y gagne énormément de temps. faut quand même prendre la peine une fois de cuisiner, mais voilà, on suffit 2 kilos de lentilles, il y a de quoi faire la sauce pour 4 ou 5 repas sans problème.
La vaisselle peut être un peu plus...
Non, au lieu de laver une petite casserole, tu laves une grosse casserole, mais c'est moins chiant que de laver 10 fois ta petite casserole.
Oui,
d'accord. Donc au final, cuisiner beaucoup d'un seul coup, c'est pas mal. Faut avoir le congélateur en conséquence.
D'où du nucléaire.
D'où du nucléaire. Ou du panneau solaire.
Non, ou une microturbine sur la rivière.
Oui, c'est vrai. Qui empêche les saumons de remonter la rivière. C'est vilain, les microturbines. Ouais. Ça perturbe l'écosystème. Faut prendre une roue de vélo. Tu fais un moulin avec une roue de vélo et une batterie de trucs d'ordinateur. Là. Un bon truc de récup. Bon, voilà, j'ai raconté un peu tout ce qu'il y avait à savoir. Les prochains ateliers sont des ateliers pratiques. Non, mais alors le safran, je te laisserai en parler, tu connais mieux que moi.
C'est
en
fait. Souris.
Le safran coûte cher, le safran est surtout un colorant, mais quand on l'utilise en bonne quantité, il a un goût très sympathique. Le curcuma n'est pas qu'un colorant, mais...
C'est plutôt la tombée de la nuit.
Mais même il est très colorant, le safran. Il est très très colorant. Mais il coûte cher, mais il a un goût très intéressant, surtout dans les trucs un peu sucrés, je trouve d'ailleurs. Ou les carottes au safran. Il y a pas mal de cakes au safran qui se font. Il y a la foisse qui est la foisse provençale qui a des fraises desserts de Noël, qui est très bon. Ah, la paille là-bas, sûr.
Et c'est qui les superstars que tu peux manger
une fois? Tu veux dire qui sont les connards qui m'ont fait chier parce que le couscous me plaisait pas? Patrick Bruel, il mérite des baffes, cet enfoiré. Quand tu lui sers un couscous, il est au régime. Alors que quand il finit par accepter, il en bouffe 3 assiettes. Mais c'est juste que ça lui fout les boules parce que c'est la maman qui lui fait à manger. Il n'y a que le couscous de la maman qui est bon. Et que le couscous de François, il peut pas être bon, il n'y a que le couscous de la maman qui est bon. Voilà.
Il n'y a qu'à dire que t'es Françoise.
Ouais, c'est ça, c'est moi la maman. Non, mais il me confondra pas, sa mère, il la connaît. Attends. Même s'il a autant de barbe que moi, c'est pas une raison, quoi.
Moi, j'ai raté les
c'est qui, c'est hein Patrick Bruel, c'est un chanteur, Bruel. Non
oui, c'est ça, ouais.
C'est barré.
C'était très bien.
Dit
de quoi? Bon, ça a été un peu vite, mais j'ai résumé un peu les trucs de base à connaître. Après, il faut avoir de la motivation chacun de cuisiner. Si on n'a pas envie de cuisiner, ça sert à rien. Mais c'est des petits trucs qui sont bien à avoir en tête pour partir dans la bonne démarche.
Eh ben, on va vérifier s'ils ont bien retenu. Alors, qu'est-ce qu'il a dit sur les épices?
Il n'a pas dit
le truc
sur les épices en tant que
tel. Il a dit que le cumin et le coca, on pouvait en mettre partout dans sa ligne.
Parce qu'il y a toutes les écoles à ce niveau-là. Voilà.
Non, mais c'est comment il cuisine.
Il faut ça, les épices, il faut faire par soi-même. Il faut tester, il faut voir ce que t'aimes et à quel moment tu les cuis. Moi, j'ai mes trucs, je peux vous montrer ce que. Avec chaque épice, je pourrais vous montrer ce que moi j'en fais. Mais moi, j'ai tendance à mettre toutes les épices qui traînent, à les mélanger. Ça marche.
Oui, en fait.
Ça fait un goût riche et complexe.
On croit qu'on devine, quoi.
C'est ce que je fais aussi.
David.
Une bonne méthode.
Et toi,
des fois t'en enlèves une ou t'en rajoutes une pour faire. Ce coup-ci c'est au curry. T'as toujours mis le cumin en plus parce que c'est bien. Mais...
Tu connais Pascal et tout ça, non?
Ouais.
T'es venu avec mon
Pascal qui m'a dit de venir.
Oui. Bon alors, la question maintenant, qu'est-ce qu'on mange ce soir?
On fait des pâtes pour aller
c'est, surtout, non, surtout qu'il faut le faire reposer, sinon il a une brise, il a, on a du mal à le couper. Mais on peut le faire ce soir et le manger le matin au petit déj, je ne sais pas trop si à ce niveau-là.
Et s'il y en a un des trois qui a pas,
mais il y a une projection ce soir, donc on peut peut-être pas faire de la cuisine du cake là.
Il y a musique
en ville. Là, c'est que c'est à 8h30, ça va être maintenant là. Bah ceux qui veulent, s'il y a ceux qui veulent y aller, moi on peut y en quelques-uns faire la bouffe pendant ce temps-là, moi je m'en fous d'aller écouter la cuisine, la musique. J'ai la musique qui me plaît dans la cuisine.
J'ai la musique dans ma cuisine. Les casseroles qui chantent.
C'est ça, les casseroles qui chantent.
Non, mais
l'idée était l'anti-patate, je crois, donc on va faire ça, ce sera très bien. Avec une petite salade de tomates.
Et quoi?
Ou non, un gazpacho. Non, Isabelle voulait faire un gazpacho. Tu le fais ce soir ou tu le feras demain ou quoi? Hein? Comme tu le sens, de toute façon il n'y a pas d'urgence, hein. On n'est pas obligé de manger demain, on peut le manger à un autre moment, il y a ce qu'il faut. C'est juste voir combien de... Ah c'est vrai. Bah donc tu fais ta respiration. Et tu reviens plus après.
Intéressant.
Ce
qu'il a dit?
Oui.
Dom,
oui.
Manger là, non?
Tu m'as demandé si ce qu'a dit François est intéressant. C'est complètement débile. Non, c'était très intéressant.
Est-ce que ça va transformer ta façon de cuisiner?
Mais bien sûr, à partir d'aujourd'hui, tout est nouveau, c'est une ère nouvelle. C'est, ça a révolutionné ma façon de voir la cuisine.
Il n'y avait pas de crudité, pas du tout de crudité. Là, on va encore pas manger de crudité. Ça va pas complètement dans le sens de ce que j'ai raconté. Mais on n'est pas exigeant, on n'est pas difficile. Hein. Il y en a qui se nourrissent de pâte au ketchup, donc... Je suis pas sûr, je crois, j'ai entendu dire, mais j'en doute, c'est pas possible, c'est un mythe, ça doit être un mythe en fait.
Je vois sa photo pour le site.
Non, parce que c'est que du cuit tout ça, c'est bon, mais au bout d'un moment, sur le beat, ça pèse un peu. En même temps, on peut faire, ouais, c'est ça, mais de toute façon, des véganes qui se trouvent entre eux, souvent, ça bouffe, et ça fécule. Je me souviens d'un séjour chez Yves où, putain, qu'est-ce qu'on a bouffé, mais qu'est-ce qu'on avait le ventre plombé, quoi. C'était, on faisait un repas toutes les deux heures, quand même, mais savez, on a tous goûté les spécialités des uns des autres, mais c'était surtout des spécialités de pois chiches, de lentilles, de riz, de pâtes, un petit peu de citrouille, à la limite, mais que du cuit et que du blanc. Alors c'était bon, hein, mais... On était bien nourris, d'ailleurs, ils avaient un peu froid, mais on n'avait pas froid. Hein.
C'était en octobre.
Ouais, c'est ça. Il y a des champignons aussi, les cahiers des champignons. Champignons qui étaient très bons.
Il y avait des noix aussi.
Il y avait un peu de noix aussi. Non, c'était très très bon, mais ça manquait de crudité.
Ben, en octobre, il y en a moins.
Hein. Oui.
Mais là, ça serait de la courgette, ça ne couvre pas. Petit déj à la courgette, velouté de courgette à midi, courgette farcie le soir, 4 heures courgette.
T'as pas de côte de bête, choses comme ça.
Si, ah, les bêtes, c'est bon ça. Très très bon ça. Et c'est marrant d'ailleurs parce que c'est presque salé naturellement. Tu mets juste une pincée de sel et ça suffit.
Quoi ?
Les blettes.
Ah, les blettes ?
Ouais.
À la poêle ?
À la poêle, autrement, je sais que quand je le fais, je suis obligé de saler beaucoup moins que d'autres trucs parce que il doit y avoir un peu comme le céleri, ça doit augmenter le goût du sel en fait. Ces légumes branches là font ce fait là.
Les blettes,
c'est la même chose.
Nous, on mange pas les bêtes.
On mange pas les bêtes.
Non, mais en hauteur, moi, oui, c'est bon en hauteur, mais c'est elles sont fines.
Ah oui, non, mais moi, c'est pas bon en hauteur.
Comme il a jamais fait celle-là, j'y ai jamais pensé. Non, jamais j'y avais pensé.
Moi, c'est le quart d'onze. Minuscule.
Ah ouais, c'est compliqué le quart d'onze.
Oui, mais les autres années, il a bien marché. Il avait des 1 mètre de large. C'est bon aussi.
Pas mal, encore un truc branche. Et les Chinois sont très forts d'ailleurs pour les variétés de blettes. Ils en ont beaucoup, il y a le Shu Pak Choi, le Shu Shanghai, qui sont que des variétés de blettes.
J'ai planté là des variétés du Laos, mais je l'ai fait récemment.
Mais au final, c'est que des différentes variétés de blettes, c'est que de ça. Nous, on en connaît qu'une seule ou peut-être deux. On connaît peut-être celle à feuilles rouges et à feuilles vertes, mais on en connaît que deux. Alors que les Chinois en ont 5 ou 6, on en trouve déjà 3-4 facilement dans la plupart des supermarchés. Comme pour les choux, ils en ont plus. Pour les courges, ils en ont plus.
C'est le cholera, tu connais ?
Hmm ?
Le cholera, tu connais ?
C'est quoi ça ?
Une espèce de radis ou de rat ou un truc comme ça. Il paraît que ça a un goût de radis plus fin que le radis.
Comme beaucoup de racines, ça a quelle couleur ?
J'ai arrêté ça.
Plus violet.
Les racines, le problème, c'est que j'en connais quelques-unes que j'ai essayé par moi-même, mais